Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
1, 2, 3.
Bonsoir.
Bonsoir, Internet. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Fabrice.
Bonsoir, Mimi.
Bienvenue dans ce dernier débrief de Succession Forever.
Oh là là.
On va en parler, bien sûr. Mais avant ça, comment vas-tu, Fabrice?
Ça va super.
Ouais.
Et toi?
Bah écoute, moi, on a fait notre pré-deuil tous les deux, finalement, ouais, en faisant tous ces débriefs. Donc, tout va très bien. Je suis ravie d'être avec toi et avec vous encore ce mardi. Et petit spoiler de la suite, on va pas forcément se dire adieu tout de suite, au contraire de la famille Roy, à laquelle on dit adieu pour de bon. Un gros merci à Style Martier qui a renouvelé son sub et un grand bon et à French Fry aussi, j'avais pas vu, oh là là. Merci beaucoup French Fry pour le resub. Vous avez toujours un objectif de sub et un objectif de follower qui est là. Et du coup, un gros merci à tout le monde puisqu'on a passé Fabrice pour la première fois le cap des 5000 abonnés sur
la chaîne.
I blame un peu Samuel Etienne pour le tout dernier rush puisque j'ai eu la chance de participer à l'hebdo Etienne vendredi soir et que j'ai pas streamé depuis et que j'ai quand même passé les 5K sans streamer. Donc je pense que ça a aidé. Mais merci beaucoup. Il y en a qui sont là depuis le tout début. Il y en a qui viennent d'arriver, qui ont sub il y a littéralement 7 minutes comme Happy Bunny. Enfin, qui ont follow la chaîne. Donc welcome. Succession, c'est fini. Mais les streams, ça continue. Donc on va nulle part. Voilà. En tout cas, moi, je vais nulle part. Et toi, t'es jamais bien loin.
Non.
Voilà. De mes micros et de nos micros respectifs.
Oui.
Bonsoir Ezoc, bonsoir Madame Wolowitz, bonsoir Matmout Mout, bonsoir Style Marty du coup, et merci. Bonsoir Corinne, bonsoir Mister Melik, bonsoir Ziot Turnip, bonsoir Jill Jill, bonsoir Tapir, bonsoir Pitsy. Il y a du monde ce soir, dis donc. Pour le final de Succession. En l'honneur de ce baroud d'adieu, de ce chant du cygne de la famille Roy, vous êtes nombreux et nombreuses. Du coup, merci beaucoup, ça me fait très plaisir que vous soyez là. On va pas tarder à se lancer parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire puisque cet épisode final faisait 1h30 et qu'on va essayer dans le même temps de dire, enfin de faire bien sûr un débrief de cet épisode comme d'habitude, mais aussi de dire un petit adieu à Succession et d'essayer, autant que faire se peut, 24 heures seulement après avoir vu le final, de rendre hommage à cette série et
c'est
à pourquoi elle nous a marqué. Donc on va pas trop perdre du temps en intro, mais on se verra sur la chaîne jeudi et je vous raconterai ma vie, ce sera super. En quelques mots, on est sur une bonne fin, un bon dernier épisode.
Alors, on est sur une fin tout à fait satisfaisante pour moi.
Ok, pour moi aussi. Je vais vous faire un petit sondage dans le chat, comme ça on va voir si vous êtes d'accord avec nous. Dis-moi.
Non, j'allais dire, c'était pas forcément très évident de bien finir, je trouve. Et je trouve qu'ils arrivent à faire en un seul épisode, en gros, tout ce dont parle. On reprend vraiment l'arc de Succession depuis le début de la série, en fait. Je trouve vraiment qu'ils arrivent à faire ce truc, tu vois, de venir remettre en 1h30 tout ce que la série raconte pendant 4 saisons, quoi.
Il y a une vraie filiation thématique.
Oui.
Et j'ai vu un tweet qui disait, j'étais à la fois offensée de tout ce qui se passait et j'en voulais plus. Et en même temps, tout avait du sens et je me disais que ça n'aurait pas pu finir autrement. Ce qui est, je pense, un bon testament à la qualité de cette série qu'on a eu de cesse de louer pendant 10 épisodes de débrief. Sur le chat, on n'a pas satisfait de sa manque de mort de Steve Martin.
Putain.
Grande victoire des Disgusting Brothers par Mr. Melick, c'est très vrai. Ils finissent on top. Marina nous dit, c'est jamais évident de finir une série, ils ont tellement réussi. On en parlait juste avant le live, on réfléchissait aux autres grandes séries considérées comme telles, et on parlait de Breaking Bad et de pourquoi elle a pu tant marquer son époque, mais aussi rester dans les annales. Et tu disais, Fab, que c'est entre autres parce que, au moins, ils ont pas raté la fin.
Ils ont, la fin est de Breaking Bad, je vais pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais c'est, je trouve que c'est vraiment canon et que ça ferme bien toutes les histoires, qui ont été, disséminées tout au long de la série. Là où, par exemple, une série comme Lost, que tu aimes beaucoup, ne s'est pas vraiment emmerdée avec ce genre de détails.
You come
pas
to my house, on my chaîne Twitch. Tu attends que je sois en train de boire de l'eau, ce qui m'oblige à poser ma gourde en précipitation, ce qui est très risqué avec tout ce matériel électronique hors de prix, et tu insultes la fin de Lost. Mais on est où? Je l'ai nourri cet homme hier.
J'insulte
okay
pas que la fin de Lost. J'insulte également, enfin en tout cas, je reproche également qu'ils ont vraiment lancé des tas de trucs qu'ils ont jamais vraiment fait retomber ou expliquer ou machin. C'était juste, allez, on s'en bat les couilles.
Comme la biographie de Logan Roy, le fait que Marsha soit au board, qui était une intrigue très importante de la saison 1, le
allez,
fait qu'on ait peut-être des enfants. Enfin bon, c'est vrai que les séries qui lancent comme ça des plots et puis qui ne follow pas, c'est insupportable, insoutenable. Ah, Adoa O'Hara, je vais... Ada Orardo. Ok, j'y arrive jamais, je suis désolée. Nous dit trop contente de finir la série que j'ai commencée à cause des Twitch de Mimi
grâce
et de Fab.
Grâce.
Et j'ai encore eu des messages de gens qui me disent non seulement j'écoute vos débriefs alors que je regarde pas Succession, ce qui sont
c'est
toujours, j'ai pas d'enfant préféré, mais c'est mes gens préférés juste pour la fascination que ça représente
c'est intéressant
pour moi. Et qui du coup vont découvrir, peut-être qu'ils sont là en mode, ouh, je me demande comment ça finit, j'ai hâte d'écouter le podcast Succession.
Ceci dit, j'ai suivi Game of Thrones pendant des années juste sur te récap.
Oui, mais déjà, c'était pas 3 heures, tu vois.
Oui.
On fait des longs débriefs.
Oui.
Et aussi, t'étais un peu, tu vois, il y avait un truc de, culturellement, il fallait un peu savoir ce qui se passe dans Game of Thrones. Là où Succession a quand même moins d'ampleur en France, en tout cas. Et puis même aux US. Mais, voilà, bref. Je ne sais plus où j'en étais, c'est pas très grave. On va débriefer cette fin de Succession. C'est l'heure du générique.
Du GG.
Bon,
du néné.
C'est comme d'habitude, on va tout vous spoiler, mais là, c'est bon. On peut, il n'y a plus rien à vous dire. On peut plus rien vous gâcher. C'est l'heure du générique et on arrive pour le débrief. Alright. Du coup, on a les résultats du sondage sur le chat. Vous aviez 3 choix sur alors la fin de Succession, qui était au top, is okay et oh non, c'est raté. Fabrice, me feras-tu l'honneur de nous lire le résultat?
Bien sûr. 86% d'entre vous a dit que c'était au top, 14% a dit que c'est is okay et oh non, c'est raté a récolté exactement 0 vote, 0%.
On est ensemble.
On est tous ensemble, les gars.
On est very dans, alors toi et moi, on est dans c'est au top, dans is okay. Alors j'ai vu une personne qui disait super final mais trop court. Donc on aura l'occasion d'en parler, de peut-être ce qu'on aurait voulu voir de plus. Mmh. Et quelqu'un qui disait 1h30 d'épisode mais ressenti 45 minutes.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses et en même temps c'est passé vite. Il y avait, comme tu l'as dit, beaucoup d'arcs narratifs à boucler. Ok, on va vous faire du coup le déroulé de l'épisode étape par étape comme d'habitude. Ah, qu'est-ce que nous
What
dit ces vidéos?
Grâce à vous, j'ai même un super mug. You can't make a omelette without breaking some Greggs. Mais enfin!
Écoute, sache que
incroyable.
J'avais oublié cet événement qui m'est arrivé il y a 3 heures avant de lire ce message. Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un produit. Ah, yes! Mon chat a sauté sur les genoux de Fabrice, désolé. Genre, c'est mon
putain de chat.
J'ai hâte de mettre mes invités à l'entrée de la table parce que c'est là où le chat. Je devrais sacrifier mes cuisses et pas les vôtres. Bref, quelqu'un m'a envoyé sur Instagram en DM un produit dérivé entre guillemets Succession, mais créé par une petite créatrice, pas un truc officiel, parce que HBO est nul en merch, du coup le merch officiel est nul.
Nul.
Et j'ai vu le produit, j'ai cliqué et immédiatement je l'ai acheté. Genre j'avais acheté avec Apple Pay, j'ai mais fait OK, j'ai fait un... je te dis pas parce que je te montrerai.
OK.
Mais j'en suis très content.
Ça tease.
C'est un petit teasing, voilà, vous aurez bientôt Mimi avec un produit succession peut-être quelque part dans cette chaîne Twitch, voilà. On verra, mais on a passé un très bon moment et clairement cette série restera longtemps dans ma tête et dans ma vie. Ce final de Succession s'ouvre sur un moment business avec Kendall Roy en mode bam 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 dans les bureaux de... Non, c'est pas... Oui, c'est les bureaux de Waystar, oui, je Waystar. Pense. Avec ce fameux Télis qui est son gars de stratégie finance,
ouais, financier, ouais.
Tout ça, qui fait le compte de qui il a dans sa team pour bloquer du coup l'acquisition par Gojo lors du vote du board qui est imminent. Et de son côté, il y a Shiv qui est avec Madson et qui fait la même chose et qui compte un peu qui ils ont dans leur camp. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette scène d'introduction ? Alors en vrai, ça s'ouvre avec Ken et Télis. Ensuite, il y a le générique. Ensuite, il y a Shiv et Madson. Mais je les ai regroupés parce qu'elles nous disent on en est où sur la partie
bah,
des
voilà.
Chefs, quoi.
Ça explique un petit peu d'entrée où est-ce qu'on en est justement. Et je trouve que c'est cool parce que ça explique directement l'enjeu qui est éventuellement de ramener Roman dans un premier temps.
Car on ne sait pas où il est.
Roman a disparu.
Bah, tu disais après, dans le débrief précédent.
Peut-être on le verra pas du tout. Ce qui aurait pu... Bah, en vrai... c'était plausible, hein. C'est-à-dire que ça aurait été très intéressant de ne pas l'avoir du tout dans cette, même si dans cet épisode il joue quand même un rôle hyper prépondérant,
il compte
et
un peu, ouais.
Hyper important, mais ça aurait pas été déconnant qu'il est juste, qu'il soit juste disparu. Alors c'est un peu, moi ça m'a interpellé parce que on comprend que c'est le lendemain des élections. Pas sûr
non,
en fait.
Pour le coup,
hein.
En fait, je pense qu'il y a un petit délai. Je pense pas qu'on est sur 8 mois, mais Mencken n'est toujours pas confirmé en président, donc ça c'est pas sûr.
Ah, oui.
On n'est pas 3 mois après.
Oui.
Mais je pense qu'on est quelques jours après les funérailles, par exemple. Tu vois, on doit être peut-être une semaine après. Enfin, pour le coup, ils sont pas obligés de faire le bordel le
comme
lendemain
ils,
des
comme
funérailles.
Ils avaient...
Mais Roman a disparu et on voit que sa blessure est quand même encore fraîche. Donc ça fait quelques jours, tu vois,
oui.
Qu'il s'est fait tabasser
et qu'il s'est fait mettre du collier par Peter parce que.
Alors, pardon. Qu'il était dans un combat, qu'il a gagné d'ailleurs,
a gagné.
Non pas que vous ayez demandé, doute. Je pense pas que Roman contre la CGT, il gagne. Il y a Lucas dans le chat qui dit, Roman, il aurait pu se faire embrigader par des manifestants et finir dans un squat à faire du djembé.
Franchement, la deuxième vie de Roman, potentiellement, c'est ça. Hein.
Écoute, je pense qu'il
aurait... Il tourne syndicaliste, il tourne full squatter, quoi.
Il faudrait qu'il consomme un peu les mêmes produits que son grand frère pour peut-être avoir cette illumination sur la vie et la gauche. Et Bruno nous dit, je m'attendais à ce qu'il cherche Roman une bonne partie de l'épisode, qui aurait pu être l'intrigue. Mais non, parce qu'on va, ils vont assez vite le retrouver, mais on apprend donc que Roman n'est pas là et que Kendall n'a pas Stewie dans sa poche.
Voilà.
Ce qui est quand même normalement, enfin c'est un de ses meilleurs amis et tout, mais on sait que niveau business, ils n'ont pas toujours été ultra alignés.
Oui, bien sûr, parce que peut-être que Stewie est plus malin que Kendall.
Probablement. Mais il a aussi l'air d'avoir un père plus... Alors on n'en sait pas beaucoup sur son père, mais il a l'air juste de ne pas être aussi... Il s'est pas fait autant rouler dessus par peut-être son daron qui lui dit quand il a 7 ans qu'il va être l'héritier de sa boîte et qui après lui dit à 38 ans. Non, là!
Finalement, non. MDR, c'était une vanne.
Je
allez, salut.
Il va rester 50 plus. Succession saison 1.
Clairement.
Donc, ouais, Stewie est un peu plus. Il va mieux. Il est à un moment émotionnel, je pense, plus solide dans sa vie.
Même s'il raconte qu'il. Il prend de la drogue. Non, ça c'est plus tard.
C'est plus tard.
Pardon.
Mais on est d'accord que la dernière discussion qu'Andal et Stewie avaient eue, c'était à la veillée. Et où justement, Kendall lui avait dit en fait, sois dans ma team, ton vieux pote et tout. Et du coup, Stewie avait appuyé le fait qu'on nomme Kendall PDG avec Roman, que c'était non pas barré mais souligné.
Oui.
Et du coup, bah, il a plus de crédit avec Stewie, quoi. C'était peut-être sa dernière faveur, en tout cas.
Il lui court après. C'est pas très facile d'avoir Stewie au téléphone, apparemment.
Tout à fait. Et du côté Shiv et Madson, donc Shiv a aussi ses propres soutiens. Elle a l'air d'être bien partie.
Elle est vraiment ultra confiante en mode de non, mais en fait, on va retourner tous ceux qui sont contre nous. Et forcément, en fait, il y aura plus que les deux frangins qui vont chacun avoir leur vote avec leur petite bite. Et c'est nous qu'on gagne à la fin, quoi, tu vois.
Ouais.
Et vraiment avoir l'unanimité.
Les gens comptent trop tôt. C'est un thème de cet épisode, hein. C'est un thème de Shiv.
C'est un thème de Shiv.
Dans cet épisode, c'est pas la seule parce que il y a une autre personne qui va se sentir. Un peu la charrue avant les bœufs, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout ça, quoi.
Et il y a cet article
ouais.
Avec cette caricature, là. T'as mis pause ou quoi?
Oui. Enfin, j'ai pas eu besoin, mais j'étais là. Ok, I get it.
Ouais.
C'est dans le New Yorker ou une publication
on
comme
imagine.
Ça, c'est majeur. Et la caricature montre donc Madson en pantin qui se fait tirer les ficelles par Shiv.
Et Shiv est un peu emmerdée. Elle lui dit bah tu veux que je le fasse enlever du truc en ligne et tout. Et là, non, tout le monde essaie de me genre de me suriner quoi. Tu vois.
Tout le monde essaye toujours d'avoir une piece
of fish. Get at me. Et mais en vrai j'ai écouté le podcast de succession officielle de HBO et il y a Alexander Skarsgård dans la première partie qui dit non en fait il est ultra sous l'axe le personnage parce que
il aime pas cette image de lui,
il déteste l'idée de se faire manipuler par qui que ce soit, au contraire c'est lui qui s'est servi de Shiv pour pouvoir passer tous les trucs politiques. D'ailleurs, il en parle après à Tom un peu plus tard. Et il se rend bien compte qu'en fait, maintenant, il n'a plus besoin de Shiv. Donc, Puppet Master, pas du tout, quoi. Tu vois, elle va juste retourner faire son enfant et arrêter de nous casser les couilles.
Tout à fait. Voilà, French Fry dit d'autant plus par
exactement
une femme. Et tout à fait. Il ne veut pas être manipulé par qui que ce soit et encore moins par une gonzesse qui a l'audace d'être enceinte et de ne pas lui toucher la bite.
Oh là là.
Ce qui est quand même deux offenses impardonnables dans le monde de Lucas Madsen.
Tout à fait.
Lucas nous dit, dès la première scène avec Shiv et Madsen, tu sens direct qu'il va la jarter. Et grosso merdo nous dit, même avant cette caricature, Shiv a perdu toute chance d'être choisie par Madsen quand il a appris qu'elle était enceinte. Est-ce qu'à ce moment-là, on avait parlé dans l'épisode précédent du fait qu'on avait déjà bien noté qu'il disait c'est bon pour un PDG américain et pas c'est bon pour toi en PDG. Quand tu vois cette scène, tu te dis, bon ok, c'est sûr que ça sera pas Shiv.
Ah, mais c'est
ou
évident.
Tu dis qu'elle est encore sur la sellette, peut-être.
Mais c'est évident, mais encore une fois, j'ai l'impression que Shiv, elle prend à chaque fois ses rêves pour des réalités et que elle est tellement convaincue que elle est forte quoi tu vois et qu'elle est bonne et qu'elle a sa
qu'elle
place
est spéciale.
Et qu'elle voilà qu'elle est spéciale que elle regarde même pas les signes en fait il suffit juste de voir le langage corporel de Madsen il en a rien à foutre d'elle quoi tu vois.
Oui, bah Lucas dit il l'écoute à peine quand elle parle au début, ouais. Ce qui est vrai. Et bah,
il est en train de mâcher
évidemment
des trucs, il mange des trucs ou je sais pas.
Ouais.
Okay.
Après il est chelou anyway,
oui,
mais
de base.
Bon. Et on l'a déjà vu être plus intéressé par ce que Shiv raconte, en tout cas.
Oui.
Pour des raisons qui ont aussi à voir avec le fait qu'elle est bonne, mais pas seulement.
Tout à fait.
Et bah d'ailleurs on en parlera évidemment, mais Kendall le lui amène un peu plus tard et lui dit t'as pas senti qu'il s'est refroidi un peu récemment quand il essaye de lui faire comprendre que oui c'est vrai il est en train de te la faire à l'envers et il va pas te choisir en PDG. Il a ce truc de il a dû avoir des signes avant-coureurs. Mmh. Et effectivement peut-être que elle se met des œillères et elle les voit pas. Et d'ailleurs Madsen lui demande quid de Tom, comment tu me le pitcherais professionnellement? Et est-ce qu'on n'appellerait pas ça creuser sa propre tombe finalement, le pitch qu'elle lui fait de Tom, comment elle lui présente?
Bah en fait elle lui dit que d'un point de vue corporate le mec tient la route etc et que globalement c'est un dur au mal et que il aura aucun problème à s'en servir comme un homme libre en fait parce qu'en fait Tom depuis le début il est là I'm here to serve voilà en fait.
Alors, Shiv lui dit pas en ces termes, mais lui parle plutôt de prodiguer du plaisir oral au plus gros appendice de la pièce. Et je crois que c'est là où elle dit, je lui dirais ça en face, hein. Enfin, je te le dis, mais je lui dirais s'il était là. Et j'étais en mode, le pire, c'est que c'est vrai.
Bah, bien sûr.
Le dirait.
C'est évident que c'est vrai.
C'est son mari.
Elle est horrible.
Après, c'est tellement vrai que lui-même, c'est ce qu'il dit aussi à Madsen. Finalement, il finit par signifier la même chose à Madsen. En fait, mec, je serais ton gars, je vais tuer la bite, tu vois. Donc, si tu me mets en PDG, je ferai ce que tu veux. Mais Shiv informe déjà Madsen que le mec, il fera ce que tu veux. Et Madsen est là, d'accord.
C'est noté.
Je note.
Cordialement.
Merci beaucoup, Braxpo, pour le resub. Merci et welcome dans ce débrief du final de Succession. Petit call de maman. Elle est où, maman?
Alors, on ne sait pas trop, mais dans les Caraïbes, c'est ça? Parce que dans l'épisode dernier, Roman évoque le fait que il y a une réunion où la maman veut que les enfants se réunissent, etc. Et donc, on a bien capté que Roman avait capté le truc et les deux autres n'ont pas du tout envie d'y aller. Alors que
ouais,
Roman, on sent qu'il est...
Il y a un consensus de « nous, on n'y va pas ».
Roman
lui demande.
Il est plutôt... Ouais, mais en fait, le simple fait qu'il demande, c'est déjà une marque d'intérêt, quoi.
Et c'est avant qu'il s'effondre à l'enterrement.
Tout à fait. Et c'est dans les Barbades.
Oui, c'est la Barbade,
Gabriel.
Tout à fait.
C'est la Barbade, pardon.
C'est ce que j'ai vu dans des interviews du cast aussi qui parlait du tournage. Donc, en effet, c'est pas si loin.
Non.
Pour nous, c'est le bout du monde, mais
pour
la
côté
des US, c'est possible d'y aller en avion. Alors, pas en mode c'est un saut de puce, mais
C'est un peu un saut de puce pour eux.
Quand t'as un jet privé, ça aide.
Oui. Et donc, ils décident... alors, non, d'abord, Shiv... c'est tellement marrant, cette discussion, parce que la mère lui dit... Alors, pour information, je voudrais pas m'en mêler, mais alors...
Je suis pas censé le dire.
T'as un des deux frères qui est pas là, Et c'est pas Kendall.
J'aime bien parce que Connor existe quand même, tu vois.
Mais non, alors.
Non,
oui.
Mais d'accord, c'est pas son frère.
Non,
frère,
mais oui, c'est pas.
Son frère,
en fait,
okay,
Caroline,
c'est pas son enfant.
Voilà, elle, tout, a aucun,
mais...
elle a aucun lien avec
J'ai
Connor.
J'ai quand même eu un petit moment de. qui se souvient du troisième? Mais en effet, c'est évidemment pas Connor qui est chez Caroline. Roman est rentré chez maman. On ne sait pas dans quel état il est, mais visiblement,
ouais.
pas fou. Et pourquoi Caroline, elle appelle Shiv alors?
Bah,
qu'est-ce qui fait qu'elle appelle sa fille, ce qui arrive pas si souvent?
En fait, pour moi, c'est juste que Roman va pas bien. Et que elle se dit, non, j'ai pas du tout envie de m'occuper de Roman et de le soigner. Enfin, je sais pas comment tu l'as lu, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est juste, en fait, si tu pouvais venir t'en occuper, parce que j'ai pas envie de faire ça, en fait.
Oui, c'est pareil. Dans mon récap rigolo, j'ai fait une vanne genre, ton frère a des émotions et tu sais que I don't do that shit. Enfin, c'est vraiment, elle est là. Oula! Le gamin que j'ai fabriqué moi-même est humain. Je peux pas. Pas géré. Moi, j'ai dit vacances en famille, mais j'ai pas dit que je voulais traîner avec vous. Donc, merci de pas vous imposer chez moi avec toutes vos émotions. Quoi.
Ouais.
Donc, viens gérer ton frère. Oui, et c'est ce que dit le chat aussi. Clairement, elle sait pas faire. Martine nous dit j'adore Caroline, best perso. En vrai, elle me fait gaulerie tellement elle est hors sol, quoi. Mais en plus, elle, pour le coup, c'est une riche de noblesse, tu vois,
ouais.
Britannique. Donc, elle est à un niveau de fuck-upperie familiale encore plus loin que eux qui sont première génération
bah, oui.
riche, tu vois. Elle est loin, donc voilà, elle appelle Shiv.
On est bien d'accord que petit big up à Ted Lasso, c'est la mère de ce personnage-là, enfin cette actrice, c'est la mère aussi de Rebecca, la boss de Ted Lasso.
Tout à fait, oui. Et elle joue là actuellement dans Silo, sur Apple TV, où elle joue une série post-apo, où elle joue un genre d'électricienne un peu complètement zinzin, un peu genre professeur Trelawney dans Harry Potter.
Ok.
Donc complètement à l'opposé de Caroline, hyper émotive
oui.
et tout. Et vraiment, quand je l'ai vu dans l'épisode 1, j'étais là, est-ce que c'est la daronne?
This is the daronne.
Avec beaucoup plus de cheveux. Dans un des podcasts que j'ai écouté, je crois que c'était dans Decoding TV, il disait, c'est quand même sympa quand c'est une grande actrice britannique, pour le coup, qui a une grande carrière. Et que du coup, t'as déjà cette carrière dont t'es fière, et que t'as un rôle dans Succession, et que ton rôle pour le final, c'est tu veux venir traîner une semaine à la Barbade, et on tourne des scènes et tout, genre, ça va. C'est pas désagréable. Donc, Shiv décide. Shiv apprend que où est Roman et
elle dit à Madson, je vais récupérer Roman.
Yes.
Au cas où je le comment elle dit ça, je sais plus. Elle lui dit genre je le récupère. Ah non, elle lui dit pas en plus qu'elle va récupérer
si,
Roman.
Si, elle lui dit. Elle lui dit, je viens d'avoir un truc sur Roman. Autant le récupérer tant qu'on y est. Mais tu sais, en mode, on en a pas besoin. On a déjà tout ce qu'il faut. Mais tant qu'on y est, autant le récupérer, ça fera bien pour les fronts unis, tout ça et tout. J'y vais. Et après, bah c'est là où elle check. Ça va, le cartoon, ça t'embête pas? Et qui fait non, t'inquiète quoi, pas du tout bébé. Pas du tout bébé. Dans l'avion, Shiv décide d'appeler son époux, Tom Wamsgams.
Wamsgams
the man.
Wamsgams.
Pour avoir une conversation. Alors au début, business, et puis assez vite, plus du tout. Qu'est-ce qu'il se raconte?
Bah, il se raconte que, en gros, Shiv est en train de lui ouvrir son cœur. Et vraiment, tu sens que à quel point c'est la porte, elle est rouillée, quoi. C'est waouh. Il y a, tu sais, j'imagine une grosse roue là, tu vois.
Bien grippée là.
Toute prise là. Et en fait, ça fait, ça s'ouvre comme ça là, vraiment.
Comme dans les temples d'Indiana Jones,
oui.
Avec la poussière qui tombe là.
Vraiment, tout est sur le point de s'écrouler, quoi, vraiment. Et ça, il y a un peu de lumière là. Et Tom, il est là. En fait, elle lui dit un truc du genre, est-ce que tu voudrais qu'on ait une relation? Toi et moi?
Oui, elle lui dit en gros ce dont elle a peur dans les relations, c'est quoi le pire truc que l'autre peut penser de nous.
Ouais.
Et maintenant on se l'est dit. Donc on sait. Bon, il y a aussi évidemment le paramètre de elle est enceinte et le paramètre de elle est en mode je vais être la PDG, tu vois. Donc bébé, tu vas être avec la PDG. Et du coup elle lui dit maintenant qu'on s'est dit tout ça, est-ce que tu veux une vraie relation?
Et lui dit on s'est quand même balancé des fions extrêmes, on s'est dit des trucs super durs. Je trouve ça tellement chouette qu'elle dit en fait une fois qu'on s'est dit tout ça, après au moins c'est dit. Comment on fait pour aller de l'avant quoi? Ce qui est
est-ce qu'on veut aller de l'avant en tout cas? Est-ce qu'on pourrait aller de l'avant?
Et Tom lui dit je ne sais pas.
Je ne sais pas et je comprends honnêtement qu'il n'ait pas forcément envie de remettre une pièce dans cette machine-là, même si lui il est pour le coup complètement en suspens professionnellement puisque le début de la discussion c'est ok avec pas au début, c'est vraiment juste business et il est là ok t'as parlé à Madson, quitte de mon poste et là j'essaye mais c'est pas de ça que je veux te causer donc a priori il essaye pas de reconquérir sa femme. Dans mon récap j'ai écrit c'est Shiv qui demande à son mari s'il veut sortir avec elle parce que c'est un peu ça quoi, elle est là tu veux qu'on fasse un date, il est là franchement je sais pas, donc bon C'est Shiv le prend. Enfin, elle raccroche tout de suite parce que c'est Shiv. Elle est là. Ok, ok, cool, 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 cool. Bye bye. Ok, ciao.
Salut. Avec les yeux un peu rougis quand
oui,
même.
Oui, quand même. Elle, donc ouais, elle est pas habituée. Ah si, il lui dit. Je pense que c'est important. T'aimes pas échouer à un test. Mmh. Parce qu'il y a ce côté, tu veux pas que notre relation soit... En fait, tu veux être avec moi parce que tu veux pas divorcer. Parce que tu veux pas que notre relation soit un échec. Et peut-être que ça sera un élément important pour la psychologie de Shiv, cet épisode. Corbeau Bureau nous dit, c'est là que j'ai compris que Tom aura l'ascendant sur Shiv au final.
C'est intéressant.
En effet, c'est rare que ça soit elle de courtiser Tom. Hein. Clairement, ça a toujours été, jusqu'à récemment, l'inverse.
Bah, en fait, j'ai un peu l'impression aussi que dans sa tête, il y a ce truc de... Ok, en fait... Je suis enceinte, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je fais avec cet enfant? Peut-être que ça, c'est en train de, maintenant que tu vois qu'elle a coché dans sa tête, en tout cas, la case. Ok, donc je vais être PDG et c'est bon. Mm-hmm. Il y a peut-être aussi ce truc de, et qu'est-ce que je fais avec ce môme, en fait? Est-ce que je lui donne un papa ou pas, quoi?
Oui. Enfin,
et j'avais lu comme ça aussi, quoi.
Pour moi, il y a aussi ce truc de, elle veut une relation avec Tom si c'est elle qui a l'ascendant. Mm. Et du coup, comme là, elle est très bien placée, elle a envie d'avoir cette relation avec Tom. On verra à quoi elle ressemble cette relation, si jamais les carrières de chacun sont un peu mouvantes, quoi. On a vu la théorie sur le nom de Tom, je vois que ça en parle dans le chat,
oui,
on en parlera à la fin quand on parlera du destin de Tom et de où il finit à la fin de Succession. On a une petite scène où Hugo vient voir Ken, donc Hugo Woufouf, bien sûr, qui est donc le chien fidèle de Kendall, et c'est lui qui lui donne l'info que Roman est chez Caroline.
C'est Greg qui lui a donné l'info,
oui,
à Hugo, parce que Greg est dans le bureau au moment où Shiv appelle Tom, et en fait il dit « Ah ok, Roman est chez ta mère, d'accord ». Donc lui il l'entend, il se barre illico en plus, enfin vraiment...
Mais donc Tom il a vraiment confiance en Greg, quoi, il dit des trucs relatifs, enfin je me dis que savoir où est Roman, il doit se douter que c'est une information importante, et il l'a dit devant Greg, alors il dit pas « Roman est chez ta mère », mais il est pas en mode « il fait « Ah ok, il est à la Barbade » ou un truc comme ça, donc bon.
Il a raison d'avoir confiance puisque la fin lui donnera raison.
Oui, mais avec quand même, ça a pirouetté un petit peu.
Ça a pirouetté
Greg
un poil.
Hein. Greg a failli réussir.
Franchement, on
n'était
pas très loin.
Mais donc Greg a prévenu Hugo qui prévient Kendall que Roman est chez Caroline. Du coup, Kendall décide lui aussi d'aller rendre une petite visite à maman. Lui, ça le fait chier.
New Jess.
Il a une nouvelle assistante et il l'appelle nouvelle Jess. Je le hais. C'est bien.
New Jess. Donc on imagine que ça fait une semaine qu'il bosse avec New Jess, potentiellement, tu vois, et qu'en fait tous les jours il l'appelle New Jess.
C'est vraiment l'enfer, quoi. C'est.
Oh là là.
C'est bien, tu vois, il y a ce côté, il déshumanise les gens, genre, il y a toujours ces piqûres de rappel régulières de. On est censé être pour personne, entre guillemets.
Plus ça va.
Plus des gens en passant.
Plus, en fait, il devient Logan.
Oui, aussi.
Et jusqu'au pic de la fin de cette série.
Tout à fait. Shiv, de son côté, arrive un petit peu en avance du coup sur Ken à la Barbade et tombe sur Roman en petit t-shirt. Alors, je sais pas si je te l'ai envoyé, je sais pas si t'as vu. Il y a tous les épisodes de Succession, il y a des gens qui font la liste des vêtements portés par les personnages qui sont évidemment toujours très luxe. Et là, Roman, son t-shirt, c'est un t-shirt Walmart pour garçon, pour enfant quasiment. Donc c'est vraiment un truc Walmart, c'est genre un t-shirt Leclerc quoi ou Auchan. C'est un truc de grande distribution.
On sent que c'est la daronne qui lui a ramené quoi.
Ouais, et puis que c'est un peu les fringues des gamins quand ils sont là en vacances, tu vois, qui traînent de on ne sait pas où. Donc ça lui, il a vraiment l'air d'un ado, quoi, quasiment, quand Shiva arrive. Et bah, il est blessé. Bon, il n'est pas défiguré, il s'est pas fait casser quatre côtes, mais il a sa petite cicatrice et tout. Et il y a ce moment où, voilà, ils sont dans l'entrée, Shiva et Roman interagissent, la daronne arrive. Qu'est-ce qui se passe, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé pour Roman? Quelle est la dynamique dans cette réunion familiale
bien,
très touchante,
en
bien
fait,
sûr.
Il s'en est pris plein la gueule et il raconte que c'est Peter qui l'a aidé.
Qui lui a mis ses gouttes dans les yeux.
Ses gouttes dans les yeux. Et t'as Caroline qui dit un truc fabuleux où elle dit, en fait, moi, les yeux, je supporte pas. Des jelly balls qui sont à l'intérieur de ta tête.
Oui.
Tu vois, vraiment, ça m'a ouvert la tête sur, ok, donc vraiment les yeux. Ouais, les yeux, ça peut être ça. Et puis elle finit par dire face eggs. C'est vraiment...
Oui. Les œufs du visage.
Du visage.
Elle est trop bizarre, cette meuf. Hein.
Et Shiv, elle comprend pas, elle est là. Enfin, tu veux dire tous les trucs qu'on a tous, quoi, tu vois,
oui.
C'est ça.
Ah oui, ces organes qu'on a tous sur notre visage, tu ne les supportes pas. Il y a vraiment ce truc de. Ils passent leur temps à appeler à leur daronne à quel point elle est pas câblée pour.
Et en fait, quand on se dit que c'est Peter qui a fini par mettre du collier dans les yeux de Roman, et quand on voit la relation que Peter a avec les enfants qui est uniquement et intéressé et utilitaire, utilitariste. C'est tellement intéressant de se dire, on imagine que vraiment Caroline, elle lui dit, non, démerde-toi, occupe-toi-en. Elle lui dit, ok, enfin, vraiment, j'imaginais
et
la scène.
Pour Roman, c'est horrible d'être vulnérable devant fucking Peter qui méprise et d'avoir sa propre mère qui est pas capable de faire ce truc qui est en plus hyper parental, de s'occuper d'un enfant qui est blessé ou qui est malade, quoi, de juste le soigner et l'aider à se remettre.
D'un autre côté, quand elle vient lui dire après, non, mais en fait, moi, je viens pour m'occuper de Roman, je suis là pour m'occuper de Roman, il l'envoie bouler, il lui dit, non, tu t'occupes pas de moi, c'est pas mon truc. Donc, il y a aussi.
Ah non, non, moi, j'ai pas entendu ça comme, je veux pas que tu t'occupes de moi. J'ai entendu ça comme, non, mais qui tu bullshit, tu ne t'occupes pas de moi. Ne fais pas croire que t'es en train de t'occuper de moi. Okay. Tu ne t'occupes pas de moi. Tu me laisses habiter chez toi. C'est
je
pas pareil.
Je ne l'avais pas sous cet angle.
Elle a pas de bouffe. Elle lui file pas ses médicaments.
Horrible.
De quoi tu veux qu'ils discutent, tu vois? C'est quoi leur conversation?
Seul Jerry pouvait s'occuper de Roman. Putain, ils sont
vilains. Alors attends. Parce que là, je viens d'imaginer des fanfics avec Jerry qui fait l'infirmière sur Roman après qu'il soit fait casser la gueule par des gauchos. Et je suis pas à 0% d'excitation. Okay. Tu as, bon. Je suis pas intéressé. Je suis. Si jamais vous avez des liens,
n'hésitez pas.
À m'envoyer sur Wattpad ou whatever. N'hésitez pas. Ken arrive juste après dans la voiture en descendant du jet. Il a un coup de fil. Il est là. Yes, tu wish. Je savais que je t'avais dans mon camp. Donc on sait pas comment, mais a priori il a sécure his number one boy à lui, Stewie, qui me manque et que j'avais hâte de voir. Et dans le même temps, il apprend, ça va être important pour la suite, même si là c'est qu'une ou deux phrases, que Madson aurait eu un rendez-vous avec Lawrence.
Walter Lawrence.
Toi, tu l'as eu, évidemment. Du coup, c'est qui, Walter Lawrence, pour le contexte, pour les gens qui peut-être sont moins zinzin de Succession.
Saison 1, si je me trompe pas. L'une des sources de discord entre Logan et Kendall, c'est que Kendall a voulu acheter ce site web qu'on imagine être une sorte de BuzzFeed qui s'appelle Walter. Et en gros, Logan part du principe qu'il l'a acheté trop cher, alors que Kendall lui voit en Walter un peu l'avenir du groupe et un site web, une .com, là où eux ils ont que des télés et des vieux médias, quoi.
Oui. Des croisières, ce qui n'est pas
voilà,
ce qui n'attire pas les jeunes.
Très peu. Et en fait, il y a ce mec à la tête qui s'appelle Lawrence. Alors je vous spoil pas plus si vous l'avez pas encore vu, mais allez regarder cette saison 1 qui est géniale, où très très rapidement en fait Lawrence et Kendall se détestent pour plein de bonnes raisons, parce que Kendall est détestable et que en fait dès qu'il a acheté la boîte, il finit par la démanteler avant la fin de la saison 1, hein, je crois.
Non, il a démantelé la saison 2 parce que son daron, il le tire par les couilles. C'est le premier truc que Logan, il le sort de désintox.
J'avais, putain,
il est là, va casser ton jouet
plus
maintenant. Et Lawrence, il lui dit, pourquoi tu fais ça? Et il dit, parce que c'est mon père.
C'est papa qui a dit.
Oui, oui, c'est l'échec de Kendall, c'est que, en vrai, effectivement, il y avait des trucs chelous dans les chiffres de Voltaire. Il y avait un peu, déjà, ce truc qu'il y a un peu avec Gojo.
Bah,
et c'est deux Indes, où malheureusement, il n'y en a qu'une.
Ça en dit long.
Donc, en vrai, il s'était fait un peu arnaquer, il avait un peu surpayé.
Ça en dit long aussi sur l'estime qu'a Jesse Armstrong, qui est l'auteur de Succession pour tous les sites web et la nouvelle technologie, d'une manière générale.
Bah, pour tout ce qui est très capitaliste aussi, tu vois. Je pense pas qu'il pense que les sites web ou les technologies, c'est mal en soi, mais en tout cas, il y a magouille sur magouille.
Magouille.
Dans ce monde-là. Et donc, le fait que Madson parle à ce mec-là, ça met la puce à l'oreille de Kendall c'est un bon candidat pour un potentiel PDG de Waystar, américain, qui du coup ne serait pas Shiv, qui a de l'expérience dans les médias, qui a déjà été PDG, je crois même que c'était le fondateur, donc il a un côté self-made man, comme Madson, là où, rappelons que Kendall, Roman et Shiv ont dû travailler 35 heures en cumulé dans leur vie. Donc c'est les petits grains les petits cailloux du petit poussé sont semés pour qu'il se passe des choses. Et Kendall arrive à la maison, il a Romy.
Oh là là.
Romy. Lui aussi,
moment.
Il a la conf. Hein. Shiv, elle a la conf, mais lui, il a la conf. Hein.
En fait, pour moi, c'est vraiment. Ils arrivent et ils retournent en enfance. Et il y a plein de scènes là dans cette séquence au Barbade où ils sont vraiment des enfants. Et pour moi, là, ils jouent à loup.
Ah oui,
c'est-à-dire
tu m'as dit, c'est
pour moi, là, ils jouent à loup, là. Il est là. « Où es-tu? Je viens te chercher !» Et qu'on les imagine très bien enfants, en train de jouer à cache-cache, tu vois. c'est le loup, c'est cache-cache, je sais plus. Enfin bref, tu vois l'idée.
Oui, c'est cache-cache. Tu cours après les gens.
Bah ouais, mais il faut se cacher
moi,
aussi.
Moi, j'avais le loup des trois petits cochons, tu sais.
Bah c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il a aussi ce truc très, il crie très fort, il parle très fort, il s'impose.
Et ouais, on imagine. Steve Marty dit, il est en mode Shining. Gabriel nous dit, il est horrible Ken au début. Ouais, il y a un truc. C'est un. Moi, j'ai dit, c'est le croque-mitaine quoi.
Ouais.
Qui est là et qui dit, je vais te trouver,
je vais
t'attraper.
Te trouver. Voilà.
Sachant que la dernière fois qu'il a vu Roman, c'est en lui disant. T'as bien fait de la merde à l'enterrement
bien
de papa.
Merdé.
Bonne Allez. Crise d'angoisse de merde là. Allez, casse-toi. Allez, bisous. Et après, Roman s'est barré, il a disparu. Et tout ce qui a l'air de l'intéresser, c'est le vote de Roman. Il a même pas le moindre intérêt pour est-ce qu'il va bien est-ce qu'on sait. Enfin, tu vois,
bah
il y a jamais un moment où il a l'air d'être content de voir son frère
c'est
comme une
vraiment
personne.
Ce bateau a levé l'ancre de la fraternité.
Oui. Et Roman est, alors il y a Shiv qui est protectrice de Roman, mais aussi un peu
intéressée.
Oui, voilà, un peu intéressée d'Aaron en mode tu es très agressif. Il a besoin de calme. Il est fragile. He's fragile. Roman, il aime pas qu'on dise qu'il est fragile.
Bah oui.
Et j'ai noté dans ces dialogues déjà Roman qui dit à Kendall, en fait, you don't have it. Genre t'as pas les votes. On va perdre. Donc viens pas me faire chier pour mon vote. Donc j'étais là. Ok. On est vraiment sur les CE Bros. C'est fini. Mm. Et Roman, il a l'air d'avoir accepté que bah ils vont perdre la boîte quoi.
Bah oui, pour moi ça va dans la droite lignée de son nervous breakdown de la fin de l'épisode quoi.
Certes.
Il est un peu en mode bah les couilles quoi.
Et j'ai beaucoup aimé quand du coup Caroline leur dit qu'elle aimerait bien qu'ils restent au moins dîner et tout.
Oh
et Kendall lui dit non mais il y a un gros board meeting demain et qu'elle est là. Oh, original.
Ah, c'est nouveau.
Mes plans n'ont jamais été perturbés par un gros board meeting demain.
On imagine tellement, bah en fait il est encore une fois en train de reproduire le comportement du daron quoi, qu'on imagine tellement faire ça quoi.
Oui, tu te dis Caroline, elle a dû avoir
Logan
qui lui sort la même Zumba assez régulièrement. Et alors dans The Watch, qui est aussi un des multiples podcasts que j'écoute, ils amenaient aussi le fait qu'il y a un peu ce truc dans l'aristocratie anglaise et la old money là, comme on dit, donc les vieux riches, de... c'est pas propre de parler d'où vient l'argent, tu vois, de parler de travail. Elle, Caroline, elle travaille pas, elle a jamais travaillé. Et du coup, elle est un peu en mode, oh, vous êtes encore en train de vous prendre la tête pour vos histoires de travail et d'entreprise et de board meetings, mais c'est pas grave, tu vois. Donc, il y a aussi un peu ce truc de, je veux pas reconnaître que votre vie est importante, mais ce qui paye ma maison à la Barbade, c'est aussi l'argent du divorce du mec qui, pour le coup, a passé beaucoup de temps dans des réunions où
et
il avait peut-être plus de raisons d'être que ses enfants.
Il a taffé, Logan.
Oui, il a bien taffé. On a donc voilà, Kendall est là, Roman quitte la table, lui il est là, vas-y, vous me faites tous chier, surtout Kendall qui n'arrête pas de parler. Le mec il ferme jamais sa bouche. Et à un moment, bah Roman lui dit, ça s'appelle pas me laisser tranquille, t'es toujours en train de parler, vraiment, c'est, il n'arrête pas. Donc Roman se barre, ils disent rendez-vous au dîner. Et on a un tout petit insert sur Madsen et Tom qui sont dans une galerie d'art, avec Greg et Oscar qui traînent dans le coin, puisque Tom avait évoqué que en fait il avait plusieurs rendez-vous un peu informels avec Madsen, des hang date ou je sais pas quoi, pour voir si
ça vibait bien entre eux,
voilà, culturellement ça vibe bien, et qu'il en a marre, qu'il est là c'est trop chiant, et genre tu sais jamais si tu réussis ou pas, en plus c'est ce truc de
bah
est-ce
oui.
que je suis sympa, en plus genre j'ai envie de travailler, j'ai pas envie de traîner avec toi dans la vie, tu vois. Et on sent qu'il est pas à l'aise, Tom, avec, enfin il est pas dans un win là à la galerie d'art.
Ah bah non, et surtout il démarre en disant, Madsen lui demande, qu'est-ce que tu penses de ce tableau là? Colors go well.
Oui, il y a Simon sur le chat qui dit les couleurs vont bien. Trois petits points, en effet.
Et après, il va embrouiller Greg parce que il le laisse dire colors go well. Il dit mais enfin, mais arrête de me laisser dire de la merde comme ça. Non, mais colors go well together. Enfin, tu vois, ça marche en fait. On comprend.
Greg, c'est toujours pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, putain.
Clairement.
Mais bon. Est-ce que ça va mal finir pour lui? Assez peu. Et c'est le moment, je crois, où Tom lui met la pression en disant, en fait, j'ai besoin que tu m'empêches de passer pour un idiot aux yeux de Madsen, parce que si je saute, tu sautes. Greg, il est un peu en mode, bah, en vrai, il m'aime bien, on a fait des soirées. Et Tom nous donne une info qu'on n'avait pas, c'est que Greg, il est à 200K dollars.
200 000 dollars par an.
Cher pour un assistant.
Oui.
Il lui dit, t'es l'assistant le mieux payé de New York, et eux, avec leur tarif, leur grille budgétaire et tout, si t'es pas dans ma team, peut-être ok, il garde, mais il garde à genre,
40K
20, 30, 40. Oui, en plus il monte, j'étais là, c'est bizarre de... Tu vois, il fait pas 40, 30, 20, et Greg il est là. Non. Oh non.
Oh non, j'ai pas envie.
J'ai pas envie de redevenir prolo. En vrai, je pense 40K, même... Enfin, 20K à New York, c'est pas fou. Hein. C'est pas... Tu serres les fesses, quoi. 20K par an, ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 2000 dollars par mois. Bah, à New York, c'est ton loyer, quoi. Donc, oui. Pour le coup, 20K, c'est pas tenable. Ça lui fera un gros changement de niveau de vie. Et rappelons qu'il sait ce que ça veut dire, être prolo, pour le coup. Mm. Et il a vraiment pas envie d'y retourner. Donc, il va tenter des moves, hein. Greg ne s'arrête jamais de tenter. Mais en tout cas, Tom lui met cette petite pression de si je saute, tu sautes. Et on sait pas à quel point c'est un bluff.
Bah, non. Bien
Parce
sûr.
Qu'on sait pas si Madson, il va sous-payer Greg, le garder.
Mais d'un autre côté,
machin.
C'est tellement la base de leur relation. Ultra toxique aux deux, là.
Oui.
C'est que, en fait, on comprend très bien que Tom, il passe son temps à vouloir entraîner Greg dans sa chute en permanence. Et qu'en fait, il le menace de ça en permanence.
Mmh. Pour lui dire, tu es lié à moi.
Oui.
Il faut que tu m'aides à pas plonger, oui. Car on plonge ensemble. Peut-être qu'on est naïf parce qu'il y a plusieurs personnes sur le chat qui disent j'avais compris 200K par mois. Ce qui, pour moi, me paraît vraiment beaucoup.
Non, non, pour moi, c'est 200K par an.
Je sais pas, dites-nous les experts de la finance et du monde du business. Pour se rendre compte du coût de la vie à New York, faut faire x2 avec un salaire français. Parce que tu vois, il lui a dit 40K et je suis à 40K, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Mais encore une fois, peut-être qu'il lui manque.
40K, c'est 40K divisé par 12, c'est 3 500 dollars.
Oui, mais 3 500 dollars aux US où t'as beaucoup moins, tu vois, t'as pas la sécu et enfin,
ah bah
et
oui.
Tu payes New York, genre mais c'est pauvre quoi.
Bah, tu vas vivre en banlieue quoi, tu te tapes 1h30, 2h de train par jour, voire même plus.
Ouais. Greg, il a pas envie de ça. Ok, non, bah il y a d'autres gens sur le chat qui nous disent en anglais, on parle toujours en salaire annuel.
Bien sûr.
Donc et en effet, 40K c'est un salaire pas fou aux US. Mmh. Voilà. Donc bon, Greg en tout cas risque de reprendre des vélib un peu plus souvent, selon Tom, si jamais Tom plonge, peut-être que ça l'arrange aussi, qu'il le croit. Retour à la Barbade, Shiv est en avance sur la terrasse pour l'apéro pré-dîner, parce qu'ils veulent tous être celui qui chope Roman en premier. Kendall arrive, et petit détail quand même, se sert un cocktail. On n'a pas vu Kendall boire toute la saison.
Longtemps. Je me suis demandé si c'était pas un jus de fruits au départ.
Non, parce qu'il demande à Roman, est-ce que tu veux un punch au rhum? Et il le boit assez ostensiblement devant lui et il y a limite un petit...
Et il enlève les glaçons en plus.
Oui, il vide les glaçons du verre.
Il jette les glaçons, ce qui est aussi un move de... Non, en fait, je veux...
Mais après, il sert d'un pichet où il y a des glaçons dedans, donc je suis là... En fait, chiant quoi.
Bah oui.
Je le déteste.
C'est Kendall, c'est Jeremy Strong. Je vous invite vraiment, si vous parlez anglais, à écouter l'épisode où il discute justement de son personnage. C'est fascinant.
L'épisode du podcast officiel de succession.
Avec Skarsgård et Jeremy Strong.
Oui, dans la première partie, ils vont faire plusieurs parties sur le final. Mmh. Et dans la première partie, leurs deux invités, c'est presque aussi quali que toi, Fabrice Florent. C'est Alexander Skarsgård et Jeremy Strong. Donc on est pas mal. Donc j'ai noté. Kendall reboit de l'alcool et on le verra reboire. Alors, il sera pas bourré ni rien dans cet épisode, mais il y aura un autre moment où il boit un whisky et j'étais là. Ok. Il est vraiment sûr.
Il est sur le... Pour moi, il est
presque.
Il est en haut de la falaise, quoi, tu vois. Il est vraiment, il est sur le point de replonger, là.
Peut-être on saute, donc autant boire un verre avant, quoi. Soit demain on gagne et on peut boire un verre, du coup. Soit demain on perd et autant se servir un verre.
Mais bon, c'est ce que tu disais dans un débrief au début de la saison. C'est. En fait, Jesse Armstrong, il passe son temps à dire que les traumas, c'est des cycles. Et nous voilà au retour peut-être du cycle de l'addiction pour Kendall, qui avait laissé tomber depuis au moins une saison, quoi.
Tout à fait. Bon, on va voir qu'il y a d'autres choses. Il aura d'autres problèmes d'ici la fin de l'épisode que ce petit verre de rhum.
Tout à fait.
Bon, évidemment, tout le monde est là pour le vote de Roman. Alors, Shiv est toujours dans cette posture de... En fait, enfin, Dilouzi, du LPDG.
J'ai gagné.
Arrête d'être chiant, j'ai gagné.
J'aurais pu... Elle lui dit... It. Enfin, tu vois, genre...
Oui, genre... Enfin, fais avec, quoi.
Mange... Ouais, c'est pas en sexuel, ça?
Ah non, mais c'est plutôt eat my shit, tu vois. Un truc comme ça, genre... Enfin, cool. C'est un peu... Oui, c'est fait avec, un peu plus sec, peut-être, un peu plus arrogant. Et Roman arrive, et alors il a cette phrase géniale de... C'est moi, le vote humain. Peut-être que je devrais me couper mes deux bras et je vous en donne un chacun. Comme ça, vous pouvez fuck off et arrêter de me faire chier. Et j'étais là, c'est... Trop marrant, déjà, c'est une très bonne réplique. Et en même temps, genre, c'est tellement triste de savoir que pour ton frère et ta sœur, juste après le nervous breakdown de ta vie et la mort de votre père, en vrai, ils sont là juste parce que t'as un vote à faire, quoi. Mm. Et probablement qu'ils seraient pas venus.
C'est même sûr.
Pas le... En vrai, Shiv, je suis la meille. Ben non, parce qu'il était hyper misogyné, il a fait lire le fasciste. Il a fait aussi lire le fasciste il y a deux épisodes.
Oui, n'oublions pas quand même que c'est quand même un sacré petit connard, quoi.
Oui. Et je sais.
Et encore une fois, je trouve que cette séquence où Shiv s'avance, où elle vient dire eh ben voilà, maintenant j'ai gagné, on va donc maintenant fermer ma gueule, et puis en fait j'en ai marre d'être désolé, donc fuck you, allez vous faire foutre. Je suis là, mais meuf,
alors,
t'as pas
peut-être
tiré
une
les...
caractérisation légèrement injuste du personnage de Shiv quand même, je trouve.
Non, mais c'est pas
que...
ça, c'est qu'elle c'est exactement ce qu'elle fait quand au fameux dîner des Pierce, tu vois.
Oui, je sais, c'est que... mais c'est exactement ce que Kendall y fait
oui.
une demi-heure après, tu vois. C'est ce
tout
qu'il
à fait. Ils font tous.
Et Kendall, ils font tout. Roman un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments où il veut être PDG finalement, donc il a moins l'occasion.
Mais alors si je puis me permettre, Kendall, et d'ailleurs il le dit, il se pitch lui-même de façon... En fait, il dit, bah, en vrai, je suis plus solide que toi, c'est-à-dire que dans... Je suis plus crédible.
Oui.
Oui.
Ils auront cette discussion, il est plus crédible sur le papier, mais là, il a moins de votes qu'elle, donc... Et quand il pensera avoir plus de votes, il fera exactement la même chose, et il va se cracher la gueule exactement de la même façon, donc je suis là, bah, juste arrêter d'être content trop tôt, tu vois. Et je trouve, j'ai noté que Shiv leur dit un truc, dit en tout cas à Kendall un truc que j'ai trouvé très vrai, elle dit, en fait, immédiatement, quand papa est mort, vous avez saisi la couronne tous les deux et vous m'avez sorti du truc, et je comprends pas pourquoi c'est moi la connasse de l'histoire. Et j'étais là, fucking merci de dire les termes,
c'est
parce
vrai.
Que... Quand même, c'est réel. Et Kendall lui répond « Cunt is as cunt does » ou je sais
oh
pas
là
quoi,
là
en
là
mode « T'es une connasse parce que t'es une connasse ascendant connasse, quoi. » J'étais « Super, super argumentation, top, vraiment. » Je suis d'accord avec French Fry qui dit « Minute 20 dans l'épisode, c'est beaucoup trop tôt pour se la péter, mais je pense qu'ils avaient pas les time codes, malheureusement, les personnages. sinon, ils auraient pu voir « Non, non, c'est trop d'épisodes. » On en fait trop.
Et oui, t'as raison, Sylvie Marty, c'est cool qu'elle le dise enfin. Parce qu'effectivement, jusque-là, elle le dit pas. Et mais elle le dit pas aussi parce que ça lui permet de pouvoir aller les backstab. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'elle sait faire et ce qu'elle veut faire. Et c'est vachement plus simple pour elle, encore une fois, d'aller leur planter un couteau dans le dos plutôt que d'ouvrir son cœur. Parce
tu veux
que...
dire de faire exactement ce qu'ils lui ont fait à elle.
Bien sûr.
Finalement.
Parce qu'en fait, ils passent
comment
leur
tu veux qu'elle ait confiance dans je vais leur parler?
Mais parce qu'en fait, ils sont élevés là-dedans. Depuis
oui,
le début, enfin, on est
trois,
que là-dedans. Ils ont manqué d'amour, ces trois enfants. Et
ah, ça, ils ont.
Voilà.
Alors, ils ont pas eu assez de câlins, mais quand on voit les câlins qui se font dans cet épisode,
oui,
j'ai envie de dire, ne vous faites plus jamais. Arrêtez, ne vous faites plus jamais de câlins. Ne vous touchez plus, s'il vous plaît. Petit switch, retour à New York pour le dîner entre Tom et Madson. Donc, dîner d'abord pro et ensuite plus perso, mais finalement. Vraiment très pro.
J'aime tellement parce que ça commence par « Alors, qu'est-ce que t'as pensé du poisson, machin, dis donc ?» Vraiment, des discussions de merde, quoi,
ah
tu vois.
Ah, mais ils se font chier ensemble, là. Oh là là, ils ont pas envie de traîner ensemble. C'est pas le même genre de gars, clairement. Et Tom, il fait ce truc où il dit « Le poisson était bon.
Ah, »
Et
oui.
Madson, il fait «
Non, c'est
non,
de la merde. »
Je trouve qu'ils se ressemblent tous, les poissons à New York. Il est là « Ouais,
ouais,
grave. »
T'as raison.
Je vais dire, en plus, même, il dit « C'est le serveur qui nous a mal conseillé et tout. » Encore une fois, il rejette la faute sur quelqu'un d'inférieur à
lui. Le mec, c'est une girou fuckingette, quoi. Vraiment, il n'arrête pas, quoi.
Grave. Et ensuite, du coup, Madson lui demande de se décrire un petit peu en tant que
oui.
professionnel.
Pitche-toi.
Il dit « Oui, je peux chanter pour mon souper. » Mais en soi, tu vois, je suis là, c'est OK. Enfin,
ouais,
c'est une vanne, OK. Tu vois,
sûr.
C'est ton potentiel futur boss. Tu sais très bien que t'es sur la sellette. Il te dit « Bon. » Professionnellement, t'es qui ? Bon, ok, vas-y, c'est au moins une demande. Qu'est-ce que t'as pensé en tant qu'en plus ancien patron d'une entreprise de divers salariés, du pitch professionnel que Tom fait de lui en tant que manager et membre d'élite de l'équipe de Madson ?
Lui dit qu'il grind, tu vois, et qu'en fait, il est bon parce qu'il grind, et qu'il est bon parce qu'il est prêt à encaisser la douleur, et en plus, il ment pas, parce qu'on voit très bien que ça fait... environ 4 saisons qu'il mange de la merde, en fait.
Le mec, il sort avec Chivreuil, donc encaisser la douleur, ouais, je pense que...
Voilà.
Ouais, il est...
Il
est rodé.
Et ça me parle d'autant plus que je crois que j'ai eu beaucoup ce... En fait, il dit qu'il est un bon manager parce qu'il passe son temps à s'inquiéter. Il passe son temps à... Il dit « I worry ».
Et je grind, genre j'arrête jamais de bosser parce que je m'inquiète tout le temps.
Parce que je m'inquiète tout le temps et qu'en fait le mec c'est un putain d'anxieux et ça m'a pas mal parlé. Je crois que j'ai été beaucoup là-dedans dans l'anxiété de faire en sorte que la boîte tourne et que comment tu fais pour faire en sorte, t'y penses en permanence en fait, t'as tout le temps la tête au boulot.
Ah t'es trop pur parce qu'il dit pas du tout ça, il dit je m'inquiète de ce qui me menace moi. De ce qui menace ma sécurité,
voilà,
mon intégrité physique, mon niveau de vie et tout. Il y a rien qui dit sur son équipe, sur la vision. Et avant de dire
«
je bosse parce que je m'inquiète et tout », il dit « en tant que manager, je suis simple. Je réduis les coûts et j'augmente les profits.
Oui.
J'implémente la stratégie que tu décides. Je suis un rouage qui fonctionne bien. Je suis pas là pour décider de ce que les gens veulent. S'ils veulent regarder et manger de la merde, je vais leur dire bon appétit. » Donc il a vraiment ce truc de
Ouais, les, moi, gens, je vais... les gens dans le j'ai chat me des... vannent.
Oui, les gens, ils disent trop mignon.
Je suis un bisounours. I know.
Et ensuite, il dit, je suis un gros bosseur parce que je m'inquiète, mais il s'inquiète pas.
Il est temps que cette série s'arrête pour moi. Oui. Parce que ça me suce de l'énergie vitale, clairement.
Oui, je sais plus à quel épisode t'avais amené ce truc de, en fait, j'ai un peu hâte que, enfin, c'est dur là. J'ai un peu hâte que ça s'arrête. Bon. Et au moins, ça s'est bien fini. Donc, Tom fait ce pitch. Moi, j'ai trouvé c'était un très bon pitch. Déjà, tu sens qu'il se connaît. En fait, il se connaît très bien. Et il sait comment il bosse, mais aussi qui il est, puisqu'il y a cette double truc de comment je bosse et pourquoi je bosse comme ça. C'est parce que je suis zinzin. Et c'est aussi exactement ce que Mattson a besoin d'entendre.
Bah, oui.
Donc, pour moi, il gagne des puntos.
Et en même temps, il est ultra lucide. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'il soit honnête. Tom, je trouve, qu'il ne se survende pas. Alors que là, en fait, pour moi, il ne se survend pas. Il est juste en train de dire qui il est vraiment. Donc, plutôt cool. Et effectivement, il a raison. Mais je crois qu'il ne se rend pas compte de qu'il est en train d'amener à Mattson sur un plateau une solution alternative.
Une cartouche
en fait.
Contre Shiv. Ouais, je ne sais pas. Ce serait intéressant. J'ai pas lu d'interview. J'y avais pas pensé. À quel moment il y a un truc de réfléchi du côté Tom, tu vois, ou est-ce qu'il est vraiment en mode.
Pour moi,
je ne suis pas sûr que ce soit sur son radar.
Ouais,
qu'il peut être
pour
PDG,
pas tu
vois.
Bien sûr.
En même temps,
tu vois sa gueule, il s'y attend pas du tout. Il est là, ah okay.
Oui, après, il est là, motherfucker. Parce que du coup, deuxième partie de la discussion, Mattson lui dit, est-ce qu'on peut parler sincèrement, privé. Quid de Shiv, j'ai un peu mes doutes pour différentes raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles il a ses doutes professionnellement avec Shiv?
Alors, spoiler, il a envie de la ken.
Oui.
Et que, dans d'autres circonstances, comme il dit, sans doute, elle aurait aussi envie.
Ah bah, clairement, il est en mode, on va probablement se ken. Et vu mon histoire avec Eba, je sais maintenant que si elle bosse pour moi, c'est chiant. Donc, elle a qu'à pas bosser pour moi, comme ça, je pourrais la ken. Il dit ça à son mari.
Il dit ça à son mari. Et en fait, je trouve ça fabuleux que, dans l'écriture, tu vois, d'avoir fait dire à ce personnage-là, à son mari, parce qu'en fait... Mattson est tellement convaincu que l'autre, c'est juste une sous-merde qui va rien dire, en fait.
Ah, pour moi, ça fait partie du test. C'est le test ultime. C'est littéralement, il le regarde et il lui dit, je pense que je vais baiser ta femme, t'en dis quoi? Et Tom, il est là, ok.
Bah, il
et
le sait.
Pour moi, c'est ça qui fait qu'il décide de lui proposer le poste. Tu
après.
Vois, c'est ce truc de masculinité ultime. Et en plus de dire qu'il a envie de la baiser, il dit, elle a trop d'idées. Moi, j'ai assez d'idées. J'ai pas besoin de quelqu'un qui a des idées. J'étais là, vraiment, t'es de tort en tant que femme, avoir trop d'idées et être baisable. Waouh. We can never win. Désolé.
Non, mais il a besoin de quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. C'est ça, je crois que c'est ça qu'il veut dire.
Ouais, non, il a surtout besoin de quelqu'un qui lui dira pas non. Enfin, qui dira oui à tout ce qu'il dit, quoi.
Oui, mais qui coupe des têtes, tu vois. Et en fait, Shiv, c'est pas sûr qu'elle sache le faire.
Bah, il amène pas. Je suis pas sûr qu'elle ait les reins pour revirer des gens. Ou il dit pas she's not a killer. Il dit elle a trop d'idées.
Je l'avais compris comme ça, moi. Vraiment dans le sens. Ok, en fait, c'est juste une penseuse, tu vois. Et elle est pas. Elle est dans la stratégie, tu vois. Et elle est pas.
Ah non, parce qu'il dit qu'elle l'a poussée sur comment on sort et quand on sort les chiffres de l'Inde et tout. Pour moi, c'est ce truc de je veux pas d'une femme avec des opinions dans mon équipe, tu vois.
Okay.
Je veux pas quelqu'un avec des opinions à ce poste-là. Et encore moins une gonzesse que j'ai envie de soulever parce que il paraît. Que soulever des gonzesses qui travaillent étroitement avec toi, c'est pas une super idée.
Quelle idée.
D'après ma dircom, à qui j'ai pas du tout envoyé des briques de mon sang congelé. Quand même incroyable le plotline dans cette saison de Succession. Bon, les gens sont d'accord dans le chat sur le fait que c'est un test envers Tom de lui amener je vais peut-être baiser ta femme. Et qu'effectivement, Tom ne se projette pas en PDG.
Oui, et n'oublions pas que Tom et Shiv ont eu une période de couple libre. Donc peut-être que Tom, il est là aussi. Bon.
Ouais,
on sait pas, c'est pas.
Ça a jamais été lui qui était pour la liberté dans le coup. Et puis de toute façon, sa dernière discussion avec Shiv, il lui a dit, je sais même pas si j'ai envie d'être avec toi. Donc, mais pour moi, Mattson, il fait ce test de virilité de con avec Tom, tout en étant sincère dans ce qu'il dit. Hein. Je pense que c'est des vraies.
Ah oui.
Des vraies réserves qu'il a envers Shiv, mais on savait depuis le l'épisode dernier qu'elle serait pas PDG Biscuit.
D'ailleurs, Tom, il dit, je crois que Mattson, il s'excuse, tu vois, de lui parler aussi franchement. Et Tom lui dit, we are men. Genre.
Ouais.
Ok.
Vraiment, c'est bien de pas être invité au Boys Club.
On
mais
les adore.
Visiblement, il se passe des trucs au Boys Club. Et donc, Mattson conclut la discussion en offrant le poste de PDG à Tom Wamsgams. Wamsgams the man.
Wamsgams, et on comprend très vite, en fait, qu'il lui offre ce poste, mais pas pour avoir un associé.
Ah non,
juste
non, il lui dit.
Pour avoir une. Comment il dit? Une front.
Une pain sponge.
Alors,
une éponge à douleur.
Oui, il dit. il dit qu'en gros, ça va être un peu une vitrine, quoi. Tu vois.
Oui, oui, une vitrine.
Avant de dire que ça, qu'il a besoin d'une pain sponge.
Une vitrine pour l'apparence et pour calmer justement les législateurs ouais. américains qui ont peur d'une trop grande emprise de la tech étrangère sur un média américain. Du coup, c'est une vitrine, mais aussi une éponge à douleur parce qu'il dit on va tailler dans le gras tomber, là, bien tight. Et bah, il avait dit qu'il voulait désassembler Waystar, que pour lui c'était un assemblage de pièces détachées à arracher, à revendre.
Ce qui est sans doute
donc, Tom,
vrai.
Il va virer des gens. Mais on sait que non seulement il sait déjà le faire, mais il a déjà quelqu'un à qui le déléguer.
Oui. Qui... Souvenons-nous de cette fameuse réunion Zoom.
Incroyable. Donc et Manson est bien placé pour savoir que Greg a cette compétence. Donc bon bah job proposé. Tom ne dit pas non, hein, clairement. Et Manson va chercher des shots, ce qui donne à Tom et Greg l'occasion d'avoir un petit tête-à-tête assez fébrile quand même, hein, parce que Greg il arrive, il voit Tom tout chouque et il croit que Tom il s'est fait virer en fait. Mm. Il croit que c'est ciao et du coup ciao pour lui aussi. Et il y a un petit micmac avant qu'il sait pas, du coup, qu'est-ce que Tom lui dit?
Bien sûr.
Il lui dit pas exactement ce qui vient de se passer.
Il dit juste, ok, c'est chelou. Et à ce moment, c'est là où Greg rejoint les Suédois. Et ultra smart move.
Grave, parce que bien sûr, les Suédois. Bravo, les zoomers.
Les Suédois, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent en suédois pour faire en sorte que fucking Greg the Egg comprenne pas. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il sort son translator en direct, quoi.
Big brain.
Énorme move smart. De la part de Greg, franchement, oui. par rapport à tout ce qu'il a pu montrer dans la série.
Greg, en moyenne, oui.
Et c'est là qu'il apprend, non pas que Tom est nommé,
non.
mais que ça va pas être Shiv.
Ouais. Et Tom lui a juste dit, normalement c'est bon pour toi et moi, mais il lui a pas du tout dit, oui. Je vais être PDG. Donc je pense que Greg s'est dit, ok, bah, Tom garde son poste, mais Shiv sort. Du coup, il a la moitié des infos. Alors, Louise Labrouette nous dit, je veux bien son traducteur, il a l'air super efficace. En effet, je pense qu'on est un peu sur technologie for TV, parce qu'en plus, le mec de Decoding TV, il a dit, en fait, moi, j'avais essayé de faire ça pour justement l'épisode en Norvège où il parle suédois. Il avait mis Google Translate pour comprendre ce qu'il disait. Ça n'avait pas marché, ça n'avait pas capté assez. Donc bon, on va dire que dans un bar, tout ça, ça peut être compliqué, mais ça fonctionne très bien. Et Greg, Greg, il est toujours sur les deux tableaux, de toute façon, puisqu'il a cette info, il le dit pas, enfin, il dit pas à Tom qu'il en sait plus que ce que Tom a dit.
Il a bien été, coaché et managé et mentoré.
Avec une information, Fabrice.
On la met à la cave, c'est ça?
On la met à la cave, on la stocke.
Comme du bon vin.
Tout à fait.
Avant de s'en servir pour fracasser la tête.
De quelqu'un. Et donc là, Greg, il fait le move de, il va partager cette information, on va le voir, avec Kendall, et ça va assez vite, foutre la merde. Retour chez Caroline, du coup, c'est le dîner, et on se rend compte de la vraie raison pour laquelle Caroline a invité ses enfants à cette retraite dans les Caraïbes, qui n'était pas, spoiler alerte, l'amour maternel
non.
et le fait que ses enfants lui manquent.
Non.
Qu'est-ce que c'était?
Bah, Peter a un pitch à faire aux enfants.
Fucking Peter.
Mais alors lui, on comprend un peu mieux que en fait le mec est vraiment un escroc notoire parce que mais à travers quelques petites phrases vraiment du genre on imagine c'est quoi le pitch, t'as compris, c'est des maisons de retraite non?
Bah
c'est
lui
ça
on sait qu'il bosse dans des maisons de retraite mais genre ultra qui exploite de fou les vieux ou c'est ultra pas qualitatif
oui, parce qu'il
hyper
dit,
cher
c'est pas un truc, c'est pas un service que tu voudrais avoir pour toi.
Oui mais on le savait, enfin même au mariage ils avaient déjà établi que c'est pas enfin c'est un mec qui gagne son argent dans les maisons de retraite mais qui est un connard quoi, qui essore vraiment les vieux et qui fait le maximum de profit.
Mais il pourrait faire ça, il pourrait essorer les vieux de façon légale. Là on comprend qu'en plus t'as son associé qui est là et qui dit franchement légalement on devrait pas se faire choper normalement.
Ouais, c'est déjà t'as envie d'y aller déjà.
Bien sûr. Et surtout à un autre moment Caroline dit en fait vous êtes gonflé parce que en gros c'est un peu dangereux pour
son ami il est venu de Monaco jusqu'ici, donc Monaco la Barbade, c'est pour le coup c'est une trotte.
Et Peter, c'est dangereux pour lui de venir.
Il doit surveiller
à la Barbade.
Les jours qui ouais, ces jours ici sont comptés ou risqués, j'étais là quoi.
Potentiellement, qu'est-ce qui
il y a de l'évasion fiscale quelque part,
sans doute,
il y a des gens
le mec
qui sont recherchés,
qui
vont sur le sol américain, il y a bon,
sans aucun doute.
Il y a des bails, donc ouais, c'est louche et il présente ça aux enfants bien sûr milliardaires en mode, on voulait bien sûr vous donner l'exclusivité du deal avant que tout le monde se jette dessus. Et
vous tour.
Vraiment, ils font même pas semblant d'écouter une seule seconde, quoi.
Ils sont là, mais quoi, c'est... Ah ouais, c'est un piège, quoi, c'est ça, t'es en train de... C'est un guet-apens.
Oui.
Et c'est là que le téléphone de Kendall sonne. Et Kendall se barre. Enfin, vraiment, il en a même rien à foutre, quoi. Vraiment,
il s'excuse même pas. Non, non, mais Peter, pour le coup, c'est no real person. Il ne le considère pas du tout comme un être humain.
On va en parler après.
Et comme ils sont à un niveau d'énergie avec leur mère et de patience.
Fromage.
Ah oui. Le fromage de Peter. Le fromage de Peter. Non, j'allais dire, il y a aussi ce truc de. En fait, ils sont beaucoup plus clairs avec leur mère sur le fait que c'est une mauvaise mère et que du coup, ils ont un niveau de patience très bas avec elle. Donc, tu vois, jamais ils se seraient barrés de table avec Logan qui invite quelqu'un pour eux, tu vois. Jamais de la vie.
Et on
Donc, il y a aussi ce truc de. Ils font pas d'efforts quand c'est la daronne.
On comprend peut-être aussi pourquoi Peter s'est occupé de Roman et lui a mis du collier dans les yeux. Peut-être qu'il avait une idée derrière la tête, le connard.
Bien sûr. Gabrielle dit, je suis pas d'accord que c'est la raison pour laquelle elle les invite, c'est le pitch de Peter. Pour moi, elle fait ça parce que Peter l'a fait chier. Pour moi, c'est 100% pour ça qu'elle a organisé la retraite à la Barbade, mais peut-être que tu es plus optimiste que moi et que tu as raison.
Et sans doute qu'elle le fait aussi parce que Peter l'a fait chier.
Oui, bah après, ça l'occupe, tu vois, le gamin, il est content, quoi. C'est qui appelle Kendall ?
Eh bien, c'est Greg.
Oui, Greg Zieg.
Greg, avec son information, qui est quand même une information...
Là, il a something
fatos,
amazing.
Something amazing. Est-ce que tu pourrais me donner en échange quelque chose d'incredible ?
Tout à fait.
Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois ? Il négocie, ce con.
Bah, il a raison. Et puis, il a pas leur donner gratos.
Bien sûr.
Il est pas con.
C'est comme ça qu'il est arrivé là où il est, finalement. Hein.
Tout à fait. Et puis bon, ils vont jamais lui rendre la moindre faveur. Remember ces derniers $20 qu'il a donné à Shiv, épisode 2, saison 1, elle lui a jamais rendu. C'était ses derniers $20.
Putain.
Donc il va jamais rien leur donner.
De l'eau a coulé sous les ponts depuis.
Oui. Mais il a la grosse info.
Il a la grosse info. Il finit par la donner à Greg, à Kendall, qui s'empresse d'envoyer bouler Peter et de mettre en place une réunion, un point 3 avec son frère et sa sœur. Ah, putain, le chat!
Sorry, j'allais te prévenir, je crois
je
que
l'ai
le
pas
chat
vu.
Arrive. Moi, je l'entends, elle fait
avec
ses pattes. Sorry, sorry. Fabrice est en short. Une information intéressante quand on a un chat avec des griffes. Sorry. Non, t'es chiante. Ta vieille queue devant la cam, là, casse-toi. Bon, attendez, je vais virer mon chat.
Bonjour. Et bref, oui. Maman ! Pour tous les gens du podcast, désolé si je vous hurle dessus.
On a 60 mètres carrés, maman, vraiment, tu as de la place. Au revoir. Donc, Kendall provoque une réunion de fratrie. D'urgence.
Voilà.
Emergency powwow. Il décide tout de suite de le dire à Shiv, quoi. Pour le coup, il est pas en mode je stocke l'info à la cave, il est en mode c'est maintenant, c'est demain le vote, donc ouais, il faut. Et du coup, il réquisitionne Shiv et Roman et il leur dit bon, Shiv, Madson interview d'autres, enfin, fait des entretiens avec d'autres gens pour le poste de PDG.
Bien sûr, elle ne le croit pas, parce qu'elle croit que c'est un move.
Ce qui se comprend.
Ce qui se comprend.
En vrai.
Et en fait, elle finit par aller vérifier. Et effectivement, elle récupère le communiqué de presse, c'est ça ?
Ouais. Où c'est Carolina qui lui file. Carolina aussi. Carolina, elle est dans tous les bons bails, hein, parce que peu importe qui gagne, tout le monde veut Carolina dans son équipe
bien
à
sûr.
La fin. C'est my girl, je l'aime beaucoup. Je suis contente qu'elle ait des petits moments. Et du coup, force est de constater qu'il faut se rendre à l'évidence. Oh non, une femme enceinte n'était pas pressentie pour être PDG dans un monde patriarcal. Bon. Ça peut expliquer pourquoi elle passe assez vite en mode ok, qu'est-ce qu'on fait quoi. Enfin, elle est surprise, mais pas choquée, mais pas déçue, je dirais. Ou l'inverse. Déçue, mais pas choquée. C'est genre, ah, il me l'a fait à l'envers, bon.
Classique.
Peut-être qu'elle l'avait quand même envisagé
en
l'éventualité.
Ils ont été élevés là-dedans, donc.
Oui, c'est vrai. Et on est back on track. Du coup, il y avait trois enfants au téléphone avec Télis pour valider que, ok, si jamais c'est pas chiffre PDG, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? En termes de succession, du coup, qu'est-ce qui marcherait bien à la tête de la boîte, à ton avis, Fabrice ?
Alors moi, à mon avis, sans doute aucun des trois, mais en tout cas pour Kendall, c'est sûr et certain que Kendall is the man, voilà. Donc, et en même temps, encore une fois, je le comprends parce que ses arguments, ils sont bons. Il vient juste
entre les trois ?
Oui.
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 J'aime bien que Roman, ce soit un peu un sujet, mais pas tant, tu vois, ils sont là, fratés, c'est... Se battre, lever l'encre pour toi, vraiment, c'est ciao.
Et en fait, quand il dit, Shiv, ça peut pas être toi, parce que hier, t'étais en train de soutenir Madson. Si on va voir le board en disant, en fait, on a un super plan et la nouvelle boss, c'est Shiv, c'est vraiment chelou, quoi. Ça veut dire, c'est un revirement assez bizarre. Ce qui est vrai, en soi. Et donc, ils finissent par... Bon, ils s'embrouillent et tout, et ils finissent par se retrouver à la plage.
Alors attends, parce qu'avant ça, quand même, dans cette conversation, il y a... Ils parlent tous de à quel point leur daron leur avait dit ce sera toi.
L'origin story de Kendall.
L'origine, la vilaine, la super vilain origin story de Kendall Roy. 7 ans, avec son père qui lui promet tu hériteras de la boîte. 7 ans.
Mais faut être fucké pour faire ça. Hein.
Ouais, faut être bien niqué de la tête. Et d'ailleurs, Kendall, il le dit. Il lui dit c'était pas correct. Il dit c'était pas correct, il aurait pas dû faire ça. Et Shiva, elle dit non, il aurait pas dû faire ça. Donc, je crois que c'est là où Roman dit Pix aurait dit Don't Happen.
Oh là là. Bien sûr.
J'aime tellement des fois ce petit connard.
Bien sûr.
Mais Shiva, elle a un moment d'empathie de. Ouais, non, 7 ans, c'est chaud. Et puis aussi, enfin, Kendall, on en parlera, mais il a des enfants, peut-être qu'il se représente un peu plus à 7 ans, à quel point ça peut te vriller le cerveau, quoi. Donc, on a quand même. Au-delà de c'est moi qui veux le poste, ils parlent beaucoup de leur père. Et à quel point leur père leur a mis dans la tête.
Bah oui.
C'est toi qui devras l'avoir.
Et d'ailleurs,
quoi.
Roman dit bah en fait, moi, j'ai été le dernier à qui il l'a dit.
Oui, il y a ce truc de. Moi, il me l'a dit en premier. Oui, mais moi, il me l'a dit en dernier. Et je suis là. Ouais, elle est en fait. Mais c'est pas la raison. Ce sera jamais une bonne raison. Parce qu'en fait, c'est pas une royauté. C'est genre, papa a dit, ça ne marche pas comme argument, tu vois.
Bah
c'est juste entre eux que ça compte. Et le reste du monde, il s'en fout de ce que Logan, il a dit. Le board, il est là.
D'autant plus qu'il est l'argent. Dead.
Oui. Et comme dit Tom. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis sa mort, Logan Roy a perdu un petit peu d'influence par ici. Donc tout le monde s'en fout de ce que Logan avait décidé, à part ses enfants qui ne vivent que pour ça. Merci beaucoup, Poète, pour le sub. Merci, merci. Marty dit, moi j'ai compris qu'il n'aurait pas dû tous leur promettre et les monter les uns contre les autres. Bah oui, mais ça l'a diverti. Ça l'a diverti pendant sa vie. Effectivement, on va à la plage. Kendall Roy sur la plage, moi je suis pas bien.
Ah bah dès qu'il y a de l'eau.
Moi je suis en alerte orange, je suis là, les maîtres nageurs ils sont où, la police de l'eau, les canadaires et tout, qu'est-ce qui se passe?
Et puis il y a surtout ce con de Roman qui dit non mais il y a un requin là, il y a des requins et tout. Il a vraiment des peurs putain qui viennent de nulle part.
Mais c'est un enfant quoi.
Mais c'est
et
ça.
Et là non je veux pas y aller, il fait noir et tout, peut-être il y a des requins hein, et toutes les mers sont connectées tu sais.
C'est comme un réseau, c'est comme un métro, putain mec.
Oui. Mais il finit, je me suis dit, il y aura peut-être un truc de Roman va pas dans l'eau comme Logan va pas dans l'eau et tout, mais parce que un truc de violence physique subie aussi, mais finalement non, il y ira. Kendall, il va en premier, évidemment. Number one boy, toujours number one dans l'eau.
Ouais, et puis il y a un côté, on est là, tant qu'à faire, c'est sympa, venez, on va passer un bon moment aussi, je crois, en fait,
oui.
Un peu de la part de Kendall.
Oui, il est en mode, on va nager jusqu'à cette jetée flottante et puis on en parlera là-bas, on va se vider un peu la tête.
Exactement.
Ce qui laisse à Shiv et Roman une occasion de parler de deux éventualités bien différentes, finalement.
Bah de couronner Kendall, mais éventuellement aussi de le tuer.
Il y a un peu ce côté genre, parce qu'on pourrait.
Bah oui.
Parce qu'on peut.
Avec une noix de coco.
Oui, ils genre ont vraiment... une noix de coco sur le... un coup de noix de coco sur le crâne.
Pour
et...
moi, c'est là aussi où ils redeviennent des enfants. À ce moment-là, ils ont vraiment une discussion très enfantine.
Oui.
C'est, vas-y, on disait que, tu vois. On dirait que.
Oui, et après, allez. Ils l'imitent en plus.
Oui. Ah, mais alors,
comme des gamins pour le coup.
Pire imitation. Si je puis me permettre.
Oui, désolé, je pense que mon imitation de Kendall Roy n'est pas ouf, est mieux que celle de son frère et sa sœur, qui ont grandi avec
qui est
lui,
nul, vraiment.
Qui sont nuls en imitation de Kendall
J'avais
Roy.
Même pas capté la première fois qu'ils étaient en train de l'imiter, au premier visionnage. Je l'ai capté au deuxième. Incroyable.
Désolé, pour des bons acteurs. Ces acteurs jouent bien des gens qui imitent très mal quelqu'un d'autre, qui est leur frère que nous, on a beaucoup vu et qu'on connaît bien. Donc ils ont cette discussion lunaire de, en vrai, donnons-lui, tu vois. Enfin, il y a aussi ce truc de, bon, bah, on est au bout du chemin, ça peut pas être toi Roman, on le sait, ça peut pas être Shiv, en vrai ça se tient, tu vois, que entre les deux c'est Kendall qui est le plus cohérent, mais il y a un peu ce truc de ah ça fait chier,
Shiv le dira plus tard.
Oui, et aussi ce truc de en fait on peut quoi, on pourrait, et c'est ce truc de ils ont été élevés à si on te donne un couteau essaye de le planter dans ton frère pour voir ce que ça fait quoi.
Bah oui.
Donc bon, a priori non c'est bon, ils vont voir Kendall. Shiv lui dit, on était en train de se dire qu'on va peut-être te buter.
Et Roman lui dit, mais il lui dit pas quand même, hein.
Mais vraiment des gamins de fou. Et ils lui disent, bah non, c'est bon. On t'anointe.
Et c'est très drôle parce que d'ailleurs, je crois que c'est Shiv qui dit, non mais souris un peu. Enfin, tu vois, genre,
oui,
montre que t'es
bon.
Joyeux, quoi.
Happy Ken.
Ouais. Happy Ken, putain.
Il lui demande. Happy Ken, et elle lui dit oui, c'est à ça qu'il ressemble Happy Ken. Il y a aussi ce truc de il est là, je suis heureux, c'est bon. Ah, ouais. Ah, ils se fracassent.
Bah, ils ont, oui.
Et Roman lui dit, alors c'est une blague, mais c'est aussi très vrai, et ça finira, je pense, par être ce que pense Roman à la fin. Il lui dit, profite bien de ton héritage, il lui dit ta babiole, comme si voilà, tu t'es battu pour l'avoir, l'héritage, tu l'as eu. Elle est hantée et maudite, et rien ne se passera jamais bien, mais elle est à toi. Et je suis là, bah en fait, il a raison, et peut-être qu'à... On en parlera, mais peut-être qu'en empêchant Kendall de prendre la tête de Waystar, ah, il le protège aussi d'un truc qu'il aurait... Enfin, c'est un peu un... Ouais, c'est un truc maudit, quoi.
Kendall le dit. Kendall le dit d'ailleurs dans son fameux pitch. Il dit, bah, c'est un job qui te tue, quoi.
Oui.
En fait, je suis prêt à le faire.
C'est un job horrible qui très clairement te bute. Et je ne veux faire que ça. Je suis à... Ouais, du coup, des gens qui t'aiment peut-être te diraient, bah non, fais
ouais,
peut-être
mais bon,
autre chose. Et en même temps, est-ce que tu peux faire
non,
autre chose?
Parce que ton papa, à 7 ans, il t'a dit, c'est ça que tu feras, mon fils.
Oui. Ça rejoint un peu, on avait fait un épisode de notre podcast Cinéma le Film Club sur Whiplash, où un film qui parle de batterie, de la batterie, la musique, instrument de musique, et de la batterie jazz, et qui montre un jeune passionné de batterie, un peu jeune prodige, qui se fait bolosse par un prof hyper toxique, bah, un peu Logan Roy Energy en vrai. Mmh. Je pense qu'ils pourraient boire une bière ensemble, les deux,
ah,
là,
oui.
Le prof et Logan Roy. Et on avait débattu de est-ce que c'est possible... d'atteindre l'excellence sans souffrir autant déjà. Bon, pour le coup, Kendall, je dirais pas qu'il a atteint l'excellence
non.
dans le business, ça va. Mais il y a un peu ce truc de, est-ce que c'est possible de reformater quelqu'un qui est autant obsédé par un truc, tu vois? Et est-ce que c'est possible pour ces gens d'être satisfaits même s'ils atteignent pas le truc toxique qu'ils veulent tellement atteindre, quoi?
Sans aller en thérapie, non.
Ben, le problème, c'est qu'il y est, Kendall. Hein.
C'est pas depuis...
Et à mon avis, il a un bon psy, hein, il doit être cher.
Pas depuis très longtemps.
En vrai, je pense que Kendall, il y est depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il dit, genre, je le sous-traite à mon psy et tout. À mon avis...
Non, mais ça fait un an, deux ans. Enfin, ça fait même si ça fait depuis le début de succession, ça fait cinq ans. Et le mec, il a quoi, 40, 45 balais. Ça fait pas longtemps par rapport à vraiment les traumas accumulés depuis l'enfance. Franchement, non.
Ok.
Il y a encore du taf.
Dans ma tête, il fait un peu partie de ces gens qui vont en thérapie pendant 10 ans et qui en retirent jamais rien parce qu'ils vont jamais... Tu sais, genre, tu peux parler pendant 10 ans à un psy et pas absorber ce qu'il te donne et contourner toujours les mêmes trucs.
Là, peut-être que ça va l'aider.
Et pour moi, il y va parce qu'il sait qu'il faut y aller et que c'est un truc de posture un peu, tu vois, et qu'il se dit comme ça, je fais le truc, je suis moderne et tout. Peut-être que là, ces séances de psy vont être...
Là, à mon avis...
Un peu plus intéressantes.
Normalement, en général, quand tu vas prendre un mur en pleine face à 300 à l'heure, ça... normalement, tu finis par écouter peut-être et prendre ce que le psy va te dire.
En tout cas, c'est le moment éventuellement de s'y mettre. Happy Ken! Et Happy Shiv et Happy Roman.
Cette
du
scène.
Du coup, on zappait le dîner. Donc, il est temps de se faire un repas royal
pour
le roi Kendall dans la cuisine de Caroline à la Barbade.
1000 feet for the king, c'est ça?
1000 feet for the king, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce repas royal qui a l'air d'être une tradition de leur enfance?
Bah, c'est pareil, c'est vraiment un truc de gamin, quoi, tu vois, où tu mets dans un shaker toutes sortes de trucs qui vont pas du tout ensemble.
Sachant que la daronne, elle a pas grand-chose de bon de base.
Voilà. Donc du cacao, des œufs, les coquilles d'œufs dedans,
du lait,
du pain de mie,
du tabasco,
beaucoup de tabasco,
ouais.
beaucoup.
Ah ouais. Et pas de fromage finalement, ils foutent même pas le fromage
non,
dedans.
Non, le fromage on va en parler, mais oui.
Et un petit crachat de chiv.
Un petit crachat à la fin, c'est vraiment la cerise.
Tout à fait. Je suis désolée de vous le dire, mais quelqu'un plutôt dans le chat se demandait... parce qu'on sait que Jeremy Strong a vraiment bu ce smoothie avec ce qu'il y a vraiment dedans. Ils n'ont pas fait une version buvable, ils ont fait un cut. Parce que c'est Jeremy Strong qui fait
tout
les trucs.
À fond.
Voilà. Et donc, cette grande gorgée qu'on le voit boire, il l'a vraiment bu. Et le crachat de Sarah Snook qui joue Steve est réel. Voilà. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'un peu de salive dans la vie finalement?
Bah, oui, c'est ça, c'est l'acteur studio, quoi, tu vois.
Oui. Et après, Mr. Malik dit le crachat de Steve, c'est du foreshadowing de la trahison. Et c'est vrai que oui, ça fait un peu calice empoisonné.
Bien sûr.
À boire jusqu'à la lit, même si bon, heureusement pour lui, il le finira pas. On a quand même Caroline aussi qui fait une interruption dans cette scène, donc il y a toujours ce côté chut, il y a maman qui arrive, elle va tout compter.
Il y a maman qui arrive, et en fait, maman, elle dit il y a Peter qui casse les couilles, qui n'arrive pas à dormir. En plus, c'est même pas elle qui dit que. Elle, on a rien à foutre a priori.
Elle râle sur sa maison, elle est là, oh, je suis dans le seul enfer au paradis. Je suis là, vraiment, ça va.
Et elle, on apprend quand même deux trucs complètement dingues. C'est que, elle garde les quignons de pain de mie. Parce que Peter aime pas ça. Elle les met dans un sac surgelé.
Ouais.
Incroyable.
Elle est milliardaire quand même. Hein.
Bah ouais.
Mais je vais faire un sondage très important dans le chat. Votre avis sur les tranches du début et de fin du pain de mie. Moi, je suis en mode, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Voilà. Mais vas-y.
Ok, ok. Et donc, ouais, effectivement, il y a ce truc-là qui est vraiment étonnant de sa part. Et en même temps, c'est d'autant plus étonnant que, comme tu disais, elle est, tu vois, c'est pas une arrivée. Donc, elle est dans la bourgeoisie, elle est dans, depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment bizarre, ce move. Mais bon, pourquoi pas.
Mais je crois que c'est un truc de personne très riche d'être à pied sur des trucs de merde, tu sais.
Mais, ok.
Je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a un truc de, aussi, on sent qu'elle a tous, il y a tout un thème autour de Caroline et la bouffe, de, elle sait pas les nourrir, il y a jamais assez à manger, c'est pas bon et tout. Et c'est, enfin, même Roman lui dit, délicieux, un sachet de bout de pain de mie surgelé. Et pour moi, ça rentre aussi dans ce truc de, elle a aucune idée de c'est quoi un bon repas et tout, tu vois. Ils sont pas fâchés de rater son dîner d'ailleurs.
Et donc, on s'imagine que Peter, lui, en revanche, il a acheté du bon fromage. Parce que y a rien du tout dans le frigo. Et donc, effectivement, Roman trouve le fromage.
Et à mon avis, à la Barbade, du bon frometon qui a l'air bien suisse, là. Faut se lever tôt. Je pense qu'il l'a emporté, hein.
Ouais. Et clairement, et en fait, Caroline est là, mais touche pas au fromage de Peter, il va m'engueuler et tout. Et puis elle dit, je me suis déjà fait engueuler parce que j'ai touché à son fromage et tout. Putain, on imagine tellement le mec qui lui casse les couilles en permanence, c'est magnifique. Et donc, Caroline finit par partir se coucher. Et Roman ressort le fromage et le lèche.
Partout, pendant que tout le monde pète un câble. On a vu l'épisode hier avec des potes et il y en a un qui a dit, mais ils ont, bah, je crois que c'est Nodus qui a dit, mais ils ont l'air fonce-car en fait, ils ont l'air défoncés ou bourrés, quoi. Ils sont vraiment dans une euphorie, on dirait qu'ils ont pris un truc, quoi.
Bah, alors que non, ils sont juste heureux. C'est, pour moi, c'est la joie de l'enfance qui s'exprime là.
Oui, clairement. Et aussi une forme de drop émotionnel de tout ce qu'ils ont encaissé. Enfin, rappelons vraiment, leur daron, il est mort il y a 8-10 jours là dans leur monde. Roman, son nervous breakdown à l'enterrement, c'était il y a 3-4 jours, donc il y a ça aussi qui retombe, et ce truc de... À chaque saison, il y a au moins un moment où ils se retrouvent un peu enfants comme ça, souvent à l'étranger d'ailleurs, et où ils retrouvent cette camaraderie, où on voit un peu ce qui aurait pu être, ce qui pourrait être s'ils n'étaient pas aussi fucked up.
Ouais.
Vérifie s'il n'y a pas le chat qui va te monter dessus.
Non, il est là-bas.
Super, tu surveilles.
Il se courait après la queue tout à l'heure, il est complètement con. Hein,
ah oui, il est très bête. Il y a quand même... Donc, Caroline... exit à ce moment-là, mais il y a quand même un truc qu'on n'a pas mentionné sur elle avant de finir cette super scène de la cuisine, c'est que son avis sur ce que devraient faire les enfants, parce qu'elle leur dit quand même, c'est qu'elle dit, en fait, moi je pense un peu que ce rachat par ce gars-là, Madson, qu'elle dit en plus cet homme horrible, tu vois, elle est pas dans sa team, mais elle est là, pour moi c'est une bonne occasion pour vous de sortir de couper. Ça, de couper, de faire votre propre vie. Et c'est rare de voir Caroline dire un truc intéressant et sympa à ses enfants, mais ça arrive parfois. Et en fait, même leur mère, qui est pas une très bonne mère, elle est là, les gamins, arrêtez, quoi.
Et c'est intéressant parce que ça justifie aussi ce qu'elle a, la décision qu'elle a prise à la fin de la saison 3, où elle trahit ses gamins. Mmh. Alors certes, pour son appartement, etc., mais on se dit aussi qu'il y a un côté, en fait, en leur enlevant ce pouvoir, parce que elle a négocié le fait que les enfants n'avaient plus le veto. Pour vendre la boîte et que ce veto revenait uniquement à Logan, il y avait aussi un côté, mais en fait, désinvestissez-vous de la boîte de votre père, en fait, c'est pas votre boîte.
Oui, et ça va pas vous faire du bien d'être dedans,
exactement.
Quoi.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
C'est tragique parce que dans le sondage, votre avis sur les nobies, les bouts de pain de mie, le myome je mange a gagné sur le c'est non je congèle à une voix près, mais c'est Fab qui a voté à ma place sur mon propre chat avec mon propre nom, alors que moi je suis en mode ça sert à rien, je congèle, même
moi,
pas, j'en fais des croûtes.
Moi je voulais, moi j'ai voté pour, voilà. Mais de toute façon, donc si t'avais voté, t'aurais voté c'est non.
Bien
on
sûr.
Était donc sur du 50-50.
Mais c'était le vote décisif comme celui de Shiv,
ouais.
Finalement, de Shiv Roy. Mentionnons aussi que cette scène de la cuisine est la toute dernière scène qu'ils ont tournée dans toute Succession. Et qu'ils étaient contents de finir avec une scène heureuse.
Joyeuse, ouais.
Même si le réalisateur, donc Mark Mylod, qui était aussi invité dans différents podcasts et interviews, et dans le Inside the Episode qui sort sur YouTube et HBO après, il dit qu'en fait c'était hyper triste, enfin tout le monde était hyper triste que ça s'arrête, et il y avait ce truc de on fait tout ça pour la dernière fois, et il a dit que pour lui c'était donc c'est lui qui réalise le final, et que c'était compliqué, et qu'il était un peu, il était là en mode en fait je m'obligeais à faire les choses un peu mécaniquement, parce que sinon aussi il y a trop d'enjeux de oula c'est la fin, faut pas que je rate la fin, tu vois, donc c'était pas un tournage très simple.
Ils sont tous en deuil, hein.
Ils ont l'air
les persos, ça a l'air d'être. Et Jeremy Strong aussi, il dit non, mais ça va là maintenant. Mais on sent très bien que c'est pas aussi simple que ça dans son interview, je trouve.
Après, voilà, Jeremy Strong, c'est le plus intense du cast, puisqu'il a dit que la moitié de l'année, il était Kendall et l'autre moitié lui-même. Donc je peux comprendre que ça met du temps pour se recalibrer. Et même au-delà de ça, bah, il y a le côté camaraderie. Pour eux, il a dit, ça fait 7 ans que je joue Kendall. Donc en fait, ouais, 7 ans de vie avec la même équipe à vivre. Des trucs aussi d'une intensité qui est pas exactement la même qu'un job de bureau, même s'il n'y a pas de honte au job de bureau.
Il y a d'ailleurs des vidéos qui tournent sur Internet, peut-être que vous avez vu, où on voit des séquences où ils sont en train de raser la tête de Kendall.
Ouais, ils ont fait une after party de cette épisode. Du coup, c'est dans cette cuisine, dans cette maison à la Barbade, où Kieran Culkin et Sarah Snook rasent la tête de Jeremy Strong, qui est consentant. Hein, ça a pas l'air d'être un prank de type harcèlement. Kieran Culkin lui casse un œuf sur le crâne, ce qui est très roman comme move. Il y a quelqu'un qui lui reverse un jus smoothie dégueulasse à un moment dessus. Ça part, mais il y a d'autres membres du casting, de l'équipe technique et tout. En sens, c'est fête de fin de tournage, comme on dit dans le milieu. Et bon, bah, c'est festif, tout le monde rigole bien. Et voilà, il me semble qu'ils ont prévu exprès que la dernière scène qui tourne, ça soit la scène la plus heureuse du final, et peut-être une des scènes les plus heureuses de la série.
De toute la série, je crois.
Ou en tout cas, on les voit, eux, être les plus heureux.
Est-ce que tu as souvenir ?
Je pense que individuellement, les personnages ont eu des moments heureux, mais ensemble comme ça, j'avoue que je pense que c'est c'est celle où ça se passe le mieux. Mais malheureusement, il reste plus de 7 minutes d'épisode, donc ça ne va probablement pas bien finir. Retour à New York. En jet privé, mais chacun a sa bagnole. Après, j'ai bien aimé parce qu'ils vont au même endroit, ces connards. Ils décident de se rendre chez Connor, donc dans l'ancien appartement de Logan. D'ailleurs, Kendall dit « on va chez mon père » à son chauffeur, qui est pas Colin, qui est...
Non.
On l'avait dit Finley, Fickley, il lui parle...
Finkel.
Un truc comme ça. Et donc, ils vont chez Connor pour ce qu'ils appellent la Great Reallocation. T'as compris tout de suite ce que c'était ?
Non.
Moi non plus, parce que j'étais sur allocution et pas allocation, et du coup j'étais là, est-ce que c'est encore Connor en politique, quoi ? Mais pas du tout, puisque qu'est-ce qui se passe dans l'appartement de feu Logan Roy ?
Eh bien, il s'agit de redistribuer les biens, parce que si j'ai bien compris, Willa veut se débarrasser de tout.
Alors, elle a un canapé motif vache. Grand comme ça, faire rentrer, okay. Donc il faut faire de la place.
Faire de la place, et puis bon, j'imagine à quel point toutes les vieilleries... De papa Logan, ça prend de la place et que c'est chargé en sens, en plus, sans aucun doute.
Mm-hmm. Oui, elle dit « Moi, j'aimerais me débarrasser d'environ tout. Pretty much everything. »
Et Connor explique, il dit « Ok, ça va être très simple, j'ai un système de stickers. » Enfin, il explique ça pendant 3 minutes.
C'est tellement drôle,
c'est long, c'est incompréhensible. J'aime il a trouvé un système qui est censé... faire en sorte que tout le monde puisse être récompensé à sa juste valeur. D'ailleurs, même, genre, comment il dit, le second tier, c'est ça ?
Ouais,
genre,
deuxième tier de personnes en deuil.
C'est genre, il y a Kerry dedans.
Il y a Kerry.
On voit Kerry passer une tête.
Il y a d'abord, Colin aussi.
Il y a
le garde du
Colin
corps
aussi.
Il a le droit de récupérer des trucs à l'eau.
En revanche, lui, il a d'abord fait un pre-round à lui tout seul, n'est-ce pas ? Où il était genre tout seul. Et d'ailleurs,
il est trop pur.
Il est trop marrant parce qu'il récupère les médailles de Logan.
Tout à fait. Qui sont, je crois qu'il y a... Mais alors, je sais plus d'où ça me sort, donc dites-moi si je me trompe, ça a des nœuds de succession. Je crois qu'il y a un bail de Logan qui collectionnait des médailles qu'il n'avait pas gagnées. Enfin, un truc de... Il a une collection de médailles, mais lui, il n'a pas fait la guerre et tout. Mmh. Et il y a un peu ce truc de... se récupérer les accomplissements des autres, quoi. Donc, ouais. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Donc le fait que Connor récupère les médailles que son père n'a pas finalement mérité lui-même, ça dit aussi des choses. Mais c'est aussi, alors déjà j'ai trouvé que les trois gamins, ils étaient les trois gamins. Encore une fois, c'est des adultes, mais bon. Ken, Shiv et Rom, ils sont choux avec Connor. Ils, tu vois, ils lui disent Kendall, il lui dit, c'est très clair, c'est un bon système. Merci Connor. Ils font des petites vannes, mais ça va. Ils sont toujours dans cet esprit uni de, ok, on va sortir vainqueur de tout ça. Mais on sent qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz côté Willa et Connor. Que c'est moins le grand amour que les dernières fois qu'on les a vus.
Bah, il l'explique pas comme ça. Il dit que, en gros, ils vont faire une relation à distance, mais pas à distance genre d'une ville à l'autre, non, vraiment d'un pays à l'autre.
Ouais, ouais, et pas genre Amérique-Canada, quoi. Amérique, États-Unis, Slovénie. Où bah, Connor sera ambassadeur si Mencken est confirmé président. Mmh.
Et Roman dit d'ailleurs, non mais c'est normal, c'est votre crise de la quinzaine de jours, quoi. Parce que ça fait 15 jours qu'ils sont mariés.
Lui-même, quand il est à 2% d'énergie, il a toujours les petites punchlines, hein, ce connard.
On le voit dans la saison 1 à Thanksgiving, ok.
Yes, l'histoire des médailles, oui. Petit Pingoudi aussi, il se prend la tête avec Yuen sur ses médailles, ses fameuses médailles qu'il a, pour lesquelles il ne s'est pas battu. Parce que Yuen, ça ne nous étonne pas, prend bien soin de rappeler à Logan. Donc oui, l'idée c'est que Willa s'approprie l'appartement et elle, bah, il se trouve qu'en fait elle prépare une pièce pendant 6 à 9 mois. Du coup, c'est pas pratique de pas être à New York. Donc, a priori, elle va rester à New York et ils vont faire une relation à distance qui va enrichir leur relation. Donc, t'es là, ok, girl, t'as tellement scoré. T'as l'appart à New York, t'as la thune et t'es pas obligée de traîner avec Connor. Bah, girl boss, j'étais là, ah. C'est pour ça qu'elle était ok pour la Slovénie parce qu'elle s'est dit, pire, j'y vais pas, tu vois, c'est cool.
Incroyable.
Et d'ailleurs, bah, je crois que c'est Roman qui lui... Attends. Je sais plus, quelqu'un fait remarquer à Connor que... Mais t'es sûr que tu veux pas garder plus de choses et tout. Il y a un peu un truc de... Mec, t'es pas un peu en train de te faire quand même un peu rouler dessus? Si, mais bon. L'amour est transactionnel dans Succession.
Toujours.
On le savait, quoi. Il y a Tom et Greg aussi à cette Great Reallocation. Mais avant ça, il y a
une séquence. Pour moi, c'est l'une des plus belles séquences de toute la série.
Je pense que c'est ma scène préférée de l'épisode.
Mais moi, de toute la série.
Puisqu'on a une petite session diapo. On a une vidéo de famille que Connor a préparée. Alors, c'est chelou, c'est genre dans la grande salle du dîner. Il y a cette vidéo qui tourne, genre semi en boucle, il rentre, il est là, c'est dîner virtuel avec papa et tout. Je suis là, qu'est-ce qu'il a fait encore? Franchement, on avait parlé de l'hologramme de Logan, j'étais là, mais on sait pas, tu vois. Ouais. Mais non. Qu'est-ce qui se passe du coup?
On comprend qu'en fait Logan est en train de faire, de réciter la liste des perdants à l'élection présidentielle dans le sens inverse, c'est ça? Et en fait, il fait des vannes en fonction des noms, etc. Et Shiv, d'ailleurs, je crois que c'est Shiv toute seule, hein, qui répète. Donc on comprend qu'en fait c'était un peu une sorte de comptine ou de chanson qu'il avait tendance à répéter. Et d'ailleurs, juste après ça, il y a Jerry qui chante.
Jerry, elle fait une contrepétrie. Elle fait une rime salas, tu sais.
Oui.
Carl chante une chanson écossaise, je crois. Oui. Et Connor.
You murder it.
Oui. You murder it. Et Connor imite donc I'm a teapot. Donc je suis une théière, qui est un genre pareil de comptine où tu mimes une théière avec look at my handle, look at my sprout et tout. Façon Logan Roy.
Fuck off.
Une théière. Avez-vous déjà vu une théière fâchée? Maintenant, oui. Donc on est dans un moment de vie très tendre. Et donc il y a qui? Il y a Connor, il y a Logan, il y a Kerry. Qui est là avec la tête sur l'épaule de Logan, très, elle le regarde vraiment avec des yeux, genre, bah, c'est le soleil, hein, encore une fois. Il y a Jerry, il y a Frank, il y a Carl. On sait pas qui filme.
Non, mais peut-être Willa.
Ah oui, peut-être Willa, oui. Mais tout le monde est détendu. Logan est.
C'est la première fois qu'on voit Logan heureux.
Bah ouais.
De toute la série.
Et un peu lui-même.
Ouais.
J'ai vu une analyse qui dit que c'est. En gros, la vraie famille de Logan, c'est sa famille de boulot, parce que c'est celle qu'il a choisie et qu'il a construite et qui est faite de gens qui lui ressemblent. Et que du coup, et bah, Connor est là, ce qui est quand même une victoire pour Connor, ok? One win.
Mais ils ont... En fait, Connor est... Enfin, il faut... Je crois qu'on comprend là, dans cette dernière saison, que Connor et Logan avaient vraiment une relation particulière, puisqu'il lui avait envoyé la fameuse photo du mausolée, là. Enfin, du...
Oui, du mausolée.
Et on comprend en fait que Connor était là énormément aussi pour son père. Enfin, c'est lui qui s'est occupé des funérailles, etc., etc. Quoi. Donc,
oui, je pense comme en plus, bah, Logan, il commence quand même la série en faisant une attaque et en frôlant la mort. Il y avait peut-être un truc de fin de vie et de c'est peut-être à mon fils aîné qui est aussi lui qui est plus tout jeune que je vais partager ça. Et puis aussi un truc de Connor, c'est pas une menace, tu vois. Il veut pas mon job, oui. Il veut pas ma boîte. Je peux être vulnérable avec lui. Là où les autres gamins, s'ils me voient être comme ça.
Ouais, alors chiant, vulnérable, quoi. Entendons-nous. Hein.
Oui, c'est Logan Roy.
Il est un cactus, hein, donc bon.
Oui, bon, après, Connor ne va toujours pas bien. Mais Bichette Connor, comme dit Tapir sur le chat, ce sera un peu toujours Bichette Connor. Mais en tout cas, il a vécu des moments avec Logan que les autres n'ont jamais eu la chance de vivre. Et que je pense qu'ils auraient aimé que... Enfin, il y a un truc dans leurs yeux quand ils regardent cette vidéo de vraiment de... d'envie tellement forte de traverser l'écran et d'être dedans, à la fois parce que leur père leur manque, mais aussi parce qu'ils n'étaient pas invités, quoi. Mmh. Ils n'ont jamais été invités, j'étais là...
J'adore aussi comment c'est la vidéo est cadrée sur Logan, et en fait, il coupe Kerry la vidéo coupe Kerry le plus possible, c'est-à-dire que vraiment, ça mécadre, ça fait en sorte de mal cadrer.
Oui, il y a du vide à gauche, voilà. Pour cropper Kerry à droite, quoi, c'est pas centré.
C'est vraiment le genre de petits détails que la série nous apporte, que je trouve vraiment tellement fort, quoi. Donc, effectivement, c'est peut-être Willa. J'allais dire, c'est peut-être Marcia, mais non, pas du tout.
Oula, non, je pense que Marcia, elle a empoisonné le vin si elle est là. Mais en plus, enfin, on va pas épiloguer de fou sur le personnage de Kerry parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, mais je trouve que la voir comme ça aussi intime avec Logan devant le cercle privé, enfin, privé du boulot, ça rend l'attitude de Frank et Carl et tout avec Kerry ensuite encore plus odieuse quand il la traite comme une moins que rien dès que Logan est mort, où je suis là, mais vous avez, enfin,
vous avez vraiment vu ensemble, en
que
fait,
lui, enfin, il était avec elle, quoi, c'était pas juste, c'est sa secrétaire, il la saute de temps en temps, genre, il y avait une vraie relation. Vous l'avez quand même laissé dans le caniveau dès que papy est mort, quoi. Mais bon. Encore une fois, c'est la famille que Logan a choisie. Ce qui veut dire que c'est probablement pas des personnes très charitables. Mmh. Puisque c'est pas ce qu'ils cherchaient dans l'être humain. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur cette vidéo, cette scène? C'est fort. On a Caracol qui nous dit « Perso, je ne l'ai pas vu comme il n'était jamais invité. Pour le coup, il n'était pas là à cause de la brouille, mais c'était le genre de scène à laquelle il pouvait assister quand ils étaient plus jeunes. »
Peut-être, oui.
Bah, c'est vrai que oui, parce que Shiv, elle connaît la comptine et tout. Mmh. Mais je pense que ça fait un peu plus longtemps que ça qu'ils sont plus invités à ce genre de soirée. Tom, donc comme on l'a dit, Tom est là et il va parler à Shiv sur bonne chance et tu vas devenir PDG cet après, mais elle est là.
Pas moyen.
Non, Greg nous l'a dit, c'est dead. Ah,
Greg te l'a dit.
Qu'est-ce qu'il fait, Tom?
Bah, Tom finit par balancer Shiv, et pas de façon un peu coquille, pas pour frimer et tout, juste pour lui dire, en fait, pour info, voilà ce qui va se passer, et peut-être aussi parce que t'es ma femme et qu'en fait j'ai envie de te le dire avant, et plutôt que tu l'apprennes par communiqué de presse,
Au pire au board, quoi. Voilà. Enfin, au vote, quoi.
C'est moi, je vais être le boss. Et est-ce que Shiv le prend bien? Non.
Peu. Top 3 des discussions pas fun à avoir avec ta femme. C'est moi qui vais avoir ton job, c'est dur. Et du coup, tu vas être sorti de la boîte de ton père aussi forever, parce qu'il y a ça, c'est que c'est la dernière Roy qui devait avoir un poste dans la boîte. J'ai été étonnée qu'il lui dise, j'ai trouvé ça étonnamment sympa, parce que comme tu dis, il lui dit pas de façon c'est qui le patron maintenant.
Non, parce que en fait, pour moi, ça va dans la droite lignée de leur relation, c'est-à-dire que Tom a toujours été aimant avec Shiv, alors aimant avec ce qu'il est capable de faire, mais en tout cas, il a toujours été amoureux d'elle, en fait, ça se sent, et qu'en fait, même quand ils sont embrouillés comme ça, finalement, il n'a pas envie de lui nuire, en fait.
Oui.
Alors que Shiv n'a aucun problème pour nuire à...
Et c'est là, d'ailleurs, qu'il lui dit « Mais t'aurais fait pareil à ma place. » Et c'est vrai. Bah, et elle le sait que c'est vrai, ça fait partie de toutes les discussions qu'ils ont eues cette saison pour le coup.
Bah oui. Sans doute, Shiv lui aurait pas dit.
Non, non, elle lui aurait pas dit, je pense. Mm. Et pour moi, il lui dit aussi parce que, en fait, fondamentalement, Tom, il a vraiment trahi Shiv une seule fois. Quand, à la fin de la saison 3, quand il a informé Logan qu'ils allaient essayer de bloquer le deal et que Logan a pu se retourner. Et ensuite, ils se sont pas vus pendant des mois. Ça a failli mettre fin à leur mariage. C'est peut-être toujours le cas. Et aussi, il va quand même plusieurs fois s'excuser auprès de Shiv de l'avoir mess up, tu vois. Donc, nous, on voit Shiv plusieurs mois après. Mais on peut aisément imaginer que sur la première période après la trahison de Tom, c'était très très dur pour elle, surtout que on a toujours ce truc de a priori elle a pas dit à ses frères que c'est Tom qui les avait vendus. Ouais. Donc elle était toute seule avec ça plus au bout de quelques mois la grossesse. Clair. Et il y a peut-être un truc de en fait la dernière fois que je t'ai trahi par rapport à ton père, ça t'a fuck up. Et là en plus t'es enceinte et tout. Ouais, je vais te donner quelques heures pour te faire à l'idée parce que maybe tu vas vraiment passer un sale moment avec cette information quoi. Et bon, bah oui, Shiv est fâché, mais en fait, c'est, enfin, pour moi, c'est légitime. Alors, il y a Steel Marty qui dit, je vous trouve dur avec Shiv en ce moment. Ça fait plusieurs épisodes qu'elle est honnête avec Tom, elle lui dit tous les bails business, etc. C'est vrai. Elle a des calls avec Madson, Tom est là. Elle lui dit, bah, Roman, il est chez Madaron, on y va et tout. Donc, c'est vrai qu'elle l'a repris dans sa team. Parce qu'elle est chef.
Bah oui.
Parce que c'est elle qui est chef.
C'est elle qui gagne. La preuve, dès qu'elle lui dit, dès qu'il lui dit, bah, en fait, c'est moi qui vais gagner. Bah, d'un coup d'un seul, le ton change. Hein. Elle n'est pas là. Félicitations, putain, je suis trop heureux pour toi. Franchement, ça me fait trop plaisir. Non, non, elle est juste là. Ok, motherfucker. Je sais plus ce qu'elle lui dit, genre.
Oui, ouais. Genre, elle lui dit, elle, bah elle aussi, elle est en mode. Ah, il a choisi un costume vide.
Ah ouais,
enfin, en plus.
Petit suit.
Ouais, elle lui dit, ok, bah, il a vraiment pas les couilles de choisir. Mais pour le coup, elle comprend bien aussi la logique de Madson. C'est qu'elle est là, ok. Il a pris le mec qui va en pantin pour le coup. Il a pris le mec qui va pouvoir téléguider et pas la meuf qui a des idées. Oui, Shiv, c'est comme ça que marche le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Plus haut sur le chat, est-on encore trop naïf, Fabrice, peut-être ?
Peut-être.
Parce qu'on a Vendre que Tal qui dit, il lui dit pour avoir son vote, c'est stratégique, vous idéalisez trop Tom.
C'est possible. Et
si
c'est...
Tom ne lui dit pas, Tom ne gagne pas. Ouais. Je sais pas à quel point c'est réfléchi à ce moment-là.
C'est une vraie question. C'est qu'en fait, peut-être, ça fait partie de l'équation de Shiv. Mais on en parlera un peu après. Peut-être ça fait partie de l'équation de Shiv. Mais... c'est intéressant.
C'est compliqué. Hein. Il y a toujours beaucoup de... En fait, c'est... Mais tous les personnages ont des motivations. En fait, tout est... Tout peut coexister, quoi. Il lui dit à la fois pour avoir son vote, et à la fois parce que, bah, finalement, c'est sa femme, et à la fois parce qu'elle est enceinte et qu'il veut pas qu'elle s'effondre, et à la fois parce que maintenant c'est lui le chef et qu'il est un peu content de lui dire c'est lui le chef. Tout ça peut être réel à la fois, quoi. Les gens ne sont pas manichéens.
Et d'un autre côté, il y a aussi ce truc de, bah, en fait, il lui donne aussi une bille pour, bah, parce qu'en fait, je suis pas sûr que Tom, à ce moment-là, sache qu'ils ont les votes. Qu'ils gagnent, en fait, elle lui dit jamais. Elle lui dit
non,
pas, tu sais, on a.
C'est, bah, c'est elle... pas. Il y a un branle-bas de combat après.
Elle lui,
parce
dit pas,
que...
elle lui dit pas que Stewie est dans leur camp, quoi, tu vois.
Non, non. Non, non, elle, elle lui dit pas, on a gagné.
Donc, ouais, ouais.
Donc, ça active le fait de mettre Shiv. Enfin, le fait que Greg ait informé la team Shiv, ce qui est devenu la team Shiv, que Madson l'a lui fait à l'envers. Bref, c'est un branle-bas de combat, puisque immédiatement, Tom va embrouiller Greg sévère dans les chiottes.
J'ai adoré. J'ai adoré et en même temps été un peu déçu de cette séquence.
Parce qu'il se roule pas des belles.
Alors.
Quoi ? Qui a dit ça ?
Non, parce qu'en fait, alors peut-être qu'on pouvait, on aurait pu terminer là, mais en fait, pour moi, ils se battent pas assez longtemps.
C'est vrai. Hein.
Moi, j'aurais vraiment aimé qu'ils se foutent à terre, quoi. Tu vois, genre en mode de, bah, en fait, montre-nous, Tom, toi qui nous dis que t'as une bite grosse comme un.
Red Sequoia. Alors, quand tu dis qu'ils se mettent à terre et qu'ils nous montrent leur bite.
Non.
En termes de lutte.
De bagarre.
D'accord.
Mais enfin.
Je sais pas.
Ça va pas
mieux. Bah, en vrai, je pense que Greg, vu qu'il fait 2m10, il a de l'allonge et tout. Je pense qu'il. Bah, là, d'ailleurs, il en retourne une atome quand même.
C'est...
Ce qui n'est pas arrivé avant, je crois.
Ce qui n'est jamais arrivé avant. Et en fait, pour moi, c'est... ça montre aussi à quel point Greg a step up de ouf.
Bah ouais.
N'oublions pas que c'est lui qui a été le seul à roast Logan quand il le réclamait. Tu vois.
Wow, your kids, Uncle Logan. Ah, attends, il y a un raid.
Oh.
Coucou les raiders. Merci
Bonjour
Joe.
Bonjour les
Coco. Jococos. Merci Joe pour le raid. Bonjour, bonsoir. On va très vite vous prévenir de ce qu'on est en train de faire au cas où ça pourrait vous porter préjudice.
Oui.
Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mimi. Vous m'avez déjà vu peut-être chez Joe où on a bu des coups, notamment entre autres, avec un plaisir non dissimulé. Et un des formats que je fais sur ma chaîne, c'est du débrief en profondeur d'épisodes de séries télé. Aujourd'hui avec Fabrice Florent.
Bonjour.
Qui est podcasteur et aussi streamer. Abonnez-vous à sa chaîne. Et là, on parle du final de Succession, la série HBO, dont le dernier épisode a été diffusé ce lundi en France. Donc, on est en train de raconter tout ce qui s'est passé dans toute la série, y compris le final. Donc, si jamais vous n'êtes pas à jour sur Succession, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien sûr, afin de suivre mes prochains lives, mais à peut-être passer votre tour pour ce soir, sachant que Tous ces débriefs sont dispo en podcast aussi, donc vous pouvez les réécouter plus tard si vous voulez. Voilà, vous avez les infos, finale de Succession.
Mais du coup, au revoir.
Full spoiler. Restez si vous voulez, mais on va vous spoiler. Et on commence à en être à la fin de l'épisode tranquillement, quoi. Greg, Tom,
bah oui.
WC, bagarre. Et donc, on disait, c'est la première fois que Greg se défend après tout ce que Tom lui a fait subir, y compris en termes de violence physique, puisque... Il lui avait lancé des bouteilles d'eau, là.
Ah non, mais enfin, il lui a fait des tas de trucs. En plus, c'est marrant parce que Tom lui met un peu une petite claque, tu vois. Il lui met pas une vraie claque. Il lui met plutôt une pichenette, genre, pour un peu l'humilier. Et l'autre lui répond vraiment par une vraie claque.
Ouais, une bonne claquasse.
Une bonne claquasse
quoi,
dans la gueule. C'est cool, quoi, tu vois. Et en même temps, c'est un peu dommage, je trouve, qu'il se soit pas mis un peu plus sur la gueule et que ça ait pas duré un peu plus longtemps, quoi. Peut-être pour finir en baiser, j'entends. Qu'à un moment donné, ça aurait pu sortir.
Ah ouais, ça
un...
m'aurait dégoûté. Concluons
cette relation homoérotique là. Faisons sortir tout ce qu'il faut que sortir. Non.
Pas je ne veux jamais voir Greg embrasser qui que ce soit. Jamais, ça me dégue, je le déteste. Donc même Tom, je suis là, non merci. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, je comprends ce que tu veux dire sur on aurait pu prendre 2 minutes en plus de bagarre. Mais j'ai aussi vu ça comme. Mais ouais, mais en fait, c'est des gars, ils savent pas se battre, tu vois. Mmh. C'est des nobodes blancs en costume. Alors. Ils se mettent une baffe ou deux, ils sont là. Et
n'oublions
puis,
pas qu'aux
et
US,
ils ont un board meeting aussi qui arrive.
Aux US, au lycée, tu fais de la lutte, hein. Donc vraiment, t'apprends à faire de la lutte. C'est vraiment.
Je sais pas, il y en a pas qui ont ping-pong, tu vois. Ils ont pas le choix des.
Non, il y a.
Enfin, je me dis, il y a plein de gars aux US, ils savent pas se battre quand même.
Ils font du sport, frère.
Moi, j'ai fait 2 ans de judo, je sais pas me battre en vrai. Donc bon, j'ai un peu vu ça aussi comme, bah ouais, c'est en fait, c'est pas des gars qui se cognent, c'est pas Booba et Caris à l'aéroport, tu vois, c'est pas des gars qui se mettent des grosses patates, ils se font des chamailleries et c'est tout, et ils ont pas, pour être un peu viriliste, ils ont pas les couilles de vraiment se taper, tu vois, ils ont une autre façon de se faire du mal, on va dire. Marty dit pas d'accord avec Fab, on sent qu'ils se retiennent un peu quand même, mais c'est assez violent et réaliste, dans la vraie vie, on se fout pas des grosses patates. Bah écoute, je sais pas, peut-être pas en costume cravate aussi, il y a le truc de bah c'est enfin ils sont pas dans un lieu privé quoi. Ils veulent peut-être pas se donner en spectacle dans les toilettes de chez Conor Roy là où il y a plein de gens qui vont peut-être avoir leur mot à dire dans un vote qui arrive assez vite.
Bah oui, mais oui, on va en parler, mais clairement ce que fait Kendall à Roman est beaucoup plus violent.
C'est la pire scène pour le coup pour moi. Et on a ce du coup Tom informe Madson que ils savent enfin, Shiv, elle sait que tu veux la sortir comme PDG. Et du coup, là, ils sont en train... C'est bon, les trois, ils sont de nouveau en alliance et ils sont en train de réunir leurs forces. Donc, on a une mini-scène de Madson qui est plus du tout chill. Hein.
Ah, mais c'est là où on voit sa facette de Logan, quoi. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, je l'imagine bien avoir été coaché par Brian Cox pour jouer cette scène, quoi. Tu vois, vraiment, où il arrive et « Phone, phone !»
Il leur tous dessus.
On a vu Logan se mettre dans des états pareils quand il y avait vraiment une urgence de ouf et en fait hurler sur tout le monde et prendre le bas de combat de ouf et être ultra violent avec tout le monde et leur hurler dessus, quoi. Et c'était marrant de le voir dans cette... On l'a pas trop vu dans cet état-là, tu vois.
Ah bah
jusque-là.
Non, il cultive toujours sa nonchalance, son suédisme, son côté je m'en bats les couilles, c'est oui, c'est non, vous me tenez au courant et tout.
Là, tu sens qu'il a envie d'avoir le deal, quoi, tu vois.
Ouais, et je trouve que ça montre les enjeux parce que comme il est pas présent au moment du deal, il est pas au board, il a pas de raison d'être là et je pense même que légalement, il a bien évidemment pas le droit d'être là. Ça nous rappelle qu'il y a cette, comme tu dis, il y a cette force violente qui est quand même, il y a un vrai affrontement, il y a un vrai titan à affronter. Et c'est marrant que tu te dises qu'il aurait pu être coaché par Brian Cox parce que pas mal des analyses que j'écoute voient en Madson le pari, c'était une fois vu que Logan meurt tôt dans la saison et qu'il était un peu aussi lui le centre du système solaire. Au final, Logan, il est assez peu dans Succession. Il y a plein d'épisodes où on le voit peu, mais dès qu'il arrive, il bouffe toute la place et tout tourne autour de lui même quand il est pas là. Et fallait trouver un personnage et un acteur qui puisse peut-être pas remplacer à 100%, mais au moins faire office de... Le gars, quand il est dans la pièce, tu le sais, et quand il est pas là, tout le monde parle de lui, et je trouve que Madson, ça marche bien pour ça. Et là, voilà, on a 10 secondes de Madson énervé, on est là, oulala, ah, ils ont réussi à l'énerver, les petits connards, quand même. On va voir s'ils vont réussir leur coup, spoiler, probablement pas. On arrive au taf. C'est l'heure du board meeting. Shiv est accueillie par Carolina, qui arrive pour placer.
Putain.
Carolina, elle est là. Don't mind, je passe avant tout le monde, ok? Je place mon. Je me laisse passer derrière.
Et en fait, elle lui dit ça. Ah, super, ça va être cool de pouvoir changer la culture du backstabbing, donc de la trahison, quoi.
On va arrêter de se planter des couteaux dans le dos.
Une demi-seconde plus tard, elle lui dit Et d'ailleurs, ça serait bien d'en profiter pour dégager Hugo une bonne fois pour toutes.
Carolina, elle a one objectif, c'est sortir Hugo. Ouais. Je suis d'accord avec elle parce que je pense que c'est un connard, Hugo, et que ça doit pas être cool de travailler, d'être une meuf qui travaille pour Hugo ou qu'il a en N-1. J'ai jamais trop compris qui est le chef de qui.
On ne sait pas trop. Il ne l'explique pas vraiment.
Non. Est-ce que tu es stressée par mon chat?
Oui, un peu.
Est-ce que tu... Tiens,
non, t'inquiète, je vois.
Okay. Je surveille. Très bien. Ouf, Hugo, indeed. Et ensuite, ils arrivent dans le bureau de Logan, où Kendall a une petite hésitation, mais ça va, c'est juste une chaise, frère.
Ouais.
Il s'installe au bureau de son père.
Et en fait, c'est Jeremy Strong joue à merveille, parce que tu vois vraiment qu'il a... Il se dit, ok, est-ce que je m'y mets ou pas? Il a vraiment, genre, 2 secondes l'attitude d'un enfant, où il est là, ok, il teste la chaise et tout, et 3 secondes plus tard... Il met les pieds sur le bureau, il est là, ok, c'est chez moi, quoi. Ça lui a pris littéralement 3 secondes. Et je trouve ça génial. Vraiment, j'ai regardé la scène où il est vraiment en train d'hésiter, il est là, ok. Et d'ailleurs, c'est Roman qui lui dit, mec, assieds-toi, c'est juste une chaise, quoi. Oui. Et donc, il s'installe dedans, il est là, oh putain, je suis à la chaise de papa. Et vraiment, tu sens que 3 secondes plus tard, c'était bon, quoi.
C'est parti en mode. Et entre-temps, il y a Stewie qui arrive dans la pièce. Stewie qui vient de rallier la team Kendall, oui. Du coup, pas longtemps avant. Il arrive dans la pièce et immédiatement, Ken lui propose... alors, c'est une non-exec chair, donc c'est une chaise au board, c'est
le président... Pour moi, c'est le président du board, mais qui travaille pas dans la boîte. C'est-à-dire comme si Frank, là, il est président du board, tu vois, mais il travaille. Donc pour moi, le président du board, tu peux être président du board sans être dans la boîte.
Oui, comme il y a d'autres gens au board qui travaillent pas du tout dans la boîte, qu'on voit aux occasions des votes qu'il y a.
Comme si
Iwan,
il était président du board, quoi.
Ok, je vois. Du coup, en plus, c'est un truc... c'est pas qu'un truc de
statut. Non, il y a, statut, y a du pouvoir et tout.
Il y a du pouvoir et du pognon. Et donc, on comprend que cette proposition n'a pas du tout été discutée
entre eux.
Et donc, c'est là qu'il met en plus ses pieds sur le bureau et tout. Et Shiv, elle remarque quoi?
Bah oui.
Elle remarque l'assurance du gars. Roman aussi,
bah,
je
oui.
pense. Il y a vraiment... Peut-être on en parlera, mais pour tous les gens qui ont toujours un peu du mal à comprendre pourquoi Shiv, elle change d'avis, regardez Kendall qui met ses pieds sur le bureau et le plan d'après, c'est le regard de Shiv. Et je pense que vous avez... En tout cas, le moment où elle a dit « Ah non, fuck.
Non,
ah,
mais
non
oui.
ça peut pas être ce gars-là. » Et aussi... En fait, c'est un connard, quoi.
I love you, but I can't stomach you. Elle me dit, mais
je
bien
peux pas
sûr,
t'encadrer,
ça,
quoi. Viscéralement, tu me dégues. Et je comprends. Bon, Stewie et Shiv partent essayer de draguer Sandy pour les rallier à leur cause, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, ça laisse à Kendall et Rome l'occasion d'un petit tête-à-tête fraternel. Qui commence quand Roman voit passer Jerry dans le couloir et il est stressé. Il est là, oula.
Mais pourquoi elle est là?
Pourquoi elle est là?
Qu'est-ce
qu'elle
fout
fait
là?
Je n'ai pas envie qu'elle me voie. Et elle est là parce que Kendall lui rappelle, en fait, on la paye beaucoup d'argent pour pas qu'on ait l'air de... Tu sais? Et du coup, elle n'est
pas vraiment...
Personne à longue grata, quoi. Ouais. Il dit c'est pas un lockout. Enfin, on n'est pas... On lui interdit pas l'accès au bureau. Mais il dit d'accord, si tu veux, on peut la sortir parce que pour le coup, elle ne vote pas au board.
Et Roman se regarde.
Ouais, il spirale dans...
La cicatrice, là.
J'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie qu'on me voie. Il regarde son visage beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Il part en couille, clairement. C'est-à-dire que là, vraiment, ça... Roman ne va pas bien.
Mm-hmm.
Roman ne va toujours pas bien. Et il trouve que sa cicatrice est trop belle, parce qu'il a des points de suture. Et il dit, mais en fait, ça aurait pu être moi. Ça devrait être moi.
C'est vraiment... les hobbits avec l'anneau, tu sais, qui sont là en mode, et si je le gardais? Et si je le gardais pour moi? Ce truc de, même encore à la dernière seconde, il est en mode, c'est toujours pas moi? C'est pas moi qui gagne le truc? Mental breakdown, round 2! Oui, big big shoes, big big nervous breakdown, pour notre ami Roman. Pour moi, il y a ce truc de paraître aussi de, il est là. En gros, les gens, ils vont penser que je me défile, enfin que ils vont se dire pourquoi c'est pas toi le chef et c'est ton frère, donc ils vont penser que je me défile et je suis genre pas assez abîmée pour avoir une excuse, genre ok ça peut pas vraiment être lui, du coup ça pourrait être moi parce que je suis pas assez abîmée, enfin c'est ouais il y a cette
très étonnant
fixette,
et puis
sur sa cicatrice là bizarre,
n'oublions
quoi.
Pas, on va peut-être en parler dans 2 secondes, n'oublions pas que en fait ces enfants enfin, on l'a vu dans, à la fin du dernier épisode, Roman, il a besoin d'avoir mal pour aller bien.
Oui, Roman, quand il est en crise, en tout cas, visiblement, ce qu'il va chercher, c'est de l'humiliation ou de la douleur physique. Et du coup, Kendall lui fait un câlin.
Waouh. Alors, je t'avoue que la première fois, au premier visionnage, je me demandais si c'était Roman qui était, si c'était Roman qui était lui-même en train de s'éclater les trucs, enfin les points sur l'épaule de Kendall à se faire mal lui-même. Mais non, en fait, c'est Kendall qui est en train de le soulager en lui faisant mal, quoi.
Tu l'as pas lu comme ça ? Pour moi, il y a des deux, en fait. Pour moi, la beauté de cette scène, c'est que c'est les deux.
On
c'est
sait pas.
L'un des deux a commencé et l'autre a encouragé. L'un, peut-être Roman a commencé à frotter et Kendall a compris, ok, c'est ça que tu fais. Peut-être que Kendall a commencé à appuyer et Roman a encouragé le mouvement. Moi, la toute première fois que je l'ai vu, donc quand je savais pas encore qu'à la fin de la scène, Roman avait ses sutures ouvertes, comme parfois je suis un peu naïve. En fait, donc Roman, il dit des trucs en mode « Oh fuck !» Enfin, comme s'il avait vraiment mal. Mais ouais, moi, je pensais que c'était une douleur émotionnelle de quand t'as tellement de peine et t'es tellement cassé que ça remonte.
Ça te fait du mal et t'es là « Bien sûr !»
Il insulte son frère, mais je me disais « Bah, il l'insulte en mode « T'es un bâtard de me faire un câlin et de faire ressortir ça. » Et aussi « T'es un bâtard parce qu'au final, on s'aime mais on se déteste. » Enfin, ce truc-là de fratricide bizarre
qu'ils ont. Mais ça va ensemble aussi. Ça marche aussi.
Oui. Et du coup, bah, il y a de tout ça, je pense. Pour moi, ils se le ils se font à deux, quoi. C'est, je sais pas, deux scorpions qui se piquent mutuellement ou un truc comme ça. Je vais faire un sondage dans le chat parce que je pense qu'il y a...
Ah putain,
je l'ai pas vu venir. Sorry. Pour le coup, il y a plusieurs avis sur la question. À votre avis, est-ce que c'est Roman qui s'ouvre les sutures? Est-ce que c'est Kendall qui l'ouvre? Ou est-ce que c'est les deux? Ça part en sondage.
Non, mais t'as raison, c'est les deux, en fait. Parce que il le tient fermement, en fait, tu vois. Et au départ, je croyais qu'il le tenait fermement. En fait, j'avais pas compris qu'il appuyait contre son épaule. Pour moi, il était en train de le tenir de façon, enfin, tu vois, comme tu fais un câlin fort, quoi, tu vois, quelqu'un que tu veux envelopper en faisant un câlin. Mais non, en fait, c'est un câlin bien moins sympa.
Ouais, c'est un vrai bear hug, finalement, un vrai câlin d'ours, puisque du coup, Roman en sort avec sa plaie rouverte, du sang, et du coup, il y a ce truc où il disait, bah, ma plaie est trop jolie, les gens, ils vont se demander pourquoi c'est pas moi, bah, problème réglé, frère.
Bah, tu vas pouvoir rentrer au board avec le visage en sang, en fait. Cool.
Du coup, ça va pas
ça
être
en dit
toi.
Long.
Ah, c'est triste. Il y a Trex Incisif qui nous dit le pourquoi par moi en montrant sa cicatrice. Je l'ai aussi interprété en c'est moi qui ai pris le plus cher avec le daron, c'est moi qui mérite de gagner.
C'est vrai, bravo.
Il est possible que Roman ait un peu interprété dans sa tête, oui, que toute cette violence et toute cette douleur devraient au moins payer comme ça, quoi, que ça mène au moins
incroyable.
À ça. Peut-être que c'est comme ça qu'il a rationalisé tout ce qu'il a
bien
subi
sûr.
Aussi.
Excellente
la thérapie.
Lecture. Bravo.
Oui, je l'avais pas, mais c'est pire. Oui. Merci. Alors, les Tiffany qui connaît pas la série, bienvenue, bon ride. Tu vas voir, en vrai, c'est super.
Ouais.
Là, comme ça, c'est bizarre, mais c'est super. Et c'est la dernière séquence avant le board meeting. On y va. C'est l'heure de sortir les petits PowerPoint plastifiés, d'avoir Franck qui dit bonjour, tout le monde dit yay or nay, on prend un compte rendu. On est quand même au taf, hein, au bout d'un moment. Mmh. Là, ils sont tous à se parler de leur daron, mais ces gens-là, ils sont là pour bosser. Donc,
alors, n'oublions
faut bosser,
pas
quoi.
Que Kendall... en gros, il y a Télis qui disait à Kendall, il faut que vous fassiez le meilleur pitch possible.
Oui.
Et que le pitch de Kendall, c'est vraiment le pire pitch du monde. C'est-à-dire, oui. Gojo deal, not good... ok, bad deal.
Il a même pas d'argument, il dit Roman et moi on était très fiers
de le
scorer,
de le niquer.
On le connaît par cœur, mais c'est un mauvais deal. Et je suis là,
okay.
Il y a pas de suite. Ça c'est des faits, c'est pas une argumentation.
Voilà, et en gros, moi je me disais, bon bah il va un peu pitcher pourquoi, ce qu'il a envie de faire avec la boîte, ce qu'il a envie de faire à la tête de la boîte, etc. etc. On comprend qu'ils ont filé aux membres du board donc des plaquettes, quoi, tu vois, où ils ont mis des trucs dedans, on sait même pas. Mais c'est vraiment...
Ouais, financer un peu le truc et tout.
Bah, alors...
Enfin, dire pourquoi c'est financièrement une bonne idée, parce que ça se tient à ça, le board, c'est combien d'argent pour les actionnaires, quoi.
Oui.
Donc il faut quand même qu'ils disent, c'est mieux de garder Kendall que d'accepter l'offre à, c'était quoi, 192 la part de Madsen.
Et en plus, on ne sait pas vraiment la parce qu'ils disent on a une offre révisée de la part de Gojo.
Ah oui, parce que la mort de Logan, mais aussi Living Plus. Bon, on ne sait pas exactement. Ça va toi, je t'embête pas. Attendez, j'enlève mon chat. Non, tu t'en vas tout seul. Oui, au revoir. Donc c'est l'heure du board meeting, je suis d'accord avec toi. Le discours de Ken, c'est vraiment
nul.
C'est moi parce que c'est moi, j'ai déjà gagné. Donc donnez-moi le truc maintenant.
Et je l'avais trouvé bien meilleur quand il pitchait à ses frères et sœurs, tu vois, par exemple.
Oui, ses arguments étaient plus entendables et plus articulés. Avant, il disait que c'était le meilleur en discours. Bah, entre des trois, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est le meilleur en discours.
Ah oui.
Mais les autres n'ont pas toujours eu beaucoup l'occasion de s'y essayer. Donc, tout est
Roman
relatif.
Roman a essayé.
Finalement. Ouais, il a essayé. Et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, ils sont bons les uns par rapport aux autres. Mais dès qu'ils se montrent dans le vrai monde, des gens qui travaillent, bah, en fait, ils sont nuls, quoi. Ouais. Parce que c'est un taf, le saviez-vous. Fin du sondage sur le chat. Vous êtes une majorité à penser que c'est à la fois Kendall et Roman qui font le truc, qui font la blessure. Et sinon, en dessous, vous êtes beaucoup plus à penser que c'est Kendall qui commence. Enfin, en tout cas, que c'est Kendall qui ouvre les sutures de Roman, plus que c'est Roman qui le fait lui-même. Donc, okay. Y a quand même une forme d'activité de la part de Kendall.
Je l'avais pas
Kendall,
lu comme
quoi.
Ça la première fois, clairement.
Bon, c'est l'heure de voter.
Ouais.
Oui, non, oui, non, oui, non.
Non, Shiv.
Roman.
Ah, Roman d'abord.
Hésitation.
Ouais.
Légère quand même, mais hésitation. Et Shiv, elle remarque. Hésitation. Et on se souvient qu'au dernier, la dernière fois que Roman a dû voter pour ou contre Kendall à un board meeting, il avait reniflé son aisselle et il avait fini par pas voter pour Kendall. Donc Kendall, il est là. Quand Roman, il dit je vote non au deal avec Gojo, Kendall, il fait un petit that's fucking right en mode c'est bon. Roman, c'était le dernier obstacle, c'est dans la poche, mais.
Bah, Shiv, elle sait pas.
Shivi. Elle sait pas, elle a besoin d'une seconde pour réfléchir.
Violon.
Let's go.
Violon qui monte, etc. Elle se barre, elle va dans une salle de conférence à côté, et bien sûr Kendall la suit, et bien sûr Roman la suit. Et là, c'est cette fameuse scène de fin du jeu, en fait. Tu vois, c'est tout simplement ce moment où Kendall se crache la gueule vis-à-vis de son frère et de sa sœur, parce que il a la possibilité de venir, encore une fois, ouvrir son cœur et de venir expliquer pourquoi c'est important pour lui.
Je vais t'interrompre deux secondes juste pour sauver quelqu'un sur le chat, parce qu'on a Sylmadon qui dit « Salut, je suis au début de la saison 3. Est-ce que je peux m'attendre à une dinguerie pour les deux dernières saisons ?» Alors oui, saison 3, saison 4, dinguerie. Tu vas voir, c'est très bien jusqu'à la fin. Mais du coup, si tu ne veux pas te faire spoiler, là on est à la fin du final.
On va te raconter ce qui se passe.
On va vraiment te raconter comment ça finit. Donc c'est pour ça que je dis sauver quelqu'un sur le chat.
Oui.
Je t'encourage, Sylmadon, à peut-être y aller si tu n'aimes pas les spoilers. Sinon reste, tu verras le chemin pour arriver à ce qu'on va raconter maintenant est toujours passionnant. Il y a pas de problème. Mais ouais des dingueries à venir.
Oui.
Enjoy.
Dis-nous quand t'es parti.
non bah vas-y reprends. Écoute, y a marqué on débriefe le final de Succession quand même. C'est le titre du live. Ok bah
salut.
Bisous Sylmadon qui y va du coup et enjoy Succession. Autant que faire se peut pour une série qui est aussi un roller coaster émotionnel.
Oui. Et effectivement, en fait, plutôt que de venir expliquer pourquoi c'est important pour lui qu'en fait, Shiv vote pour lui, pourquoi c'est important pour la boîte, pourquoi c'est important pour leur famille, pourquoi. Non, en fait, il parle juste de sa gueule.
Ouais.
Et Shiv, bah, c'est à ce moment-là qu'elle lui dit, mais en fait, je t'aime, mais je peux plus t'encadrer, en fait, c'est trop compliqué et t'aurais été. Tu vas être pire, tu vas être horrible, tu vas être insupportable. Parce que, en gros, quand c'était papa qui était à sa place, bah, en fait, c'était papa. Quand elle raconte cette fameuse anecdote de, bah, en fait, papa, il sortait de son bureau, il nous gueulait dessus, bah, au moins, c'est papa, quoi. Là, d'un coup d'un seul, t'as ton grand frère que t'as vu pendant toute ta vie, qui finit par se la raconter tellement fort, et on sait à quel point il se déteste. En tout cas, il déteste. Être en compète d'une manière ou d'une autre. On comprend un peu que Shiv ait des
second thought. Oui, qu'elle ait besoin d'y penser à deux fois.
Oui.
Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, au moment où elle sort de la pièce du board meeting, elle a déjà décidé, ou est-ce que c'est la façon dont Kendall vient lui renifler la nuque là, sans la laisser respirer en parlant que de lui qui finit de la,
bien sûr, c'est
de
évident.
La convaincre.
Bah, en plus, elle, pour moi, l'ultime test, c'est quand elle lui explique qu'en fait, elle peut pas. Tu peux pas être CEO parce que là, elle lui balance le headshot impossible de. Bah, en gros, t'as tué quelqu'un. Et alors, pour les gens, pour les gens qui l'ont pas, Shiv est au courant et Roman est au courant parce que à la fin de la saison 3, Kendall leur dit. Et effectivement, en fait, c'est ouf parce que l'autre. Cette andouille-là, plutôt que de faire amende honorable et dire « Oui, je sais, et en fait, c'est un truc par lequel on, si jamais ça sort, en fait on y passera et on va faire en sorte et on va faire en sorte tous ensemble de s'en sortir, etc., etc. Mais en fait moi j'ai envie de garder la boîte parce que je pense que il faut qu'elle reste dans la famille. Il nous fait une Logan Roy, en fait. Il nous fait une no real people involved. C'est-à-dire, juste, bah, non, en fait, je l'ai pas vraiment tué,
Alors d'abord, elle dit, t'as tué quelqu'un, il dit, lequel?
Ah ouais, putain.
Ce qui pour, même pour Roman, il est là, mec, comment ça, lequel?
T'as
cartonné combien de gamins aussi avec ta Porsche? C'est trop là. Donc même Roman, franchement, quand Roman Roy, il dit, mec, c'est chaud. Faut que tu te poses des questions sur ton attitude parce que le gars a une tolérance à assez chaud qui est quand même assez élevée. Sur le chat, Marina nous dit c'est au moment où il parle de la mort du serveur qu'il les perd avec son rétro-pédalage bizarre.
En fait, oui, tu peux voir Caracol, je suis d'accord avec toi, tu peux voir ça comme un coup bas.
Parce que Caracol nous dit, pour les auditeurs et auditrices, oui, en podcast, c'était un coup si bas de la part de Shiv lui renvoyer son pire trauma à la figure au moment du vote le plus crucial de sa vie.
Oui, et en même temps, c'est un test. C'est-à-dire que c'est une façon comme une autre de lui dire, bah, en fait, si demain ça sort, comment tu fais? Comment tu vas gérer le truc? Et surtout de le pousser dans ses retranchements et de voir ce qu'il va faire à ce moment-là. N'oublions jamais que on ne voit le visage des gens que quand ils sont sous stress. Toujours. Hein, vraiment.
Je suis pas d'accord. On voit plein d'autres occasions de voir le vrai visage des gens. Tu peux aussi voir le vrai visage des gens quand ils sont heureux. C'est pas genre... justement, dans les pires moments, des fois, tu fais n'importe. Tu vois juste le visage des gens sous stress. C'est-à-dire comment ils réagissent à un trauma, effectivement, ou à une situation traumatique. Tu vois pas leur vrai visage en mode « Ah ah !» Si tu es lâche sous stress, tu es lâche dans la vie, tu vois. C'est non, bah peut-être que sous stress, je suis pas très courageux, mais ça veut pas dire que dans la vie, je vais te lâcher à la première difficulté.
Bah en tout cas, il y a cette facette-là qui ressort à ce moment-là. Et en fait, pour moi, quand elle fait ça, elle met Kendall sous stress. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer si demain, ça sort dans les journaux? En fait, Kendall sera sous stress.
Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Je sais pas à quel point c'est un test réfléchi de « Ok, non, je vais tester sa compétence business en période de crise ». Mais parce qu'il y a aussi un truc, elle lui dit avec une petite arrogance enfantine, tu vois, elle est un peu en mode « bah tu peux pas être PDG parce que t'as tué quelqu'un », tu vois, elle est pas en mode « Kendall, c'est très sérieux, tu as tué quelqu'un, si ça ressort, on est foutu », tu vois, elle est juste en mode « bah tu peux pas être PDG parce que je pense que tu serais pas bon et parce que t'as tué quelqu'un, donc tu peux pas ». Donc elle a un côté…
Elle oublie aussi que Tom a bien baigné dans les histoires à la con avec les croisières, quoi, tu vois, donc…
C'est vrai qu'il allait quand même peut-être, mais ça, bon, a priori, ils ont payé l'amende et tout,
Mais ça peut ressortir.
J'entends. Mais ils ont brûlé les papiers.
Oui.
À part les petites photocopies de Greg. Parce que du coup, là, c'est quand même le moment où Kendall, on parlait d'honnêteté et de à quel point, par exemple, Tom a pu être transparent sur qui il est. Là, Kendall, il est très transparent sur qui il est. Il dit, je suis un rouage qui a été construit pour une seule machine. Si j'ai pas ce truc, je pense que je pourrais mourir. Genre, il dit, I might die, ce qui génère beaucoup de stress pour la fin de cet épisode. Elle lui dit, t'es pas plus important que tout le monde. Et il dit, c'est pas ce que je pense. Elle lui dit, si, c'est ce que tu penses. Je suis là. C'est vrai.
Oui, c'est d'accord.
Extrêmement vrai. Elle lui dit, je t'aime, mais je ne peux pas t'encadrer. Et sa réponse finale à tout ça. Et quand même, pendant ce crescendo de cris, on voit aussi les gens du board qui les voient
à
et qui les entendent parce que tout est vitré. Et t'as vraiment genre le potentiel futur patron de la boîte et ses deux co, parce qu'ils sont censés, Shiv et Rome, rester avec lui à Waystar et avoir des postes importants, en train de s'engueuler comme du poisson pourri au milieu d'un vote crucial. Donc pour moi, il y a aussi ce truc de vous êtes pas des serious people et vous êtes de nouveau en train de vous chamailler devant la porte du bureau pendant que les adultes y taffent, quoi.
Parce que Logan avait raison.
Oui.
Et pas qu'il avait raison dans l'absolu, c'est juste qu'il les a construits comme ça. Il les a modelés comme ça, pour qu'ils ne soient pas des serious people.
Bien sûr. Et donc, à ce I am the eldest boy de Kendall, Shiv a une réponse incroyable qui est, c'est pas vrai, parce que j'étais là en mode.
Bah oui.
Elle a raison. Stop, Connor, et Rayjure. Roman a une autre réponse qui est
c'est elle la bloodline, en fait.
La lignée, quoi. Mais pourtant, Kendall a deux enfants déjà bien grands.
Bah oui.
Mais alors Fabrice,
bah on se demandait.
Qu'est-ce qu'on apprend sur les enfants de Kendall et l'opinion que Logan Roy, paix à son âme, pouvait en avoir
Qu'ils étaient des randoms, c'est ça?
Ouais.
Horrible.
C'est une paire de randoms.
Genre des personnes aléatoires, quoi.
Oui. Pas des vraies personnes, hein, clairement. Horrible.
Et là, effectivement, il y a Gigi qui dit la pire take de Rome. C'est vrai que là, il est, là, c'est vraiment le coup ultra bas.
Ah, le mec, il a sorti une grenade de sa poche arrière. Tu l'as pas vu venir celle-là. Parce que
dit,
je pense
c'est
que
pas moi.
Shiv, elle...
En plus, il dit, c'est pas moi, c'est papa qui le disait. Vraiment oui. Horrible.
Et je pense que Shiv, elle serait, déjà, je sais pas si elle savait que son père pensait ça des enfants de, je pense qu'elle le savait moins.
Elle le sait parce qu'elle lui dit, mais tais-toi, Rome.
Oui, elle le sait. Mais peut-être qu'elle avait pas le langage fleuri. Et je pense pas qu'elle serait allée là, tu vois. Je pense pas qu'elle aurait dit à Ken, moi j'attends un enfant et toi, allez, tiens, c'est pas des vrais, ouais. Tu vois. Parce que du coup, c'est quoi qu'on apprend sur les enfants de Kendall ?
On apprend qu'en gros, Sophie, si je me trompe pas, a été adoptée.
Ouais.
D'où
the buy-in, ouais. Selon Logan. Enfin, en tout cas, selon Roman, source Logan.
Ouais.
C'est-à-dire, elle est achetée en magasin, quoi.
Ouais. Et donc, on comprend mieux pourquoi elle est racisée, parce qu'on en parlait dans les épisodes précédents.
Mais oui.
On savait pas d'où ça venait, quoi. Et en fait, on comprend que son petit deuxième, qui s'appelle Iverson, comme le fameux joueur de basket, n'est-ce pas, lui, c'est une FIV, sans aucun doute. Hein. On
ouais.
comprend que c'est un don de sperme.
In vitro, ouais. Ouais. Parce qu'il dit, il est moitié Rava, moitié un mec d'un file cabinet, donc d'un cabinet d'une pochette de rangement, quoi. Ouais. En gros, c'est l'idée de, ils ont pioché son dossier et c'est des randoms.
C'est
du
tellement
coup.
Bien écrit. En même temps, ce truc de file cabinet, là, quelle horreur.
Ouais. Et c'est, mais genre, du coup, hier, on a regardé l'épisode avec toi et d'autres amis, dont Mathias, qui était venu faire un débrief de succession avec moi quand t'étais en vacances. Et il m'a dit, franchement, j'ai trouvé ça hyper dur à suivre. Ces deux phrases, c'est des trucs qu'on n'a jamais su. Ni sur les enfants de Ken, ni sur le fait que Logan, on avait parlé même dans ces débriefs de, il y a jamais eu un moment où Logan, il a dit à Ken, tes gamins, c'est pas mes petits enfants et tout. Donc ça sort un peu de nulle part et ça va hyper vite et encore nous on a les sous-titres mais je me dis les parce qu'en plus ils s'engueulent, ils se tapent dessus, enfin c'est pas hyper clair, j'étais en fait c'est vraiment quand même une info
il
importante.
Il a pris une grenade, il l'a dégoupillé comme ça et en fait on comprend aussi à travers ça que sans aucun doute Kendall est infertile en fait. Kendall
bah,
est stérile.
Oui. A priori Kendall est stérile, ouais. Parce que généralement quand t'es un roi qui fait un fils aîné stérile, la dynastie elle se passe pas bien après.
Ça en dit tellement, tellement, tellement long et c'est vraiment sorti dans les 15 dernières minutes de la série.
Ouais, hein, c'est fou.
Sur cette série, quoi, globalement. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, ça parle de succession et en fait, ouais. Le mec qui est censé succéder depuis le début n'a pas de successeur lui-même.
En tout cas, pas qui digne, qui juge digne.
Voilà, dans sa lignée, si on parle de Game of Thrones, voilà.
Oui.
La Game of Thrones, quoi.
Et j'ai vu des gens rappeler sur Internet une scène juste après le mariage de Tom et Shiv où Logan mettait la pression à Tom en lui disant « Est-ce que tu me fais des petits-enfants ou est-ce que tu tires à blanc ?» Enfin, « Est-ce que tu vas enfin me faire un petit-fils ou est-ce que tu tires à blanc ?» Ce qui était peut-être la seule indication de... Peut-être qu'il considère qu'il n'a pas encore de petits-enfants, mais en vrai, c'est tellement une pression un peu classico de grands-parents ou gendre. Enfin, tu vois, ce truc de quand est-ce que vous me faites un petit-fils, ça ne veut pas forcément dire ceux que j'ai déjà, je les considère pas. Donc, c'était vraiment... Pas aussi clair. Hein.
Si on regarde toute la série avec ces infos-là, sans doute il y a des trucs.
Oui.
Team Adopt, donc merci.
Team
pour
Adopté,
le transfert.
Je pense.
Team Adopt.
Arzel sur le chat nous dit ce passage était super dur à encaisser. Team Adopté, donc merci le transfert. Si ça peut te rassurer, je pense que bien évidemment, la plupart des gens ne considèrent pas les enfants adoptés comme Logan Roy considère. Rappelons qu'il voyait toujours la pire version du monde. Hein. Source, son frère. Et grosso merdo nous rappelle, à mon avis, Logan, il aimait pas la fille de Kendall parce qu'elle est pas blanche. Et Roman pense pareil. N'oublions pas qu'il est archi-raciste. Et aussi parce que c'est une fille, puisqu'ils sont sexistes aussi. Donc c'est une fille raciste, évidemment, qu'il
et
aime
pas
trop.
Et c'est vrai que moi, la première lecture, j'ai pensé que Rava l'avait trompé.
Oui, moi aussi, parce que Half File Cabinet Guy, j'étais là.
Donc est-ce que c'est
un mec du cabinet
genre un stagiaire
où il bossait, ouais. Mais du coup, a priori, non, on n'est pas sur une infidélité, on est sur une fécondation in vitro. Kendall, il aime pas entendre ça, hein.
Bah, il
on
pète.
Est sur une réaction vivante.
Bah, il devient ultra violent. C'est horrible ce qu'il lui fait d'ailleurs. Il prend sa tête et en fait il lui écrase sa tête entre ses mains, quoi.
Ouais, il
genre
lui écrase le crâne.
La montagne El Famoso épisode dans Game of Thrones là.
Ouais ouais, il est pas loin de lui faire une Oberyn Martell. C'est HBO aussi, tu vois. J'étais là. Eh oh, ouais. Eh oh. Faut pas crever des yeux. Il y a eu ce dialogue bizarre sur les yeux là de Caroline. Ouais. J'étais en mode attends non non.
C'est clair et en fait c'est horrible parce que pour moi, en fait, Roman est juste en train aussi, lui, de créer ce truc qu'en fait, dans lequel Logan l'a appris. C'est juste, il faut me violenter, quoi, tu vois. Juste pour me faire taire, ça part en violence. Donc lui, en tant que victime. Et en fait, Kendall, c'est la première fois qu'on le voit lever la main sur Roman. Il faut rappeler qu'il avait plutôt tendance à le protéger de la violence de son père. et à s'interposer entre eux. Donc on imagine qu'il l'a beaucoup fait dans leur jeunesse, etc. Enfin, en tout cas, c'est un truc qu'on peut projeter. Et là, d'un coup d'un seul, bah, les rôles s'inversent, quoi.
Bah, il devient Logan.
Parce
que
Logan est mort.
Ouais. Et je pense que lever la main sur Roman en pleine vue du board meeting, c'est plutôt un Logan move. Et que là, pour moi, Kendall, si le clou n'était pas déjà dans le cercueil, c'est bon, il y est maintenant, quoi. C'est
bah ouais.
Quand tu... Cette violence physique dont il fait preuve envers Roman, même si, je dis pas, ça se dit pas ce que Roman il a dit sur ses gamins, mais bon, si on commence comme ça, on va se taper pour tout et rien. Et du coup, Shiv essaye de sortir de la pièce pour aller voter, bah, a priori, quand il commence à se battre. Et Kendall essaye de l'attraper, c'est Roman qui protège Shiv, du coup, de Kendall, ce qui doit vraiment être hyper fucked up dans la tête de Roman, de devoir protéger sa sœur de Kendall, qui d'habitude le protège lui.
Non,
père,
je crois pas. En fait, moi, ma lecture, c'était plutôt laisse-la aller voter. Tu vois, en fait, en gros, maintenant, c'est fini,
oui.
Quoi. Tu vois, juste.
Ah oui, oui, il y a de ça, de lâche prise. Et voilà. Aussi, il lui dit, elle est enceinte, tu vois, genre, lève pas la main sur elle parce que. Bah là.
Ah, tu crois qu'il allait être violent avec Shiv?
Bah, le truc, c'est qu'il est quand même en train de presque crever les yeux de Roman. Donc, dans le doute, le mec est unhinged parce que c'était la seule. C'était le seul truc qu'il voulait dans sa vie, quoi. J'aimerais bien, avant qu'on passe à, du coup, bah, la fin, qu'on fasse un petit topo de pourquoi Shiv a changé d'avis, du coup, selon toi. Pour moi, comme on l'a dit, c'est pas une seule raison, il y a plein de différentes raisons. À ton avis, vu que c'est peut-être la grosse question de l'épisode pour certaines personnes, qu'est-ce qui fait qu'elle change d'avis? C'est quoi les raisons?
Bah, le premier truc, c'est qu'en fait, elle veut pas voir son frère gagner, parce qu'elle se dit qu'en fait, son frère va être horrible et détestable, et que... Elle veut pas participer à ça, parce qu'en fait, en gros, elle a les clés, là. C'est elle qui décide, maintenant.
C'est elle le swing vote, comme
c'est
on
pas
dit
comme
dans
si,
Survivor.
Voilà, c'est pas comme s'il y avait 3 votes d'avance, et qu'en fait, peu importe son vote, c'est elle qui décide. Donc, c'est une grosse responsabilité pour elle. Et il y a à la fois ce truc de savoir que bah, Tom va devenir le boss. Donc, en gros, sans doute, elle va pouvoir continuer à lui chuchoter à l'oreille et à l'influencer et finalement à devenir la femme du boss, ce qui est pas si mal, hein, en vrai. Y a peut-être un truc que dit bien aussi avec Logan par rapport à ça, j'en sais rien, hein, moi, maybe, hein, tu vois, elle aurait bien peut-être marié papa quand elle était plus petite, hein, voilà.
La théorie du générique, est-ce Logan, est-ce Tom, n'est-ce pas
On
les deux
On ne sait pas. Et le dernier truc, mais ça je crois que c'est plutôt inconscient, c'est que pour moi, elle fait ça aussi pour libérer la famille et ses frères et ses frères et elle de l'emprise de cette boîte, en fait.
Quand il parle de peut-être tuer Kendall sur la plage, là, avec Roman, elle dit « Au moins, si on le tue, on pourra aller se coucher. » Et je suis fatiguée. Et je pense qu'il y a, ouais, il y a de ça aussi.
C'est très enfantin comme truc, mais il y a...
Enfantin
elle
dit, et aussi...
Elle le dit de façon très enfantine, tu sais, genre...
Oui.
Ok, en fait...
Go to bed.
Ouais, voilà.
I'm tired.
Ouais.
Et en même temps, en vrai, Shiv, jusqu'à il y a genre 2-3 ans, elle n'était pas
chill,
dans cette Zumba d'être PDG de Waystar. Et que ce soit elle ou Roman, vouloir atteindre Kendall, c'est pas de sa faute. On lui a dit à 7 ans, ça va être ça ta raison d'exister. Mais Roman et Shiv n'ont jamais trop voulu être PDG. Et essayer de l'être, ça a été la période la plus... ça saccageait toute leur vie. Donc oui, pour moi, il y a aussi un peu de... Et on arrête. Je voyais quelqu'un dans le chat et c'est une lecture peut-être un peu généreuse que j'ai vue qui est aussi elle veut protéger Kendall de finir trop comme Logan, genre la transformation est déjà quasi complète, si je le laisse, enfin elle le voit les pieds sur le bureau de Logan en train de faire des fleurs à son pote d'école comme Logan et tout avec zéro meuf importante dans la pièce, et peut-être qu'elle est là, je peux encore sauver un bout de son âme en le laissant pas devenir exactement mon daron. Et puis on met pas de côté, il y a bien sûr son intérêt personnel, est-ce que être la femme du boss c'est mieux qu'être la sœur du boss, sachant que le boss il t'a montré plein de fois qu'il allait te trahir et pas t'écouter et rien te demander, alors que ton mari certes il t'a fait one grosse trahison mais après il a plutôt été dans ta team, donc je suis là why not, tu vois. Et j'entends ce que tu dis sur le truc oedipien, pour moi je vois aussi un truc de c'est malheureusement la seule place que ce monde-là accorde aux femmes, c'est d'être... alors, il y a des Jerry, il y a des Carolina, mais en tout cas, à ce niveau de pouvoir, c'est d'être la femme 2 ou la fille 2. Et en fait, Shiv, elle a, pour le coup, Kendall a été élevée dans l'idée de... C'est ton héritage, c'est ton droit divin, tu l'auras un jour. Shiv, elle a, je pense, été élevée dans... Tu seras toujours à côté du pouvoir. Et tu l'auras pas, tu vois. Tu es à côté de papa, t'es la fille de papa, t'es Pinky. Et c'est pas à toi, à 7 ans, que j'ai dit t'auras la boîte. Et du coup, être à proximité du pouvoir, mais dans un rôle très genré. Malheureusement, elle sait faire, et je pense qu'il y a un truc de confort, de tu reviens, enfin, c'est aussi le thème de succession, c'est le cycle du trauma et de, on reste dans ces patterns. Donc pour moi, elle revient aussi dans, voilà, on n'attend pas de moi que je sois à PDG. Je suis la femme 2. C'est pas très loin d'être la fille 2. Un peu oedipien.
Bah oui, je le vois comme ça.
T'as noté un message sur le chat ?
Oui, de Vendroquetal. Pour moi, Tom devient Logan, et il la kick out au début de l'épisode, et donc elle est revenue, comme le faisait sa mère avec Logan.
Oui, en tout cas, comme sa mère lui a dit que Logan, oui, en fait, voilà. Il a jamais rien aimé, qu'il a pas, à qui, au quoi, il a pas donné un coup de pied pour voir si ça revenait. Mmh. Ah, et du coup, ouais, Tom a donné un coup de pied à Shiv au début de l'épisode en lui disant, Shiv, je sais pas, si je veux sortir avec toi, et Shiv revient. Ça se tient. Et, Madame Volovitz dit pour moi, justement, elle le respecte parce que c'est enfin quelqu'un. Je dirais pas qu'elle le respecte, mais elle est très consciente que la dynamique de leur relation va, pour le coup, pas mal s'inverser. On en parlera, mais au moins on
en parlera dans la fameuse scène de fin avec, Tom, quoi.
La voiture, la voiture. Au moins, voilà, on a essayé de clarifier au maximum. Pourquoi Shiv change d'avis? C'est, sur le coup, j'étais, la première fois que j'ai vu l'épisode, j'étais un peu perplexe parce que ça va vite, on passe quand même assez vite de, c'est bon, on est dans la cuisine. Et on te couronne avec un smoothie dégueulasse à, en fait, non. Donc, je dis, ah, quoi? Et elle lui dit, je pense pas que tu le ferais bien et tout. Et au début, j'étais un peu candle, tu vois. J'étais là, quoi, meuf, ça a pas de sens. Genre, entre nous trois, je suis celui qui le ferait le mieux. Et après, j'étais là, oui, mais ça veut pas dire que tu le ferais bien. C'est bah, juste oui. Que les deux autres, ils sont nuls. Mais en fait, il y a d'autres gens dont c'est le métier. Mmh. Elle sait qu'en plus, bah, qui va mieux le faire, peut-être. Ça tombe bien, c'est mon mari, hein. Ça tombe pas mal. Mais j'étais un peu perplexe et je sais que, puisqu'on vit dans le monde dans lequel on vit, les personnages féminins, surtout dans les séries où il y en a peu, sont pas mal scrutés et attendus au tournant. Et bah, on parlait de Breaking Bad, Skyler dans Breaking Bad, là, qui joue la femme du héros, qui est un anti-héros, et qui du coup, bah, son rôle de personne normale, c'est de lui dire maybe arrête de faire tes dingueries et de fabriquer de la méthamphétamine. Elle était très diabolisée par une partie de l'audimat parce que elle empêche le héros méchant de faire ses trucs, et puis c'est une gonzesse, et puis elle est chiante, elle est castratrice. Et du coup, quand j'ai vu Shiv me faire un move que je trouvais pas très logique, je me suis dit putain, tout le monde va dire elle est hystérique, nani nana, c'est les gonzesses et tout, tu vois. Et au final, du coup, c'est pas si absurde la décision qu'elle prend, mais c'est pour ça que je voulais comprendre un peu le temps de l'expliquer, parce que si vous commencez à m'envoyer des DM de Shiv, ça n'a pas de sens sa décision et tout, vous aurez une explication. Voilà. Merci beaucoup, Madame Volovitz, pour le resub. Shiv quitte la pièce pour aller voter, ce qui donne à Rome et Kendall un dernier tête-à-tête où Roman lui dit ce qu'il pense.
Qu'en gros, bah, on est bullshit, t'es bullshit, je suis bullshit, on est tous bullshit. Et on sert à rien. Mmh. Et en gros, bah, sans doute, papa avait raison, on n'est pas des gens sérieux, quoi.
Oui. Et même Waystar, tu vois, ils disent bullshit news, etc. Il est là. Pff.
En fait, quel est le
peut-être
putain de sens
fout. Oui. Peut-être on s'est fait une montagne.
Franchement, pour moi, c'est une fin très cool pour Roman. C'est-à-dire vraiment une fin de... Peut-être qu'il a enfin compris, là, à ce moment-là, que fallait lâcher, quoi, tu vois, et que c'était OK.
Ouais, c'est et un lâcher-prise, quoi.
Peut-être que c'est peut-être la bagarre avec son frère, c'est peut-être la violence incarnée par son frère qu'il a lui-même déclenchée en plus, tu vois, qui l'a peut-être amené à se rendre compte de ça, dans les tripes, j'espère
oui,
pour
peut-être...
lui.
Pourquoi on veut ce truc qui nous emmène à des telles extrémités au point de nous faire autant de mal, quoi? Parce qu'en plus, Roman, c'est toujours celui qui a été le plus demandeur de moments entre frères et sœurs, de liens un peu familial et tout, avec Connor peut-être, miskin. Donc je pense que lui, il aurait préféré faire The 100, tu vois. Mm. Il aurait été moins triste, mais bon, ce n'est pas le chemin qu'ils ont choisi. Bon, Kendall essaye de revenir dans la salle et d'être
ouais,
là.
J'entendais dans le podcast qu'il avait tourné ça en mode moi je sentais que c'était pas tout à fait fini pour moi en tant qu'acteur, n'est-ce pas, enfin en tant que personnage, donc je me suis dit ok, il faut que j'y retourne, donc ils m'ont suivi avec la caméra.
Ah, donc c'est une impro, Franck,
c'est
qui
impro.
Lui dit c'est fini,
c'est
et tout. Oh là là, mais j'ai pas écouté tout le podcast officiel.
Et en fait, à la fin, Franck lui dit mais c'est cut, Franck lui dit ok, tu l'as pas, et en gros il continue en disant tu l'as jamais eu. Et ça, ils l'ont cut.
Ah, ok, ouais. You never had it, c'est chaud. Ouais. Parce qu'en plus, il a demandé à Franck, est-ce que mon père pensait vraiment que c'était moi? Et Franck lui a dit oui, des fois.
Ouais, je trouve ça hyper bien. Donc, ce genre de petit truc où on imagine très bien Jeremy Strong faire « Ok, en tant que Kendall, je sens qu'il faut que j'aille plus loin. » C'est-à-dire « Ok, il faut que j'aille chercher, quoi. »
Oui, bah, il va continuer à travailler, mais on va en parler. Jeremy Strong travaille très dur. Avant la scène finale de Kendall, on a un petit épilogue pour différents personnages. Juste avant ça, donc Kendall s'en va, il va prendre l'ascenseur. Est-ce que comme moi, t'as eu un petit coup de flip sur l'étage ?
Écoute, j'ai vu beaucoup de gens qui pensaient à ça. Moi, il y avait plutôt un truc de « il faut que je me casse de là maintenant ».
Ok.
Donc, pas.
Mais après, monter sur le toit et sauter, c'est ce qui est assez définitivement.
En fait,
hein.
Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas tout de suite vu comme suicidaire. En fait, pour moi, il y avait vraiment ce truc de il faut que j'aille ailleurs, tu vois.
Ouais. Et je trouve que c'est trop bien ce moment. En fait, il monte dans l'ascenseur. Bon, déjà, il appelle un ascenseur qui descend. Donc, j'étais là, ok. Il y a eu quand même un peu d'imagerie de Kendall sur le toit. Il y a eu cette histoire, disons, rajouter des vitres et tout. Donc, j'étais
n'oublions
en
pas
de...
qu'en plus, il peut sans doute pas sauter. Puisque
le toit
il y a
est suicide-proof.
Voilà.
Grâce à papa. Quel père aimant pour ses
Merci,
enfants, ce Logan Roy.
Vraiment.
Et en fait, il y a un random qui monte dans l'ascenseur avec lui. Et j'étais là, c'est vraiment. Genre, quand toute ta vie, elle tient à ton boulot. T'as l'intégralité de ton existence qui vient de s'effondrer et t'es avec Michel de la Conta dans l'ascenseur pendant que t'es en train de vivre le moment le plus dévastateur de ta life.
Je
parce qu'en fait,
pourquoi...
c'est un taf, mon gars. Les gens, ils bossent, là.
Je sais même pas pourquoi Michel monte. Tu vois, moi, vraiment...
à parce la place que de... Michel, il est en pause déj, là. Il va bouffer, il va retrouver sa femme, ses enfants, le reste de sa vie. Il est là, c'est... En fait, c'est qui ? C'est pas mon PDG, le gars, dans l'ascenseur. Donc, excusez-moi, moi aussi, je descends. Tu vois, c'est... Gardez la porte et tout. Kendall, il est en mode... Ma vie est un trou noir. Et le mec, il est en mode, oh, il fait beau aujourd'hui, c'est sympa, non? Je vais m'acheter un petit sandwich au pastrami. Ok. Big Dick Tom Wams Gams is in the building. La démarche du gars.
Ouais.
Bang, bang, bang. Ok.
Il lui a pas fallu longtemps hein, pour rentrer dans la peau du personnage, le gars.
Il se prépare depuis longtemps à ça. Hein. À pas
prêt.
À forcément être PDG de Waystar, mais à...
Tu sais, ça m'a fait penser à un podcast sur France Inter qui expliquait un petit peu comment Macron était passé de président, de candidat, donc en novembre avant l'élection, donc 6 mois avant, à président. Et en gros, il te remontre son premier discours, son discours de bonjour, alors je vais être un président, justement, pas du tout. Alors voilà, hyper timide. Pas trop sûr de lui, il bafouille et tout jusqu'à « C'est notre projet !»«
Ah, nous sommes en guerre !»
Bon, ça lui a mis 6 mois, tu vois. Là où Tom, j'ai vraiment l'impression qu'il est arrivé, il a fait « Ok,
ouais.
ça part en une heure. »
En même temps, on fait « Fake it till you make it », tu vois, il est là en mode « Ça va, papa est à la maison. » Est-ce que tu veux faire le petit point sur la théorie sur le nom du personnage de Tom Wamsgams?
Bah oui, en fait, mais je sais même pas si c'est une théorie. C'est une théorie.
C'est pas confirmé. Jesse Simmons, il a pas dit oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Wamsgams.
Jesse Armstrong,
oui. Je dis tout le temps Jesse Simmons, c'est jamais lui.
Il y a un mec qui est un baseballeur qui s'intitule Bill, c'est ça?
Ouais.
Wamsgams. Qui a été un joueur de baseball au début du 20e siècle.
Ouais, on est vraiment genre années 20-30, quoi. C'est vieille ref. Et vieille ref, baseball américain, c'est aussi pour ça que, comme Jesse Armstrong est britannique et tout, c'est pas sûr que ça soit l'origine
mais
du nom. On
n'a même...
pas la confirmation.
Enfin, oui, mais bon, la...
La coïncidence est sympa. La
coïncidence est folle. Et en gros, ce mec est connu pour être le seul mec à avoir fait ce qu'ils appellent une triple assist. Dans toute l'histoire de, c'est-à-dire qu'il a, il a éliminé 3 joueurs, 3 bases. Parce que si vous connaissez un peu le baseball, il faut aller courir, vous courez.
Tu lances la balle.
Tu lances la balle.
Cours très vite.
T'as l'autre qui bat.
Jusqu'à ce avant que l'autre il doit.
Alors, avant que l'autre le rattrape.
Ok, oui.
Avant que ton adversaire le rattrape. De là où il vient. Et donc, en gros, t'as des bases, en fait. Et ce mec est connu pour avoir éliminé 3 bases. Et c'est le seul mec à avoir fait ça, et donc à avoir éliminé 3 joueurs.
Et il s'appelait Wamsgams. Voilà.
Donc 3 joueurs.
Wamsgams, je sais jamais
si vous l'avez
prononcer le nom de Tom, c'est dramatique.
Les trois frères.
Voilà. Et c'est une meuf sur TikTok qui a sorti cette obscure référence en disant, voilà, peut-être que c'est pour ça. On attend la confirmation. Je pense que il y a tellement de gens qui ont l'info maintenant que le TikTok est devenu un peu viral, donc quelqu'un finira par demander à Jesse Armstrong si ça vient de là.
Bah oui. Un assisted triple play, c'est ça.
Yes. Et du coup, Big Dick Tom a des courtisans. On a d'abord Frank et Carl qui le regardent arriver et qui hésitent un peu. Est-ce qu'on remettrait pas une pièce dans la machine ? Est-ce qu'on ferait pas un dernier rodéo ? Bon, c'est pas eux qui décident, donc le problème sera vite réglé. Il y a Hugo qui vient essayer de gratter l'amitié parce ouf de personne, c'est pas un bon job. Chien de pas grand monde.
Et j'adore cette séquence. Parce que pour moi, ça en dit tellement long sur la violence de ce monde. C'est-à-dire que juste, il vient lui parler, l'autre. Et effectivement, Tom fait semblant de l'écouter. En fait, sa seule réponse, c'est « Où est Carolina ?»
C'est et après, il lui fait un petit geste très royal, hein, très vous pouvez disposer, paysan.
Il lui
fait
ah
un
oui,
petit,
il lui fait ça. Vous avez pas capté.
Ouais, un okay. petit signe de cette conversation est finie. J'étais là, oh, Tom, oh. Comment ouais, Tom, il était ready. Hein. Il a pris des petits cours. Ah, on a Walid qui nous donne merci.
Walid, il donne la
précisions.
Vraie info.
Oui.
Merci. C'était au World Series, c'est dans les finales
de baseball.
De baseball.
Donc Bill Wamsgans a éliminé 3 joueurs en une action seule, ce qui met fin à la manche, et c'est le seul à l'avoir fait au World Series. Et même le New York Times a fait un article dessus. Donc je pense qu'on aura... Alors si vous trouvez, si entre-temps il y a eu la confirmation, dites-le nous dans le chat sur l'origine du nom de Tom. Mais oui, du coup, Hugo out,
Hugo
Carolina
out.
In.
Voilà.
On savait, elle le mérite.
Et il y a Greg qui arrive à ce moment-là, c'est ça, non?
Oui. Greg arrive et demande un peu.
Salut, alors, comment ça va?
Bravo, félicitations. Il serre la main.
Il
Tom,
la
il
main
le regarde
mollement.
Même pas.
Oh là là.
Tom, il lui tend la main, il lui serre la main, il regarde tout droit devant.
Normal.
Là, c'est bien.
Normal.
On lui tue un
normal.
Peu, ce petit connard.
Franchement.
Greg.
Et alors, comment ça va avec les autres et tout? Et c'est là qu'il dit. C'est très marrant parce qu'il y a Frank and Carl out. Genre dead. Non, il dit dead.
Ouais. Dead. J'ai pas
Frank
besoin
dead,
de ces vieilles
Carl
raclures
dead.
Qui me respirent dans la nuque parce qu'il sait très bien qu'ils vont le daronner, quoi. Aussi, c'est ça, tu vois.
Là où juste avant, on a un plan marrant avec Frank et Carl qui disent « Bon alors, parachute doré ou alors on y retourne pour un tour, là ?»
Oui, et aussi, ils disent « Qu'est-ce que tu penses de lui, donc de Tom ?» Et Frank dit « On aurait dû l'égorger dans son berceau.
Oh »
Donc en plus, il l'aurait daronné de fou, tu vois, en mode
tellement.
« laisse les grands faire. » Donc Tom, il est là « Don't need that shit. » Qui revient?
Fucking Jerry,
Jerry,
bien sûr.
Queen Jerry, un job. Alors, je serai elle. Non, je prends le payout prévu parce qu'elle a dit des centaines de millions de dollars contre pas envoyer les dick pics de Roman au New York Times et je me casse et je ne travaille pas. Mais je pense que Jerry va évidemment
bien sûr.
Reprendre son job parce que elle a besoin de l'adrénaline. Mm. Mais c'est pas ça la vraie question de Greg. C'est est-ce que moi j'ai
et
un
moi
job?
Et là, ce moment, là où il lui dit, je crois que j'ai encore assez de capital pour nous deux, c'est ça?
Ouais, il dit j'ai un coup à jouer et c'est toi, tu vois. Parce qu'en vrai, ça va être un exécutant de Madsen, il va pas monter sa propre équipe et tout. Mais il vient quand même d'être nommé PDG, il peut négo un truc qui est quand même un gros truc parce que Greg vient de les trahir et Madsen le sait. Puisque Greg a raconté à Kendall et tout.
On va le savoir dans deux secondes.
Bah, il le sait déjà, là, je pense. Donc, enfin, en tout cas.
Oui,
bah,
il
oui,
le sait, puisqu'il l'appelle Judas.
Oui. Mais même, enfin, quand Madsen était énervé, c'est parce que
oui.
Tom lui a dit. Donc, il faut quand même se lever tôt pour
Big
convaincre
problem.
Madsen de, de garder Greg, qui a quand même trahi un secret pro important. Mais Tom, il lui dit t'inquiète, bébé.
Et il lui sort une gommette qui vient de la fameuse Great Reallocation, n'est-ce pas? Parce que.
Incroyable.
Les gommettes.
À quel point c'est une petite bitch d'avoir gardé le
c'est
rouleau dans sa poche
incroyable.
Pour ce move pendant des heures. Je l'aime tellement.
C'est incroyable. Et franchement, il lui colle la gommette sur le front, là. Ça m'a foutu un frisson, vraiment, ce moment de... En fait, t'es juste mon objet, puisque souvenons-nous que chez Logan, c'était des objets. Et ce con de Greg a un sourire.
Ouais.
Here we go again. Voilà. C'est reparti, quoi.
Bah ouais, hein, il a sauvé son job, il a sauvé sa peau. Alors, Tom lui dit, tu vas te faire décimer, mais tu seras payé pour ça. Mmh. Et ça sera l'éponge à douleur de l'éponge à douleur. Et probablement que du coup, il y aura beaucoup
de
zoom à 100 personnes où Tom commence et dit, eh, je vais maintenant passer la parole à Greg. Et bah, il a envie d'avoir un Greg,
bah oui.
Un Greg pour lui. Mmh. Surtout que je pense, puisque Tom s'oriente vers être Logan, ou être une forme d'héritage de Logan en tout cas, sa vraie famille, ça va être aussi sa famille de travail. Et en fait, je pense qu'il va s'en battre un peu la race de sa vie à la maison. Et il va traîner avec Greg, et il va traîner avec Jerry, et avec Madsen. Et il va faire des soirées où ses enfants seront pas invités, où sa femme sera pas là non plus, quoi. Parce que les femmes de Logan, elles sont pas à la soirée
oui,
qu'on
bien
voit.
Sûr.
Donc voilà, il va reproduire le cycle, pour le coup. Bravo Greg, you've still got a job. Faut quand même le signer sous tu contrat. Donc c'est Roman qui s'y colle, parce qu'on va pas demander à Kendall de le faire, il est déjà parti. Et il a pas trop envie.
Non.
Mais il le fait, quoi. Et il y en a un des, je sais plus, c'est Franck ou Carl qui lui dit, en fait, c'est ça, être un PDG. Genre, mec, en fait, tu l'as voulu, tu nous as bien fait chier, donc maintenant, tu vas signer ce papier.
Il a raison, en plus. Hein.
Et donc, il y a quand même cette petite photo-op qui est l'occasion pour Madsen de pointer que Jésus et ses disciples et Judas. Greg, il est là.
C'est génial.
Ce picture of Dorian Greg, incroyable. Très bon genou,
bravo.
Madame Wolowitz. T'as quelque chose à dire sur cette scène de signature?
Non.
Non, pas tant, hein. C'est pas la plus importante de l'épisode. On a le final de Roman. Roman est seul dans un bar qui a l'air très sympa, ma foi, ce bar.
Oui.
Il boit un martini.
Oui.
Et il a un petit sourire.
Oui.
Comment tu l'interprètes, cette fin muette, finalement, du personnage?
Bah, pour moi, ça en dit long sur ce truc de bullshit, tu vois. C'est-à-dire qu'il l'a expliqué avant. C'est juste, ok, peut-être qu'en fait, tout ça, ça valait pas la peine et que maintenant, je suis très riche et que sans doute, je vais pouvoir me payer des martinis à foison et en boire plein. Mmh. Et peut-être, j'espère, pour lui, se soigner, quoi.
Oui, aller en thérapie. Mmh. Rappelons que le martini, j'ai eu 5 minutes à l'avoir, c'est le drink de Jerry, puisque on l'a vu il y a quelques épisodes imiter Jerry au bar en disant « I have a martini ». Et après, effectivement, Jerry sirote beaucoup de martini. Et l'actrice qui joue Jerry a tweeté une photo de Roman avec son martini en écrivant « Je crois que mon ex va me récupérer ».
Génial.
Je l'aime tellement. Donc oui, fin plutôt heureuse. J'ai vu une analyse qui disait Roman a perdu mais il a gagné. Shiv a gagné mais elle a perdu. Et Kendall a perdu mais il a perdu. Il a perdu. Du coup, Roman, il a perdu la boîte, mais il est libre.
Je crois qu'ils sont tous libres.
Moi aussi, mais je suis pas sûr qu'il le voit.
Oui.
Shiv, Shiv, elle est quand même toujours dans son mariage éclaté. Mais parlons-en, puisque la scène d'après, c'est Tom qui avait glissé à Shiv. J'ai le chauffeur qui arrive dans 20 minutes, si ça te dit. Je te dis, oh, big dick Tom, vraiment, on a une bonne énergie. Dernière scène de Shiv, Roy Forever.
Qui monte dans la voiture avec Tom.
Avec le père de son enfant, c'est beau l'amour.
Oui, alors clairement. Et Tom qui a une... Tom qui a vraiment, bah, comme tu dis, une big dick energy de ouf dans cette scène où il regarde tout droit. Il a le torse bombé, il a le menton ultra carré, plus carré que jamais. Et en gros, il pose sa main au milieu dans la voiture, là, entre les deux. Et il la retourne, paume ouverte. Et là, comme pour venir dire, en fait, viens poser ta main sur la mienne. Et Shiv vient poser sa main. Mais alors,
C'est le pire contact entre deux mains de l'histoire de l'audiovisuel, je pense, oui.
On dirait juste un morceau de viande mort.
Oui.
Comme ça, quoi.
Ouais, vraiment. Ouais, un poisson mort posé dans sa main, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûre que Shiv, elle soit libre, tu vois. Je pense que là, il y a... En fait, c'est pas comme s'ils étaient sur... En fait, on s'aime pas de façon normale, on est tous les deux hyper dans la compète, on est tous les deux dans la thune, et vas-y, on va faire un partnership qui marche. Peut-être que c'est une possibilité et que ça finira par arriver, mais c'est une fin en suspens pour tous ces personnages principaux. Mais là, à ce moment-là, je pense que Shiv, elle s'enferme dans une cage, dans sa tête et dans l'intention qu'elle s'enferme dans une cage dorée pour rester par envie de rester riche et puissante, ou en tout cas dans le cercle des riches et puissants, et aussi par reproduire le trauma qui lui a été refilé à la naissance sans qu'elle ait rien demandé. Donc c'est très triste, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du tweet qui dit que Shiv devient sa mère? C'est vrai que c'est une analyse, une lecture que j'ai beaucoup vue, que Shiv devient sa propre mère alors que Tom devient son père. Je sais pas trop en quoi elle devient sa mère, parce que bah, pour le coup, sa mère, elle s'est barrée, quoi. Elle est pas encore mariée à Logan, elle est pas dans ce monde-là. Donc je sais pas trop. Est-ce qu'elle va aimer ses enfants? Enfin, cet enfant.
Pas si sûr.
Pas sûr. Mais est-ce qu'elle devient sa mère? Moi, je le vois pas à 100%. Shiv qui devient sa mère. Par contre,
que Tom puisse devenir Logan, ça, pour moi, il y a vraiment un très très bon potentiel, quoi.
Oui, il y a un chemin qui se dessine. Bon, Kendall Roy. On ouvre avec Kendall Roy. On finit avec Kendall Roy, évidemment. Succession à la fin, c'était quand même un peu plus l'histoire de Kendall.
Bah,
c'était
sûr.
Un peu le plus important, en vrai.
C'est
il avait
son
raison.
Histoire.
Ça a toujours été un petit peu son histoire, et c'est évidemment avec Jeremy Strong que se clôt cette saison. Cette finale, du coup, il traverse un parc avec Colin, évidemment, qui le suit, tout comme on avait vu Logan traverser le parc avec Colin juste avant de mourir. Il va vers l'eau, qui est pas à la mer, mais qui est l'Hudson River, parce que c'est pas, voilà. Ma géographie new-yorkaise n'est pas au point. Moi, j'étais en mode, la mer! Bon, en plus, il y a des vagues et tout, mais c'est l'Hudson River.
Non, c'est, oui.
Et,
la mer, elle est plus loin à New York.
Petit prout d'angoisse, hein. Kendall Roy qui s'approche de l'eau à ce moment-là.
J'étais là, oh
là là. Alors, à chaque fois, mais surtout là, parce qu'il reste 3 minutes d'épisode, moi, je suis pas bien. Ma psy, elle est toujours pas remboursée par HBO, donc c'était chaud. Qu'est-ce que tu penses de cette fin pour Kendall? Qui, du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast sans regarder Succession, Kendall ne meurt pas, il se suicide pas. Il va vers l'eau et il s'assoit sur un banc et regarde l'eau. Et le dernier plan, c'est lui qui regarde l'eau avec le soleil qui se couche et le garde du corps en arrière-plan. Donc il y a aussi ça, c'est que on se doute que s'il essayait de sauter, et on va en parler, il pourrait alors, pas se suicider là tout de suite. Mais
il faut expliquer que dans toutes les prises qu'ils ont faites, c'est pareil. Jeremy Strong a décidé qu'il allait sauter au-dessus de la barrière et que, sans prévenir qui que ce soit, bien sûr. Et à ce moment-là, l'acteur qui joue Colin lui saute dessus pour le récupérer.
Ouais, ouais.
Je suis très heureux qu'il n'y ait pas eu cette scène qui soit retenue, parce qu'en fait, ce n'était pas la scène que Jesse Armstrong avait écrite.
Oui.
Parce qu'en fait, à un moment donné, Jeremy Strong,
vous
il
êtes
est là.
Mignon, mais bon,
moi, je teste des trucs et puis voilà, voilà, quoi. Voilà. Après, tu prendras, si tu prendras, si tu veux. Mais il est là dans le podcast, il le raconte. Il dit, moi, je sentais que c'était le moment, en fait, il fallait que je saute, quoi. Ok, mec.
Ok. Bah, en plus, il dit que c'était, alors, dans une interview pour Vanity Fair, je sais pas s'il le redit dans le podcast, Jeremy Strong dit que c'était une des journées les plus froides qu'il y a jamais eu à New York cette année-là, que c'est, même il y avait des écoles fermées et tout, et il dit, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Donc, en plus, genre, l'idée de sauter dans l'Hudson, et il dit d'ailleurs, il y a jamais, enfin, j'ai jamais vu autant de vagues dans l'Hudson, donc ça, oui. Ça tombait bien content de ce jour-là. Mais donc, il est en train de se peler le cul et d'envisager de sauter dans une eau glaciale, quoi. C'est vraiment ne faites pas ça.
Mais donc, effectivement, enfin, je crois qu'il s'en rend pas compte, mais en fait, sa sœur lui a filé un sacré coup de main. Alors oui. Après, Jeremy Strong dit que pour lui, c'est une fin tragique et que pour Kendall, c'est une fin tragique, que sans doute Jesse Armstrong, il a écrit cette fin sans doute beaucoup moins tragique que la façon dont Kendall, en tout cas, dont Jeremy Strong l'a vécu lui en tant que personnage. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comme il fait le parallèle en permanence, c'est-à-dire que lui en tant que personnage, il a non pour moi c'était horrible comme personnage qui était donc 6 mois de sa vie Kendall, il dit pour moi il n'y avait pas d'autre moyen que la mort.
Oui.
Alors que Jesse Armstrong lui, et je suis assez d'accord avec ça, c'est sans doute il le voit pas maintenant, mais en fait c'est en fait ton père est mort, tu n'as plus cet héritage qui te pesait dessus depuis 35-40 ans quoi. En fait, t'as le droit maintenant, t'as la possibilité de vivre ta vie libre en tant que
ta propre personne.
Quoi. Voilà.
Bah après, il dit quand même, donc Jesse Armstrong, notamment dans le Inside the Episode qui est dispo sur YouTube, il donne un peu son idée, voilà, du destin des personnages après le cut final. Il dit que pour Kendall, ça sera toujours les années, donc les années que le personnage a passé dans Succession là, entre le moment où son père lui dit non, tu seras pas PDG et fait une attaque et le moment où là ça finit, il dit ce sera toujours les années charnières de sa vie et les années genre indéboulonnables de c'est là où sa vie a basculé, c'est là où il a perdu, selon lui en fait, il a perdu ce qu'il devait avoir. Et oui, probablement qu'il lancera des boîtes et tout, mais il atteindra jamais le niveau de succès de businessman de son père et il oubliera jamais ce jour-là où il y a un truc qui s'est cassé quoi. Donc c'est pas genre c'est le début de la liberté, c'est oui, ça sera toujours une cassure, mais ça veut pas dire qu'il va immédiatement sauter dans l'Hudson et mettre fin à ses jours, parce que c'est aussi permis d'espérer dans la vie.
Bien sûr que sur le moment, je suis très d'accord avec toi, très incisive, c'est qu'il a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a plus de lien avec ses enfants, il a plus de lien avec ses frères et ses sœurs, il a plus de lien avec le boulot de ce fait-là.
Il a fait élire un nazi, comme le rappelle aussi très incisive, qui dit, contrairement à Roman, ça veut pas rien dire pour lui. Mmh. C'est vrai qu'il s'interrogeait un peu. Il a plus Stewie, parce que Stewie, on le voit saluer Tom en mode, hey, bravo, trop content de bosser bientôt avec toi, parce que Stewie, il a dit, hein. Well, I follow the money. Ouais. Donc, c'est pas si surprenant. Mais ouais,
oui, il est riche.
Mais il est vraiment blindé. Oui, c'est
mais
vrai.
Est-ce que l'argent fait le bonheur, les gars, à ce niveau-là? Je ne crois pas.
Non. Et donc, voilà, la vision de Jesse Armstrong pour Kendall, c'est ça. Pour Roman, c'est en fait, Roman, il est un peu de retour là où il était et là où il devait être. C'est-à-dire, pas trop embêté par des trucs de taf, un peu playboy, un peu avec cette vibe. Bresson, peut-être qu'il va tomber un peu plus dans l'alcool, tu vois, mais en fait, comme il était avant, quoi, c'est Roman, ça a toujours été qui il était. Et Shiv, oui, il y a cette idée de prison dorée et de trouver un rôle de femme, quoi, dans cet univers. Les
bon,
femmes en ont pas
courage.
Beaucoup. Oui, c'est la fin, hein. C'est la fin de cet épisode et c'est la fin de la saison et c'est la fin de Succession. Est-ce que t'as des derniers mots sur Succession, l'héritage que cette série va laisser en toi? Est-ce que tu penses que tu vas la regarder régulièrement? Est-ce que ça va bien vieillir?
Alors, j'ai fait un rewatch des 3 saisons il y a quelques mois. Avant le début de la saison 4.
Par pur professionnalisme, bien sûr.
Tout à fait. Et c'était canon à revoir. Vraiment. Et c'était canon de le revoir parce que jusque là j'avais pas fait de rewatch et j'étais juste, j'avais fait saison 1, saison 2 parce que je te rappelle que j'étais au début, n'est-ce pas?
Tu étais là day one, pas comme moi Fabrice bien sûr.
Et donc c'était trop intéressant d'avoir vraiment l'histoire au complet des trois premières saisons en tout cas et de le regarder dans une continuité, là où j'avais oublié plein de trucs en fait. Mais alors ouais, globalement en fait ça restera pour moi, je trouve vraiment l'une de mes séries que j'aurais adoré vraiment suivre. S'il faut faire un genre un top 3, tu vois, vraiment, alors on parlait de Breaking Bad tout à l'heure, moi j'ai adoré Breaking Bad. Souvent ils citent Les Sopranos dans les fameux Prestige TV et tout, j'ai adoré Les Sopranos mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et ça mériterait limite un revisionnage. Et puis Better Call Saul pour moi qui fait partie aussi du top avec The Wire quoi, mais bien sûr que en fait Succession est dans mon top 5 quoi, c'est une série magnifique qui dit plein de choses sur la famille et tu vois il y a plein de séries sur la famille, il y a vraiment des tas et des tas de séries, je trouve que c'est la première fois qu'on a cet angle là et surtout qu'on montre à quel point bah l'argent fait pas le bonheur en fait, et pour c'est un vrai, j'ai un podcast histoire d'argent les gens,
oui,
je vais parler des gens de leur, je vais parler des gens de leur rapport à l'argent. Et c'est vrai que j'essaie de déconstruire aussi ce truc de avoir beaucoup d'argent, ça t'amène forcément le bonheur. Et alors bien sûr que l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point. Et
oui,
à ce stade-là,
si t'es éclaté, ça t'aidera pas. Voilà. Enfin, ça ne va pas te permettre de l'être moins
voilà.
Magiquement.
À ce stade de fortune, si tu veux, c'est pas parce que t'es riche qu'en fait tous tes problèmes s'envolent. Ça vraiment, si vous croyez ça, je vous invite à aller écouter mon podcast parce que vous allez vous rendre compte quoi.
Tout à fait. Il y a Hello qui dit « Je rewatch déjà, j'ai convaincu mes parents divorcés de regarder, donc je re-regarde avec chacun d'eux.
Oh.
Et c'est trop top de voir un peu en parallèle les saisons 1 et 4. » Ah, j'avoue, ça doit être trop cool, ce visionnage en temporalité alternée, là, comme ça. Moi, bah écoute, comme toi, je pense que c'est une série qui va rester au panthéon des séries hyper bien exécutées. Et puis aussi, voilà, il y a du pognon, il y a des acteurs qui étaient connus, mais pas trop, et qui du coup ont explosé, et je pense ça va être peut-être même compliqué pour eux de passer à autre chose en termes de rôle, et que les gens arrêtent de dire ah c'est Kendall, tu vois, en voyant
Jeremy Strong va faire du théâtre là,
oui,
Broadway.
Jeremy Strong remonte sur les planches, ce qui est probablement plus simple pour éviter les confusions, et ils ont tous et toutes des projets. Sarah Snook vient d'accueillir son premier enfant, elle a posté une vidéo, une photo très mignonne de elle qui regarde le final de Succession avec son bébé sur les genoux, donc on va, c'est un peu une photo de dos du coup comme dans Succession, ouais. Qu'on voit le haut de la tête de son bébé et derrière l'épisode, Kieran Culkin fait sa vie. Enfin, bien sûr, tous ces gens vont continuer leur vie, mais ça fait quelque chose de dire au revoir à tous ces personnages.
À titre perso, j'ai pleuré.
J'ai pleuré devant la vidéo de Logan Odine.
Ah.
Ouais.
J'ai pleuré sur la fin. Vraiment, ça m'a touché ce plan final.
J'étais ému beaucoup, mais c'est la vidéo qui m'a eu parce que j'étais là. Ah, il est mort. Ils n'auront plus jamais ça. Et en même temps, ils n'étaient pas invités. Non. Je pense que c'est la série. Et une des œuvres qui m'a fait le plus réfléchir sur la famille, qui n'est pas un thème qui me passionne. Et tu vois, genre Breaking Bad, c'est pas tant une histoire de famille. Il y en a un peu, mais pas tant. Il y a beaucoup de séries où le problème, c'est un peu quand tu mets les persos dans un cadre familial, on se fait un peu chier, tu vois. Dès que les persos ont des enfants, faut leur trouver des raisons de pas s'en occuper et tout, parce que ça casse l'intrigue. Et là, bah, au final, c'est toute l'intrigue, c'est la famille. Et ça m'a donné aussi des billes. Alors, j'ai la chance d'avoir une famille moins dysfonctionnelle, mais je trouve que ça donne des billes pour réfléchir à comment on interagit avec nos proches, avec les gens qui nous ont vus grandir, comment on se persuade qu'on veut quelque chose alors qu'en fait c'est pas pour nous et tout. Enfin, même
puis,
cette discussion avec toi, tu vois, c'est
l'importance de l'amour aussi, de l'amour inconditionnel. Et c'est Jeremy Strong citait une phrase de Jung dans le podcast où il disait
quel gros nerd.
Donc Jung qui est un psychologue ultra connu qui a travaillé sur plein de sujets. Qui disait, en fait, quand il n'y a pas d'amour, il est remplacé. Enfin, en gros, c'est le pouvoir qui comble le vide.
Yes, ça marche bien.
Donc, il faut donner de l'amour à vos enfants.
Tout à fait. Stinienne dit merci, merci, merci d'avoir fait du forcing sur cette série. Sans vous, j'aurais jamais regardé. Here we are.
Ah,
yes,
quel
de
bonheur.
Rien. Écoute, c'est ce que nous faisons et nous le faisons bien. J'ai réussi à convaincre une amie de regarder. Elle a commencé lundi, le jour de la fin de la série. Je suis un peu jalouse des gens qui vont pouvoir tout regarder d'un coup, mais...
Ouais.
Je suis quand même très contente d'avoir eu ces années d'attente et de théories et de podcasts et de débriefs et d'excitation de Succession revient. On n'aura plus Succession, mais c'est pas grave. Jesse Armstrong fera d'autres choses et les acteurs feront d'autres choses et nous on fera d'autres choses. Et ça sera super. Je suis désolée, j'ai raté qui l'avait dit dans le chat, mais on a eu la confirmation. Tom Wamsgams ne s'appelle pas
ah
Wamsgams.
Oui.
en rapport aux joueurs de baseball. Zut. C'est une coïncidence. Apparemment, c'est, si j'ai bien lu, l'acteur qui joue Frank qui a gâché le délire de tout le monde en confirmant que c'est une coïncidence.
La coïncidence est folle.
Oui. Xenaer nous rappelle la réalité qui est que Succession, c'est super dur à vendre, mais ça vaut le coup d'insister. Ouais. C'est toujours pas hyper facile de la pitcher aux gens, mais maintenant, vous avez plein de billes pour leur dire « c'est trop bien ». Ok, c'est fini. Merci beaucoup, Fabrice, de m'avoir fait regarder Succession.
Avec grand plaisir.
D'avoir
J'ai
été
bien
avec
insisté.
Moi. Oui.
Parce
regarde,
qu'au début, Mimi,
paye.
Elle disait « qu'est-ce que j'en ai à foutre de tous ces blancs multimilliardaires et puis de leurs histoires à la con ?» J'étais là, je
si
crois
tu
que c'est...
m'avais dit,
je
c'est des... C'est des brins pas barbus, mais trauma, j'aurais fait « Ah, bah c'est ma cabale !»
N'importe quoi. Non, t'en avais rien à foutre de la
oui,
vie
non,
de gens vrai. Riches et aisés, parce que je crois que tu projetais aussi sur l'argent ce truc de « Non, mais en fait, c'est trop facile pour eux, qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Alors qu'en fait, c'est
Mais
plus
non, je pensais
que
c'était soap opéra, en fait. Je pensais qu'ils allaient s'inventer des problèmes. J'avais pas compris à quel point c'est shakespearien et tragique. Et ça rentre dans « J'ai hâte de me faire d'ici un an ou deux un rewatch total » ou encore mieux, de le faire découvrir à quelqu'un. Je pense que c'est la meilleure expérience. Parce qu'une bonne tragédie, tu sais que ça finit mal, c'est pour ça que c'est une tragédie, mais ça t'empêche pas de, d'apprécier le ride quand même. Quoi. Ouais. Donc c'était trop bien. On se donne rendez-vous.
La semaine prochaine alors.
Mardi prochain sur cette chaîne, 20h, pour autre salle, autre ambiance.
Ah oui.
Des adieux à Ted Lasso, une autre série qu'on aime beaucoup.
Oui, et qui est l'anti-succession, en gros. C'est-à-dire que vraiment, c'est des gens les plus gentils, les plus sympas du monde, et c'est une série qui prend soin de ses spectateurs, qui parlent beaucoup de psychologie aussi, qui parlent aussi de famille, énormément, qui parlent d'interactions entre êtres humains, etc., qui parlent beaucoup, beaucoup de masculinité sous plein d'angles, qui moi, alors à titre personnel, Ted Lasso, depuis le milieu de la saison 1, donc là, on termine la saison 3 et en fait, c'est la fin de la série demain soir.
Oui, demain, alors on vous parle, c'est demain.
Et en gros... qu'est-ce que j'allais raconter? Oui, depuis le début de la, depuis le moitié de la saison 1, à chaque épisode, je pleure.
Cette
ça vient me toucher dans des trucs sur la masculinité qui est, qui sont fous vraiment, et c'est trop bien écrit. Et donc, tu me racontais, bon, on en parlera la semaine prochaine, que t'aimes un peu moins cette saison 3, mais pour moi, cette saison 3, elle me fait pleurer comme jamais, parce que ça vient vraiment toucher des trucs vraiment très, très profonds chez moi, et de façon hyper maligne. Voilà.
Oui, et après, tout est relatif. C'est quand même toujours très cool, Ted Lasso. Donc, je suis contente d'avoir tout regardé grâce à toi, hein, aussi, je pense, Ted Lasso.
Oui,
ça devait aussi être une reco Fabrice. Et demain, c'est le final. C'est bien que ce soit dans ce sens-là. D'abord, on finit Succession et après, on a Ted Lasso pour nous mettre un peu de baume au cœur quand même.
Je vais bien pleurer de façon sympa.
Oui. Et du coup, bah, on vous retrouve mardi 6 juin, sur cette chaîne à 20h pour un adieu à Ted Lasso. Ce sera bien sûr dispo en podcast sur le flux habituel. Et comme je vous l'avais annoncé sur un autre live, le 14 juin, qui est aussi un mardi, on se retrouve sur cette chaîne avec Tequila Tex pour vous parler de Game of Thrones. Parce qu'on va fêter ensemble les 10 ans de l'épisode du Red Wedding, The Reigns of Castamere, le fameux épisode des noces pourpres. On va le re-regarder et vous en faire un débrief, comme si on y était à l'époque ensemble. On y était, mais pas ensemble. Ça va être trop cool et on va parler du coup de l'héritage de Game of Thrones 10 ans après. Mais avant ça, la semaine prochaine... Adieu Ted Lasso.
Il y a quelqu'un qui demande 3 saisons en une semaine, c'est combien d'heures? En fait, c'est des épisodes très courts, en tout cas sur les 2 premières saisons. C'est des épisodes d'une demi-heure.
C'est du 30 minutes
Ted Lasso.
Au début, ouais.
Donc, il y a 10, 12 épisodes par saison. Donc, en vrai, ça va relativement vite.
C'est une bonne série pause d'âge au début.
Ouais, exactement. Et c'est disponible sur TV+, le truc d'Apple TV.
Oui.
Et également sur Canal+, puisque désormais, les séries Apple TV sont dispo sur Canal+. Donc, si vous avez Canal+, vous avez également accès aux séries Apple TV. Donc, n'hésitez pas.
Tout à fait. Abonnez-vous à tous les podcasts de Fabrice. Merci. Nous, on se voit jeudi. Je vous fais des bisous.
Salut.
Bye.
Bye.
Ignition.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.